Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Bidibi et Hermione Pouigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Ok, on va se lever pour prier. Excellent Père de gloire, je viens te dire merci. J'ai ta parole pour gagner en sagesse. Car tu nous as toujours dit que nous périssons faute de connaissances. Qu'il te plaise encore ce soir d'être celui qui nous parle, celui dont la sagesse nous éclaire, fait reclamer. Tu as promis d'apporter aux pauvres la parole, parce que c'est la parole qui donne la prospérité. Qu'il te plaise ce soir de nous ouvrir les yeux afin que nous comprenions et que nous voyons. Que nous soyons capables d'emprunter les chemins du trait de la psyche à l'oméga. Que tu fais de grandes choses dans la vie de ceux qui sont ici. Tu transformes leur vie, tu les édifies, tu fais des miracles dans leur destinée. Et tu leur donnes comme toujours des sujets de témoignage. Ça dépend de nous disons merci. S'asseoir.
Donc, on va essayer d'aller plus loin. Hier, on a introduit un peu sur la question. On a essayé essentiellement de en général et de l'emploi en particulier. J'ai beaucoup insisté sur le fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas avoir un manguier et prier pour qu'il y ait un manguier, il faut le remplacer par un oranger. Quand on a semé quelque chose, on ne récolte que cela. On ne peut pas changer les récoltes à la phase de récolte. On ne peut que retourner ce petit qu'on sème dans sa vie. Il ne doit pas s'attendre à voir des changements. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'onction de pasteur, de charlatan qui peut changer durablement des résultats parce que la récolte est têtue, est terrible. À moins de changer votre manière de vivre, vous ne changerez jamais les résultats de votre vie. Et toute chose qui prétend le contraire, c'est qu'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prêtre qui peut par sa seule action vous bénir. Vous ne pouvez être béni que quand vous rentrez en alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, il peut vous bénir. On a donné l'exemple du docteur. Même si je suis docteur, que je peux vous guérir, à moins que vous veniez chez moi, à moins que vous laissiez ausculter, à moins que vous ne preniez les médicaments que je vous donne, je paye tout le reste des démagogies. Vous pouvez faire des veilles de prière, jeûner 53 jours, je ne sais trop combien. Vous n'allez pas changer votre vie si vous ne faites rien vous-même. Les maris ont le temps à chercher qui peut transformer leur vie pendant qu'ils ne font rien d'autre que d'attendre. Ça n'existe pas. Si quelqu'un continue par même d'attendre, je n'ai pas envie de perdre le mien. Pour changer sa vie, il faut se réveiller un jour, se dire, ça suffit. Comme je le dis souvent, ceux qui n'ont pas de rapport, même que si un arbre n'a pas porté des fruits au bout de 3 ans, il faut le couper plus mal simplement. Ce que vous avez toujours fait qui ne marche pas, ce n'est pas la peine de continuer d'essayer de le faire en espérant que demain ça va marcher. Ou vous voulez que votre vie continue comme ça, ou vous voulez qu'elle change. Si vous voulez qu'elle change, il n'y a pas de chose à faire à part de changer votre manière de vivre. Et nous avons commencé à voir hier que si nous sommes au chômage, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est parce que nous avons une mauvaise conception de ça. Pour l'image, quelque chose qui n'existe pas et qui ne devrait pas exister. Quand nous regardons bien notre comportement de chômeur, nous sommes, malgré nous, inconsciemment, de problème. Qu'est-ce que j'appelle vol ou escroquerie? J'appelle vol ou escroquerie le fait de vouloir se mettre en situation d'avoir une rémunération sans être une. Moi, je veux que des clients viennent me donner de l'argent, mais qu'ils ne me demandent surtout pas de leur livrer un produit ou si je leur livre n'importe quel produit, qu'ils s'en contentent, qu'ils ne me demandent pas d'avoir un bon produit. De faire des contrats pour me garantir que tous les jours vont m'amener leur argent sans s'intéresser à ce que moi je leur donne en échange. C'est ça qu'on appelle l'emploi à l'école. Qu'ils travaillent ou pas, qu'ils soient productifs ou pas, on leur garantit leur salaire. J'ai fait beaucoup de recrutements. J'ai recruté plein de gens. Les cabinets recrutent encore. Je l'ai dit, moi, n'ont pas rapporté un franc. Ils sont commerciaux. Ils n'ont pas rapporté un bon de commande de 1000 francs. Ils ont totalisé en un million deux de salaire. Et ils n'ont même pas la conscience dérangée. Ils sont encore. Parce que leur conscience ne les dérange pas. D'encaisser tous les mois de l'argent, ne pas faire ce pourquoi ils sont payés. Ils appellent ça un emploi confortable. Pourquoi les gens se sont payés pendant 30 ans, des gens sans jamais leur demander des résultats? Conclusion, vous allez voir, il y a des gens qui sont dans le privé, ils gagnent 200 000. Il préfère aller gagner, sinon on ne demandera pas des comptes. Alors que dans le privé, s'il travaille, on va le payer cher. S'il ne travaille pas, on va le virer. On retrouve donc, hélas, dans la fonction publique, tous ont peur que de se mettre dans un environnement où s'ils se battent, ils vont gagner. C'est pour ça que le pays ne peut pas avancer. Une administration de fainéants. Si on n'est pas dans un pays de fainéants, pourquoi quand on dit aux gens qu'on va les promouvoir, on fait grève parce qu'on vous dit que le mérite sera payé. Mais conclusion, vous qui êtes jeunes, au chômage, vous voulez faire comme eux. Le problème, c'est que vous faites ce jeu-là. Vous allez mourir de faim si vous croyez qu'il va encore y avoir un jour des situations où on va vous asseoir de rien foutre et à vous payer. Tant que pour quel patron il va trouver où l'argent pour payer des gens qui ne lui rapportent rien. Une entreprise, c'est une organisation qui emploie des gens pour produire ce que ça rapporte. Donc, il fait des profits, ça l'encourage à continuer. Mais si vous ne rapportez rien, de telle sorte qu'après vous avez payé, il fait des profits, pourquoi vous emploie? Par exemple, pour vendre dehors, la domestique lui coûte 20 000, elle gagne 10 000 à la fin du mois après avoir fait son commerce. La femme ne va pas virer la domestique le premier mois, parce que nous avons des dizaines de personnes à ne rien foutre. Et vous priez pour avoir cet emploi. Dieu ne peut pas vous exaucer. Si vous exaucez, Dieu serait un fabricant de voleurs. Si il peut gagner des salaires, il serait un Dieu de voleurs. Dans ce cas-là, je ne l'adorerai plus. Dieu ne peut pas fabriquer des voleurs. Et si beaucoup de gens sont à la maison, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail. C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent un salaire. On est utilisé. Ça vient du mot emploi. Utilisé pour faire quelque chose. J'ai faim. Je veux manger de l'oignon pilé de la sauce d'arachide. Je ne veux pas travailler. J'ai besoin à ce moment-là d'employer un cuisinier, quelqu'un qui va piler l'oignon. Même si tu es au chômage, même si tu es gentil, même si tu sais le faire et ce que je suis prêt à payer, tu vas rester au chômage. J'ai donné l'exemple du commercial. Quelle entreprise au Bénin n'est pas prête à recruter immédiatement, sans aucune procédure, toute personne qui peut écrire sur papier que lui rapporte des clients. Deux clients. Si je te rapporte 1000 clients, donne-moi mon million. Et l'entreprise va dire non, ça n'existe pas. Mais ça ne vous intéresse pas. Vous n'appelez pas ça. Donc, c'est votre conception de l'emploi qui pose problème. Toutes les entreprises ont besoin de compétences, de choses à faire pour aller travailler, disent-ils, qui n'ont rien à faire, il paraît. Ce que je ne peux pas comprendre. Comment ça se fait? C'est la faute des congés d'or ou un titre foncier pour avoir des salaires à ne rien faire. Ça fait 30 ans que ça ne marche pas, mais vous continuez d'y croire. 30 ans que 90% chômage. Et vous continuez de faire comme si le chômage était anormal, alors que ça prouve que la norme du diplôme, c'est le chômage. Quand je dis qu'un diplômé est fait pour être chômeur, c'est une situation extraordinaire, exceptionnelle, quand un diplômé trouve de l'emploi. Regardez les chiffres. Mais vous ne verrez pas d'ouvriers chômeurs. Vous ne verrez pas d'artisans chômeurs. Pourquoi? Ils savent faire quelque chose. Celui qui sait faire quelque chose ne peut pas faire tout. Quand moi je suis sorti de l'école, qu'est-ce que je savais faire que l'école m'a appris à faire? Rien. J'ai fait marketing. Je dis, on ne veut pas savoir ce qu'on t'a appris. Qu'est-ce que tu sais faire? Il ne peut pas parler. J'ai fait logistique et transport. Je dis, explique-moi, moi je veux te recruter. Qu'est-ce qu'on est? Banque et finance, tu sais faire quoi? Il va commencer à me citer faire pour. Je dis, je m'en fous des cours que tu as pris. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Tu vas au marché, tu demandes à une commerçante, qu'est-ce que tu vends? Elle dit, je suis commerçante. Tu vas lui donner l'argent parce qu'elle est commerçante. Elle vous dit que personne n'achète. Vous êtes en train de vouloir vendre quoi ce qui n'a pas acheté. On parle de l'emploi, un endroit où on transige les services. Vous voulez de l'argent sur le marché de l'emploi. Vous n'avez rien à offrir. L'argent va tomber d'où?
Et les hommes politiques font la démagogie de vous faire croire que c'est possible. On multiplie les projets, on gaspille de l'argent pour vous baratiner. On ne peut pas sauver quelqu'un qui dépend. La solution, c'est quoi? Un, l'humilité. Moi, mes diplômes demandés à ma mère, c'est dans sa cantine, je ne sais même pas où c'est. Quand quelqu'un m'appelle pour faire un travail, s'il veut voir, je peux lui apporter un tel que diplôme ou pas, il va m'appeler. L'humilité de mettre votre diplôme à la main. Et ça ne vous dit pas, j'ai étudié tout ce temps-là. Tu as étudié tout ce temps-là, mais le temps qui te reste à vivre dans la souffrance est encore plus grand. Donc laisse le temps derrière, pense à l'avenir. On ne m'a pas recruté pour ça, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait par exemple un Master of Science en gestion des opérations de la production, entre autres. C'est un diplôme pour gérer les usines, la qualité de travail, la qualité totale, l'approvisionnement, bref, des choses qu'il n'y a même pas d'usine au Bénin. Si je veux vendre ça là, je vais mourir de faim. Il n'y a pas d'usine au Bénin qui peut travailler avec ça. Et s'ils t'appellent, ils vont vouloir te payer 50 000 francs de salaire. Donc, je ne m'occupe pas de ça. Mais dans, que ce soit spirituel, que ce soit immobilier, que ce soit dans tous les domaines où je suis, ce que j'ai appris à l'école m'aide à bien le faire, à la consolation. Mais à part ça, là, mettez vos diplômes à défaut de la poubelle, parce qu'il faut quand même les garder, mettez-les dans une cantine et oubliez-les. Je ne blague pas. Regardez les chiffres. Jésus dit, vous avez des yeux pour voir, vous ne voulez pas voir. On dit en fond qu'un clin bon. Vous ne voyez pas que dans le pays, tous ceux qui réussissent ne parlent pas de diplôme, n'ont pas de diplôme. Vous n'avez pas des yeux, mais c'est moi qui vois. Les 10 gars que vous admirez le plus au Bénin, ils ont quel diplôme que vous savez? Quand les gens ont 4 diplômes, regardez comment ça est. 4 doctorats. On ne peut rien gérer de bien. Laissez les diplômes à la poubelle, s'il vous plaît. Sinon, vous allez devoir manger vos diplômes. Et quand ça va finir, vous allez mourir. Première chose. Deuxième chose, avoir l'humilité d'apprendre à faire quelque chose. Et je disais hier à la fin du séminaire que quand on dit d'apprendre à faire quelque chose, les gens se disent on va retourner à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Apprendre à faire, c'est apprendre à faire. Tu es là, tu peux apprendre ce soir à préparer. Demain, tu le prépares, tu le vends. Tu n'as pas besoin de diplôme. Évidemment, les jeunes au Bénin, dès que tu apprends quelque chose, ils demandent l'attestation. Tellement ils sont habitués à papier. Ce n'est pas d'attestation qu'il s'agit. Est-ce que tu sais faire, par exemple, des comptes? On a des gens qui ont des diplômes en comptabilité. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils savent faire, ils ne peuvent pas te dire. Tu ne peux pas aller une dame aider aller une commerçante à faire une comptabilité à la dit pour voir si elle est rentable. Elle ne peut pas aider quelqu'un en période des fêtes à faire un inventaire pour voir s'il n'a pas été volé. Il ne peut pas aider quelqu'un à mettre en place un système de contrôle de gestion pour éviter les fraudes. Au lieu de parler, c'est la faute de notre système éducatif. En termes de qu'est-ce qu'on sait faire, on parle en termes de diplôme. Allez apprendre à faire quelque chose. Apprenez à convaincre. Apprenez à vous présenter. Apprenez à attirer des clients. Apprenez, je ne sais pas, à réparer des chaussures. Apprenez, je ne sais pas, à réparer un ventilateur. Il ne faut pas dire qu'il y a un ventilateur. Il y a des choses simples qu'on peut apprendre en quelques minutes sans diplôme. Et sur lesquelles on vit. La plupart des gens qui font des... Regardez par exemple, pour être vulgarisateur, là, on a besoin d'un an de formation en réalité. Là où un vulgarisateur va faire apprentissage 3 ans, toi qui as été à l'école, tu vas dans un atelier de vulgarisateur, au bout d'une semaine, tu es un expert, tu vas battre le vulgarisateur. Si tu te mets à faire de la vulgarisation, tu vas être plus fort que tous les vulgarisateurs. Mais tu vas dire que c'est son métier parce que tu es trop grand alors que tu es dans la dèche. Tu n'es même pas capable d'avoir 100 francs en poche, mais tu te sens tellement puissant que toi, tu ne peux pas t'occuper des pneus. Quand moi, j'ai commencé l'immobilier, les gens m'ont dit, et des gens très sérieux, qui disent, toi, tu en es réduit à être démarcheur. Je dis, démarcheur, attendez de voir. Démarcheur, maintenant, on a vu. Il y a démarcheur, il y a démarcheur. Moi, je suis démarcheur, mais ça marche pour moi. Parce que même l'immobilier, un secteur où il y a des milliards, à cause des voyous qu'il y a dedans, tout le monde se disait, il n'y a rien là, démarcheur, démarcheur. Il coûterait les gens pour 1 000 fois, pour 2 000. On dit démarcheur. Moi, j'ai été démarcheur. Mais pour mon démarcheur, là, c'est quand même doux. Hein. Ayez l'humilité de vous rabaisser à apprendre à faire quelque chose. Et aimez votre prochain comme vous-même. Vous qui êtes là, est-ce que vous êtes capable de voir quelqu'un et de lui donner votre argent sans contrepartie? Vous êtes capable? Surtout vous, les jeunes de maintenant, là, quand vous invitez n'importe quoi, à quoi demain, hein? Sinon, vous ne bougez pas. Donc, même quand on veut vous inviter gratuitement, vous regardez l'argent. À plus forte raison, vous ne donnez rien à personne sans intérêt. Pourquoi vous croyez que des gens vont vous payer toute votre vie sans rien en retour? Si vous voulez l'argent des gens, vous devez dire aux gens qu'est-ce que vous leur apportez en échange. Et vous allez gagner d'autant plus d'argent que vous allez développer une grande capacité à apporter beaucoup de choses aux gens. Quand on vous aime, quand on ne vous aime pas, ça ne change rien. On vient vers vous si on a besoin de vous. Jésus dit que le plus grand, c'est celui qui lave les pieds aux autres. Si quelqu'un a le pied sale, il a quelqu'un pour laver le pied, il t'aime, il ne t'aime pas. Si quelqu'un a lavé le pied, il va t'inviter pour le faire, il va te payer pour ça. On se moque souvent des Yoruba. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Mais ils sont plus juste que nous tous réunis. Il faut arrêter de faire le malin et les imiter. Vous voulez tous de l'argent. Et vous avez honte de l'argent. Quand on dit que tu aimes l'argent, tu commences à te défendre. Alors que tu aimes l'argent. Il faut commencer à assumer ses envies pour les concrétiser. Vous cherchez un emploi pour avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais vous devez être prêt à payer le prix de l'argent. C'est la contrepartie qu'on a. Donc, apprenez à faire quelque chose. Troisième chose très importante, développez un savoir-être. Une chose est de vouloir vendre quelque chose. Une autre chose est d'avoir la mentalité, l'attitude de quelqu'un qui va aller loin dans le service. Parce que le service, c'est les affaires, c'est un monde qui a ses règles. Et il y a quelques règles importantes pour réussir à vendre des choses aux autres. Pour réussir, parce que même celui qui trouve un emploi là, c'est quelqu'un qui vend des choses aux autres. L'étape où on dit, bon, j'ai un emploi, je vais au boulot de 8h à 10, midi, de 15h à 19h, même est dépassée. Aujourd'hui, les gens qui gagnent le plus d'argent, c'est les consultants, c'est des gens comme ça. Ils peuvent avoir marché dans le mois et puis vivre pendant 3 mois. Moi, ce que je peux gagner en parlant 3 heures, en 10 ans, vous ne le gagnez pas. Dans ce pays-là, il y a plein de sociétés où moi je parle 3 heures de temps pour 3 millions. Donc, on n'a pas besoin de travailler tous les jours pour vivre. On n'a pas besoin d'emploi du 1er au 31 du mois. Moi, je vends des terrains. Des jeunes qui achètent un terrain. Je leur donne leur commission. Si on fait au SMIC, ça fait 20 ans de salaire pour eux. Parce qu'il est tombé sur un tonton qui est passé par lui. Il a amené, il a acheté un terrain. Je lui donne sa commission. Ça lui fait 20 ans de SMIC. Et celui-là était à la maison, il n'a rien à faire, il n'a pas trouvé d'emploi. Parce qu'il ne veut rien faire. Il y a quelques attitudes. Je vais revenir tout à l'heure sur quand je dis qu'on peut gagner de l'argent en partant de rien. Certains en doutent. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. À moi peut-être de dire ça d'abord avant de revenir sur les attitudes. Je dis qu'on peut gagner de l'argent en partant de rien. Ce n'est même pas que je le dis. Je le fais tous les jours. Je connais aujourd'hui des milliers de jeunes qui l'ont pratiqué et ça marche. Faire des affaires, ce n'est pas aller avoir un registre de commerce. On n'a pas besoin d'avoir un registre de commerce. On n'a pas besoin d'avoir des bureaux, de recruter une secrétaire, d'avoir une moto, d'avoir un téléphone, d'avoir toutes ces futilités-là pour dire qu'on est en train de faire des affaires. Une affaire, c'est un mécanisme par lequel tu crées de l'argent en partant de rien ou en partant de peu. Tu fais des affaires quand tu es capable, en réglant les problèmes des gens ou en fournissant quelque chose aux gens, de gagner plus d'argent que ça t'a coûté de les servir. Dit autrement, les affaires commencent quand quelqu'un a un problème. Si personne n'a de problème, tu ne peux pas faire des affaires. Parce que les affaires commencent par la vente d'une solution. C'est pour ça que quand les gens ont des problèmes comme actuellement là, moi je ne sais pas pourquoi vous plaignez, c'est là où il y a de l'argent à gagner. Quand tout va mal, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à régler. Quand il y a des choses à régler, prends dedans, règle, on va te donner l'argent. Vous ne savez pas que quand les gens ont des problèmes, ils sont prêts à payer pour arrêter le problème. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un a des problèmes, il est prêt à payer pour sortir du problème. S'il est prêt à payer pour sortir du problème, pourquoi tu ne vas pas chercher son argent pour le sortir du problème? Je suis souvent, dans mes formations en marketing, les gens se fatiguent à vendre, ils n'arrivent pas à vendre. Parce qu'ils n'ont pas compris une chose. Quand vos clients n'achète pas ce que vous vendez. Qu'est-ce qui vous empêche de vendre ce qu'ils achètent? Quand vos clients n'achètent pas ou n'achètent plus ce que vous vendez, qu'est-ce qui vous empêche de vendre ce qu'ils achètent? Puisque tous les jours, les gens achètent quelque chose. Même un pauvre là, s'il mange et qu'il achète quelque chose, à quelques rares exceptions près des gars qui déjent vraiment, toi, la majorité des gens, tous les jours, achètent quelque chose. Toi, tu veux vendre. Il n'a pas acheté. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas eu besoin de pour toi. Ce n'était pas sa priorité. Il avait d'autres choses de plus urgentes à faire avec son argent. Si tu veux gagner de l'argent, mais vends ce qu'il achète. Là, quelqu'un, je lui dis, je viens acheter un terrain. Il dit, non, monsieur Kibi, pour moi, c'est la scolarité de mes enfants qui me préoccupe. Je lui dis, c'est parfait. Tu veux les inscrire dans quel genre d'école? Ah, BTS, c'est parfait. C'est quelle école tu as choisi? Il me dit, on t'a dit quoi pour la scolarité? Il dit, par exemple, 500 000, je suis d'accord. Si je te trouve la scolarité moins chère, ça t'intéresse? Il dit, tu as une école? Je dis, laisse tomber, je suis dans beaucoup d'affaires. Tu veux scolarité moins chère dans ton école? Là, il dit, oui, je suis d'accord. Donne-moi jusqu'à demain. Je vais rencontrer le directeur de l'école. Je lui dis, dans telle classe-là, tu as combien de places? Tu n'es jamais plein. Il y a peut-être 30 places, 40 places. Tu as combien d'étudiants? 15, 16, 17. Donc, tu as plus de 10 places libres. Il dit, oui, parfait. Nous sommes d'accord que les coûts de la classe sont en loyer, en électricité et en professeur. Il dit oui. Qui est un étudiant ou 30, c'est le même coût. N'est-ce pas? Il dit oui. Et donc, quand tu as fini de payer les coûts de la classe, dans tous les cas, s'il n'y a pas plus d'élèves, tu n'as rien perdu. S'il y en a plus, même si c'est un fonds qu'il paye, tu as gagné. Il dit oui. Il dit parfait. Moi, j'ai un ami très proche à moi qui veut inscrire son enfant. Il n'a pas beaucoup d'argent. Je sais que c'est 500 000. Mais il n'a que 250 000. Je ne dirai à personne que tu m'as fait ce prix. Mais de toi à moi, tu le prends pas sans changer à tes coûts. Tu le prends, c'est un bonus. Est-ce que tu ne veux pas l'inscrire? Il dit, bon, c'est parce que c'est pour toi. Hein. Je dis, en tout cas, si tu ne veux pas, je vais aller voir le directeur d'école. Ils sont prêts à avoir des salles vides. Il dit, bon, d'accord, tu ne dis à personne. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand je le quitte, je retourne voir l'autre qui voulait inscrire. C'était parti le voir pour l'immobilier, hein. Donc j'oublie d'avoir l'immobilier. Moi, je m'en fous. Je ne fabrique pas les terrains. Moi, je cherche l'argent. Si tu ne veux pas acheter de terrain, je vais prendre ton argent quand même. Je retourne voir, je dis, c'était 500 000, on t'a dit non. J'ai pu obtenir ça à 400 000. Il y a bon, comment tu as fait? 100 000, 400 000. D'accord. Tu me mets les 400 000. Je vais payer les 250 000 là-bas. J'ai gagné 150 000. Si je fais ça avec 10 étudiants, ça fait 1,5 million. C'est ton salaire pendant des années. Moi, j'ai fini de travailler. Est-ce qu'on a besoin de capital pour faire ça? Il m'a dit non, je suis parti vendre terrain, ils ont refusé, ils m'ont chassé, les gens n'ont pas l'argent, ils ont dit de revenir. On t'a dit d'aller chercher l'argent. Tu vas voir le gars qui parle de terrain. Il dit non, ma voiture est en panne, pour le moment je veux changer de voiture. Ah bon, ça tombe très bien, je vends des voitures. Tu veux quel genre de voiture? Il me décrit, tu as quel budget? Je vais sur les pas, je trouve la voiture, prends les photos. Je négocie avec le Libanais, je vais t'amener un client. Quel que soit le prix, moi j'aimais 10% de commission dessus. Si ça ne marche pas, je ne t'amène pas le client. Je signe un papier, j'allais choisir sa voiture, moi je suis tranquille. J'ai acheté une voiture de 14 millions, même 1,4 million. Il passe tout, moi j'ai fini. Parfois même je gagne plus d'argent que celui qui a porté sa voiture. C'est pas sûr que lui il a 400 000 francs, dommage. J'ai des amis qui sont menuisiers. J'ai des amis qui sont vitriers. J'ai des amis qui sont mécaniciens. Moi je dis aux gens que si tu veux faire des travaux de vitrerie dans ta maison, j'ai des équipes pour toi. Donc moi je vais me mettre à maintenant payer des vitriers pour les gérer parce que moi j'ai ce temps. Quand tu m'appelles, je connais un bon petit qui est un excellent vitrier. Je l'appelle, il fait le devis. Je mets ma marge dessus, je fais le travail. Je fais le travail. Tu payes, là, ça va, j'ai ma part. Est-ce que moi j'ai besoin de travailler? J'ai besoin d'argent. Mais ce que j'ai, c'est que j'ai l'intelligence pour trouver des clients. J'ai l'intelligence pour intercepter celui qui a un besoin. Et pour lui dire ce qu'il faut pour qu'il soit convaincu. Ça prend. Ça vaut plus que 1000 diplômes. Tu vois des gens qui ont des voitures, tu as des autres qui ont des voitures. Tu n'as pas besoin d'avoir un garage pour prendre leur argent. Donc, ça tombe bien. Je suis actionnaire dans un garage. Quand tu as n'importe quel problème de voiture, il faut m'envoyer un SMS seulement. Je viens avec mes collaborateurs, on va parler de ta voiture. Attends donc, t'envoies un SMS. Tu as déjà négocié avec le patron mécanicien. J'ai une opération, on y va. Là-bas, tu ne parles pas. Tu fais un diagnostic, tu me rencontres, c'est moi qui parle à mon client. On fait les devis, c'est moi qui parle à mon client. Tu dis combien tu veux prendre, je fais ma facture. C'est mon employé. Toi, tu es chômeur, mais tu peux employer quelqu'un qui est patron. Je vais là-bas avec lui qui n'intervient. Le client dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui rends compte. C'est moi qui prends l'argent, il prend sa part. Et moi, je gagne ma différence. Je peux faire ça avec des tailleurs, je peux faire ça avec des couturiers, je peux faire ça avec des frigoristes. Donc, tous les jours, quelque chose va marcher. Si le gars n'achète pas quelque chose, il va acheter l'autre. Pourquoi je suis obligé de me limiter à quelque chose pour gagner de l'argent? Regardez les commerçants d'une certaine époque. Les nanas benzes. Elles ne vendent jamais la même chose pendant 100 ans. Aujourd'hui, le sel marche, elle va vendre le sel. Elle va vendre le riz. Après, c'est elle va vendre le sucre. Après, c'est elle va vendre le tabac. On appelle ça l'agilité stratégique. Apprendre à vendre ce que les gens veulent acheter au lieu d'être bête à dire je vais forcément vendre ce qu'on m'a demandé de vendre. Ce n'est pas toi qui produis. Pourquoi tu veux être prisonnier du produit? C'est celui qui a son usine se débrouille. Toi, tu es jeune. Tu n'as encore rien. Tu veux gagner de l'argent. Va là où il y a l'argent. Prends l'argent. Honnêtement, mais va prendre l'argent. Tout à l'heure, je m'écrivais sur Internet que oui, je raconte des bêtises, que pour pouvoir faire ça, il faut au moins payer le téléphone pour appeler les gens, payer le transport. Je dis, vous êtes des paresseux. Avant le téléphone, on se déplaçait, on marchait pour aller voir les gens, pour leur parler. Et je connais des gens qui, à côté, nous font 30 km chaque matin pour aller au boulot et revenir. Aller-retour, ils font presque 30 km par jour pour aller travailler, gagner à peine 50 000 francs de salaire. Mais ils ne font pas ça toute leur vie. Quand tu n'as rien, tu t'ennuies, tu dors à la maison, tu es embêté par toute la journée. Lève-toi à 5 heures, marche à pied, va au travail, s'il te faut 3 heures pour aller au travail à 8 heures, fais-le à pied. Tu ne le feras pas 10 ans. Tu vas faire 1 mois, tu vas faire 2 mois, tu vas faire 3 mois. Rapidement, tes premiers revenus vont te permettre d'améliorer ton confort. Tu vas aller en grandissant. Vous voulez commencer au sommet alors que vous n'êtes rien. Vous passez votre temps à déchoir parce que vous ne pouvez pas avoir l'humilité de commencer par le bas. L'une des grandes règles spirituelles, c'est que à celui qui est fidèle dans les petites choses, on en profite de grandes. Il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Regardez les gens, les géants, les grands patrons d'entreprise, les gars comme les présidents américains. Ils ont commencé petit. La plupart ont commencé planton, on les appelle les sacs à dos. Ils sont entrés dans les entreprises comme planton, comme malintentionnés. Ils ont franchi un à un les échelons jusqu'à arriver au sommet. Pourquoi? Il est facile de rentrer dans toute entreprise par le bas. Il n'y a pas beaucoup de protocoles pour rencontrer un planton. Pas beaucoup de protocoles pour recruter un chauffeur. Pas beaucoup de protocoles pour recruter un stagiaire. Mais si tu veux être recruté numéro 2 de la boîte, directeur de ci, ça là, tu vas souffrir, il n'y a pas beaucoup. Donc, les gens qui montent dans la vie sont ceux qui, même si tu as doctorat, on dit que c'est le poste de planton qui est disponible. Dis oui. Si tu es là-bas, planton, les gars vont rapidement se rendre compte que planton, là, il est trop intelligent pour un planton. On est en train de gaspiller de l'argent. On va commencer à te mettre adjoint ou bien assistant du secrétaire. Tu vas être tellement bon, ils vont t'envoyer aux ressources humaines. Tu vas être tellement bon, ils vont t'envoyer chef service. Un jour, tu vas te retrouver DG de la banque. Mais si tu avais refusé d'être planton de la banque, alors que tu es à la maison, tu manges pour tes mamans et ton papa, ils ont des soucis, ils ont de l'hypertension parce qu'ils voient la maison tous les jours. Mais tu es trop paresseux pour aller accepter un boulot de planton, jamais tu ne seras ce DG. Et personne ne va jamais t'appeler pour te recruter, sous prétexte que tu as BTS marketing, action commerciale, pour te recruter directeur marketing de la banque. Il faut apprendre à commencer petit. Surtout si tu estimes que tu es bon. Commence petit. Moi, je fais partie au bénéfice de ceux qui aiment le plus l'argent et je m'en vante. Je suis programmé pour aimer l'argent, pour en gagner, je n'en ai pas honte, j'en suis fier. Mais si vous regardez bien, je suis probablement au bénéfice parmi les personnes qui offrent le plus de choses gratuites aussi. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Vous n'avez jamais noté la contradiction entre ma capacité, ma puissance à gagner l'argent et ma propension à faire des choses gratuites? Les deux se tiennent. Quand tu sais que tu es bon, tu n'as pas peur de faire du gratuit. Quand tu sais que tu es bon, tu n'as pas peur de faire du gratuit. Parce que quand tu commences à faire du gratuit, tu te rends indispensable. Tu prouves de quoi tu es capable. Tu donnes un échantillon de ta valeur. Ça ne mettra pas longtemps avant qu'on te demande combien tu veux coûter. Admettons que tu es un bon mécanicien. Tu as à la maison, aucun garage ne t'a recruté. Va travailler gratuitement dans un garage. C'est mieux que de s'ennuyer. Même s'il ne te paye pas ton transport à la maison, tu t'ennuies. Tu te frustres. Tu te décourages. Tu perds le moral. Tu tombes malade. Et tu rends tes parents malades. Et aucune femme ne va te respecter si tu es un homme. Donc au moins, fais semblant d'avoir un emploi. Accepte d'aller travailler gratuitement dans un garage. Si tu es si bon que ça, ils vont avoir des pannes que personne ne peut réparer. Tu vas dire, fais si. Hein, ça a marché. Progressivement, ils vont découvrir que le petit là, il est là. Il n'est pas mal, hein. Le jour où tu vas dire, bon, ce soir-là, je suis un peu occupé, je vais demain, ils vont dire, ah bon? Si tu dis, je peux envoyer, ils vont commencer à te demander combien tu veux qu'on te paye pour que tu restes ici en permanence. Combien tu veux? Parce qu'ils ont vu ta valeur. Dans la vie, tu vois un vieux en train de labourer son champ. tu n'as rien à faire, dis, tonton, est-ce que je peux t'aider? C'est gratuit, je ne veux rien. Je veux juste t'aider. Et fais-le de bon cœur. Ne fais même pas de calcul. Fais-le seulement. Quand tu vas arriver dans son champ, lui, il a un certain âge. Il prend peut-être 2 jours pour labourer 1 hectare. Toi, tu es jeune. Tu viens de la même journée, tu fais 3 hectares. Le soir, quand tu vas vouloir partir, il va te demander comment tu t'appelles, où tu habites. Tu es sûr que tu viens demain? Combien tu veux pour venir demain? Parce qu'il voit que le petit là, s'il n'est pas trop cher, il est quand même rentable pour moi. Mais si tu venais immédiatement pour dire, tonton, recrute-moi pour laboratoire, il va dire non. Je l'avoue, mon sang tout seul, depuis longtemps, je n'ai pas besoin de toi. Le fait que vous soyez trop orgueilleux pour accepter de commencer petit vous empêche d'avoir accès au marché de l'emploi. Moi, j'ai tout vendu. J'ai vendu des sandwichs, j'ai vendu des croissants, j'ai vendu des journaux, j'ai collé des prospectus, j'ai collé des affiches, j'ai vendu des voitures, des motos, des ordinateurs, j'ai tout vendu, des téléphones, des clés, j'ai tout vendu. Je marchais à pied. Moi, dans mon cas, ce n'était même pas parce que je manquais de moyens. Mais j'ai toujours une éducation d'entrepreneuriat. J'adore gagner de l'argent. J'adore relever des défis. Quand j'étais étudiant, je gagnais tellement d'argent que je ne savais pas comment en faire. Rien qu'à partir de petites idées. Mais en partant de rien en termes d'argent. C'est pour ça que je demandais à mes collaborateurs, personne ne me blague. Il n'y a rien que je peux leur confier qu'un va me blaguer. Ni en informatique, ni en rien. Personne ne peut me blaguer. Même les orchestres que vous avez ici, je ne suis pas musicien. J'ai dirigé l'orchestre du collège des Espoirs pendant des années. J'ai fait des concerts, j'ai rempli le rôle des Halles, la cour était pleine. Donc, moi, je n'avais pas 15 ans quand je faisais des affaires. Pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'on m'a communiqué une passion pour cela. On m'a communiqué aussi qu'il n'y a pas de saut métier. Même si on vous invite à être gardien dans la maison d'un riche, dites oui. Il vaut mieux être gardien d'un milliardaire que directeur commercial d'une société de pauvres. Parce que quand tu es gardien d'un milliardaire, tu vas dans sa maison. Voilà l'autre erreur que vous faites. Quand vous rentrez quelque part, vous croyez que vous êtes intelligent. Alors que, excusez-moi, ce n'est pas de l'intelligence. Vous dites, on ne me paye pas beaucoup. Je ne fais que ce pour quoi on me paye. C'est bête. Quand vous arrivez quelque part, même si on ne te donne rien, donne beaucoup. En donnant beaucoup, tu deviens indispensable. Tu es son gardien. Il y a lumière qui est grillée. Il s'apprête à appeler les tessis. Laisse tonton, je vais te changer. Tu changes. Il ne dit rien. Plomberie a problème. Je vais appeler plombier. Laisse, tu règles le problème. Son enfant a des problèmes à l'école. Tu t'assois, tu l'aides. L'enfant a resté à l'école. Il va devenir indispensable dans la maison. Même s'il veut te virer, c'est sa femme qui a dit, ah, regarde là, il ne faut pas le virer. Il faut plutôt lui faire une augmentation. Petit à petit, il va commencer à te confier des choses. Ah, va me voir mon terrain. Va donner tel à quelqu'un. Il va te tester sur l'honnêteté. Si tu restes constant, honnête, discipliné, disponible, ça c'est autre chose. Vous venez quelque part pour faire stage. À 18h, vous êtes le premier fenêtre de parti. On vous a payé jusqu'à 18h. 18h07, on ne va pas vous trouver. Vous croyez que vous êtes intelligent. Quand tu es stagiaire, tu dois être le dernier parti. Quand tout le monde parle, tu attends jusqu'au DG part. Tu dis, patron, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous voulez que je vous suive pour aller à la maison pour ouvrir votre garage. Il doit se dire, ce petit-là, si j'ai besoin de quelqu'un à 3h, c'est lui que j'appelle. Ce petit-là, je peux compter sur lui. Quand vous êtes utile, quand vous servez les gens, vous vous rendez indispensable. Et plus celui auquel vous vous rendez indispensable a de la valeur, plus vous prenez de la valeur. Parce qu'il est prêt à payer gros, pas les temps qui courent, pour garder quelqu'un de ce tempérament, de cette honnêteté, de cette disponibilité. Et comme il n'est pas bête, il a beaucoup de grands problèmes qu'il n'avait pas réglés. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, il va progressivement vous donner des responsabilités. Et vous allez atteindre des niveaux que vous n'auriez jamais pu atteindre par vos diplômes normaux. Bon, mon ami Sanfouella, mon ami Boukou Menabé, je vais peut-être donner son exemple pour vous montrer comment ce principe-là s'applique. Salfo, c'est un jeune Boukou Menabé. Salfo, où tu es? Ils vont croire que je mens là. Quand je parle, ils croient toujours que je mens. Où est Salfo? C'est l'un des hommes les plus puissants du Bénin là. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Voilà, viens, vont te voir. Ils ne vont croire que je mens. Il s'appelle Salfo Bambara. C'est un Burkinabé. Je l'ai rencontré en Ouaga, ça fait peut-être 2 ans. D'accord? C'est notre ami Salfo le Burkinabé. Je l'ai rencontré en Ouaga, ça fait quoi? 2 ans à peu près, non? Ça fait combien d'années, Salfo? 2 ans. J'étais parti animer un séminaire à l'église du pasteur Karambiri sur comment aider les jeunes à rentrer dans leur glorieuse destinée. J'ai fait 3 jours de séminaire, Dieu s'est glorifié, c'était puissant. Et tous les jeunes étaient impressionnés. À un moment, le jeune Salfo vient me voir. Il dit, monsieur, je vous suis pour aller au Bénin. Il dit, allez foutre au Bénin. Il dit, non, moi je suis bouvier, j'ai fait agriculture, je n'ai pas de diplôme, mais je suis dynamique, je vous suis seulement pour apprendre. Mais tu vas rester où au Bénin? Il dit, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Tu veux gagner combien? Non, je veux pas d'argent, je veux vous suivre pour apprendre. Il dit, ah bon? Tu vas venir à côté de nous comment? Il dit, je vais me débrouiller. Je me suis dit, le jeune la parle. Je ne voulais même pas donner l'argent de placement. Je me suis dit, je vais voir ce qui va arriver. Ok, je vais donner le contact. Si un jour tu viens au Bénin, appelle-moi. Quelques jours après, il arrive au Bénin, il m'appelle, il dit, patron, je suis là. Et ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment je vais le loger. J'ai dit, ok, viens habiter chez moi. C'est mon seul collaborateur qui habite chez moi aujourd'hui. Il a une chambre dans ma maison. Ma maison vaut 200 millions, il a une chambre dedans pour lui tout seul. Ça fait 2 ans que je l'ai croisé. Bouvier sans diplôme, il n'a même pas le PPC. Il arrive à Cotonou. Il devient stagiaire. Burkinabé là, qui connaît plus Cotonou que vous tous réunis ici, demandez à mes collaborateurs. Un stagiaire ne parlant pas fond. Il a commencé. Disponibilité, honnêteté, en combativité dans la foi. Bonne ambiance. C'est toujours le gars qui est bonne ambiance. Tout le gars dit la vérité, il est pragmatique, mais il est travailleur. Aujourd'hui, ça soit le numéro 2 de Global. En 2 ans, quand je pars de Cotonou, que je veux lui confier la direction générale par intérim de Global Service Plus, c'est à ça qu'il faut que je laisse. Il n'a pas le BPC. Son salaire a multiplié par plus de 10 en 2 ans. Il n'a aucun diplômé, je m'en fous. C'est le meilleur de mes collaborateurs. Il n'est même pas béninois. Pourquoi? Je veux te suivre seulement, je ne te demande rien. Quand tu rencontres un homme intelligent, tu ne demandes rien. Tu es plus intelligent que tout le monde. Mais vous, pour la plupart, moi, je travaille pour lui, je travaille, il ne me paye pas, moi je vais arrêter. Tu vas arrêter pour aller faire quoi à la maison? Même si la personne ne t'est pas reconnaissant, fais-le pour Dieu. Dieu te le rendra. Il dit, celui qui s'occupe bien des affaires de son maître, Dieu lui donnera ses propres affaires. Demandez aux gens qui sont les patrons, artisans, ouvriers. Quand ils ont été voleurs en apprentissage, leurs apprentis les volent. Celui qui a été très honnête en apprentissage, il a des apprentis honnêtes. Demandez-leur, bon, c'est des règles. Vous devez pour grandir. Regardez par exemple, moi quand je défendais mon ancien patron, ce n'est pas que j'aime tout ce qu'il fait, mais quand vous êtes quelque part, soyez loyal. On peut m'aimer, on peut ne pas m'aimer. Le Bénin a retenu que je suis capable de mourir pour faire mon boulot. Le jour où je ne suis plus prêt à le faire, je ne fais pas semblant. Je dis, ça suffit, je m'en vais. Mais quand je suis là, je ne fais pas de calcul. Je me donne à 100%, ne faisant aucun calcul, ne demandant rien. Je me donne point final. Même si lui, il est ingrat, le monde et Dieu voient que ce petit est capable de loyauté et de puissance. Et ça paye toujours. Quand vous êtes quelque part, donnez-vous à 1000%. Écoutez, vous êtes par exemple à la caisse dans une entreprise. Vous êtes commercial dans une entreprise. Vous êtes dynamique. Vous êtes enthousiaste. Vous êtes de bonne humeur. Et vous êtes même livreur chez des gens qui vendent des boissons. Souvent, vous avez la mine renfroyée parce que vous n'êtes pas content de votre salaire. Mais vous faites une erreur. Quand vous avez la mine renfroyée comme ça, vous allez chez des clients. Les clients voient que voilà quelqu'un encore qui a la mauvaise mine renfroyée. Bon, livre pas rapidement. Alors que, ils ne vous en veulent, ils n'en veulent pas à votre patron. Ils considèrent que toi, tu es quelqu'un de mauvais caractère. Ils s'en foutent de tes problèmes. Si au contraire, tu étais enthousiaste, d'abord, il y a des choses qui te donnent du pouvoir. Mieux, tu as déjà vu des cas où, même moi, ça m'est arrivé, tu vois quelqu'un qui vient faire un travail chez toi, il est tellement enthousiaste que tu dis, tu gagnes combien? Tu as envie immédiatement de le déboucher, de l'arracher, de son patron. Si tu te dis, quelqu'un de ce caractère, de ce zèle, en train de se battre comme ça pour les affaires de ton patron, si seulement j'avais des employés comme ça. Et tu vas avoir envie de le débaucher. Les gens qui travaillent bien, les gens qui sont à la caisse, qui sont au secrétariat, qui font preuve de zèle, en général, c'est eux qui ont des promotions. Même si ce n'est pas dans la même entreprise, les gens les débauchent toujours d'entreprise en entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils font tellement bien leur travail que, même si leur employeur du moment ne connaît pas leur valeur, comme ils sont en contact avec le monde entier, quelqu'un d'autre voit leur valeur, vient les chercher. Mais quand tu as toujours la mine renfroyée, c'est toi le premier parti. C'est toi qui es toujours en train de faire le travail minimum. Tu penses que tu fais du mal à qui? Ton patron te dit, il va trouver quelqu'un d'autre. Mais toi, personne ne va jamais t'appeler ailleurs parce que ce qu'on a vu de toi là ne donne envie à personne de t'avoir chez lui. La meilleure manière d'être prisonnier d'un mauvais emploi, c'est de mal le faire. Si tu détestes un professeur, il faut vite comprendre ta leçon pour changer de place. Sinon, tu vas trouver, tu vas le supporter pendant très longtemps. Commencez petit. Si vous commencez petit, que vous êtes honnête, que vous êtes travailleur, vous grandirez très très vite. L'autre chose, c'est que quand je parle de faire quelque chose, des affaires ou n'importe quoi, il y a de vieux adages qui sont faux, qui sont restés dans nos mémoires. L'un de ces adages dit que il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est faux. Archi faux. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que les gens se lèvent, ils font ce qu'ils veulent, et maintenant ils commencent à chercher qui va acheter. Vous devenez des mendiants de clients. Moi, j'aime vendre, mais je n'aime pas mendier l'argent de quelqu'un. Tu fais le malin, je te laisse partir. Parce que je n'en suis pas un client prêt. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas tuer un ours pour chercher à vendre sa peau. Mon père m'a appris quelque chose de très, très intéressant qui m'a toujours servi. Il m'a dit, non, ça là, c'est dépassé. On appelle ça l'esprit de production. L'esprit qui produit pour chercher à prendre un client. Ce n'est pas bon. Pensez au contraire. Dites-vous ceci. Il ne faut pas prendre le risque d'aller se faire tuer par un ours sous prétexte qu'on veut prendre sa peau sans être sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a l'argent en main pour vous l'acheter. Il ne faut pas prendre le risque d'aller se faire tuer par un ours sous prétexte qu'on veut chercher sa peau sans être sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a l'argent en main pour l'acheter. C'est l'un des plus grands secrets de ma réussite. Si vous me voyez quelque part, sachez qu'il y a la victoire là, sinon moi je ne vais pas là-bas. Parce que je ne me fatigue pas à faire des combats pour ensuite trouver des solutions. Avant que je n'aille te chercher un produit, il faut que tu m'aies déjà déposé l'argent ou la preuve que tu es prêt à payer. Vous allez à l'école, vous choisissez vos carrières comment? Tout le monde fait ce, toi aussi tu vas faire ce. Tout le monde fait science juridique, toi aussi tu vas faire science juridique. Les gens font marketing, tu vas faire marketing. Pourquoi tu as fait marketing? Il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Et la plupart d'entre vous avez des diplômes sans vraiment savoir pourquoi vous les avez eus. Et finalement, vous cherchez maintenant qui veut de ça. C'est l'inverse. Il faut voir qu'est-ce que les gens veulent et développer ça. Tu as doctorat en médecine. Tu es dans un village où, je ne sais pas pourquoi, peut-être que les gens meurent tellement qu'ils sont toujours en train d'acheter des cercueils. Prends des cercueils et laisse l'aspect de médecine tranquille. Tu vas me dire, je ne suis pas menuisier. Mais si tu n'es pas menuisier, travaille avec un menuisier. Il y a soit dans ce village, soit dans d'autres villages, des menuisiers qui produisent des cercueils que personne n'achète. Toi, tu es quelquefois, les gens achètent des cercueils. Fais un partenariat avec ce menuisier-là. Quand il y a un mort, tu lui demandes de livrer un cercueil. Il livre son cercueil peut-être à 35 000. Tu vends ça à 60 000 francs. Tu prends ton argent. Et puis, tu es docteur, vendeur de cercueil. Tu vendeur de cercueil, tu rentres un peu docteur. Pourquoi tu t'accroches à docteur? Tu manges le nom docteur. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Pourquoi vous accrochez au titre alors que la finalité c'est d'avoir l'argent? L'une des raisons pour lesquelles les jeunes demandent des capitaux, quand on leur demande de faire des affaires, c'est quoi? Quand vous dites capital, capital, là, c'est pour faire quoi? Capital pour produire ou capital pour acheter ce qu'on va vendre? Je laisse tomber le capital de gaspillage pour le fonctionnement d'entreprise. Bon, pour la plupart, vous savez que ce n'est pas indispensable, j'espère. Mais vous estimez que le capital pour acheter ce qu'on va revendre, ou le capital pour produire ce qu'on va vendre, est indispensable. Parce que vous croyez, je ne sais pas d'où vient ce mensonge-là, qu'on ne peut vendre que ce qu'on a produit ou ce qu'on a acheté. C'est faux. Qui vous a dit qu'il faut acheter quelque chose ou le produit forcément pour vendre? Moi, je passe mon temps à vendre des choses que je n'ai pas produites et que je ne suis même pas fatigué à acheter. Pourquoi je vais mettre mon argent pour acheter quelque chose, ça va attendre un client? Donc pendant ce temps, mon argent dort. Non. Non. Je n'ai pas besoin d'acheter pour vendre. Je n'ai pas besoin de produits pour vendre. Pour vendre, j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un qui veut acheter. Regardez les marchés publics. Quand vous prenez un marché public, par exemple, pour fournir des ordinateurs à l'État béninois, ils sont souvent gagnés par des gens qui n'ont même pas été à l'école. Ils ne peuvent même pas te lire leur bon de commande. Mais c'est eux qui gagnent des marchés en milliards pour livrer des ordinateurs à l'État. Vous devinez bien qu'ils ne savent même pas comment on allume un ordinateur. Mais c'est lui qui gagne le marché. Ça veut dire quoi? Lui sait faire ce qu'il faut faire pour avoir le bon de commande. Quand il a le bon de commande, il y aura toujours plein d'informaticiens qui sont là, qui sont au chômage ou qui ont des stocks qui ne vendent pas. Tu vends ton ordinateur à combien? 300 000 parfaits, tu me livres ça. Elle a facturé 3 millions à l'État. c'est toi qui livres, c'est toi qui te fabrique, c'est toi qui déplace, c'est toi qui fais tout, comme son employé. Quand tu as fini, elle présente sa facture, lui donne ses 3 minutes, elle te donne ses 300 000. Elle va gérer, qui va gérer. Puis le site est terminé. L'ordinateur, toi, tu es fatigué à importer, tu as vendu à 300 000, tu as gagné 30 000 dessus. Si tu ne sais pas faire, elle a gagné au moins 2 millions dessus. Or, c'est toi qui as fait le travail. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu. Elle n'a pas besoin de capital. Elle n'a pas besoin de prendre son argent pour aller importer des ordinateurs de Dubaï ou de Chine pour les garder là, espérant que quelqu'un va acheter. Elle a juste besoin de trouver celui qui veut acheter. Quand tu as celui qui veut acheter, il y aura toujours quelqu'un pour fournir. Et ça ne sert à rien de te fatiguer avec les stocks. Par exemple, les gens pensent que moi je suis tellement riche que toutes les parcelles que je vends à la facture, je les ai d'abord achetées. Il faudrait que moi je joue avec mon argent comme ça. Je sais faire en sorte que ceux qui veulent acheter passent par moi. Quand quelqu'un veut acheter, je vais voir celui qui veut vendre. Et il y en a toujours. Il met son produit là, moi je prends mon argent, il prend pour lui. Généralement pour moi, encore parfois plus supérieur à pour lui. Je ne prends aucun risque. Tu veux ouvrir pressing. Si tu as besoin de machine pour ouvrir pressing, prends la craie, ça ne coûte pas 5 francs de craie. Et qui suit ta porte pressing. Les gens viennent voir, tu laves les habits, oui. Si dans le pressing, ça coûte 1000 francs, c'est le prix client. Si tu es un professionnel du secteur, les gens peuvent te faire à 500. Moi, j'ai dit, j'ai fait tout ça dans ma vie. Tu vas t'entendre avec au même plusieurs pressing. Tu dis, moi, les choses que je t'amène là, c'est demi-prix parce que je vais t'amener beaucoup. Je viens t'apporter, tu laves. Quand quelqu'un vient au pressing là, il attend pour voir celui qui est en train de laver son habit. Il s'en fout de là où ça se lave. Il a déposé et veut voir sa propre. Ou bien, ce qui se passe quand on dépasse son arrivée, il s'en fout, non? Pourquoi tu veux avoir machine pour laver pressing? Tu te fatigues à laver des habits. Tu prends sa tenue. Soit tu vas à pied donner à quelqu'un, soit tu dis à la personne, j'ai des commandes. Il ne va pas se déplacer, venir prendre. Il prend, il lave. Il dit, moi, je suis professeur du secteur, c'est 500. Tu lui payes 500. Tu me dis, viens demain. Le client vient, il te paye 1000 francs. Tu as ta part, il a ta part. Tu gagnes autant que celui qui a la vie. Sans aucune machine. Sans aucun capital. Alors, qu'est-ce que vous foutez à la maison? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. État va faire, je ne sais pourquoi. État va faire quoi pour vous depuis 40 ans, il n'a pas encore fait. Peut-être pour vos petits-enfants. Je suis en train de vous dire que pour gagner de l'argent, il faut se mettre à travailler. Il ne faut pas attendre un contrat de travail. C'est la période des fêtes. Les gens veulent vendre. C'est sûr que tu connais des gens qui achètent au moins du riz et de l'huile et du poulet pour fêter. Ou bien dans ta maison. Ton coin est plein. Si une femme doit prendre, par exemple, de Calavi, 10 millions pour aller au marché, c'est plus de 1000 francs, aller autour de 2000. Tu ne peux pas négocier, par exemple, voir dans ton quartier, toutes les femmes qui veulent acheter du riz là, une mesure, deux mesures, trois mesures, ainsi de suite, tu agrèges des demandes. Tu te demandes à une importatrice ou bien à quelqu'un qui vend un peu en gros de te livrer un sac. Le soir, les gens viennent, tu partages, tu vends et puis tu as fait ta marge, tu redonnes l'argent à l'autre. Tu as besoin de capital, tu es venu vendeur de riz dans ton quartier pour les fêtes. Je connais des gens même qui font un élevage de poulet. Ils s'appauvrissent. Ils font un élevage de poulet en intellectuel dans les villages. Ils font un calcul de coût de revient, le poulet revient à 2500. Le paysan, il a laissé son poulet manger n'importe quoi. Il a fait, il dit, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs, le poulet s'en va. Tu ne peux pas faire confiance avec des gars comme ça. Comment tu fais? Tu arrêtes d'élever des poulets, de payer de vaccination, de suivre la mort des poussins. Tu viens en ville, tu fais le tour des hôtels, des restaurants, des gens qui ont de l'argent. Moi, mon épouse achète parfois 100 poulets à la fois. Et ce n'est pas que ça dure longtemps, hein, au nombre de personnes que je nourris. Quand tu trouves des gens comme ça, dès qu'ils ont besoin de poulets, tu vas voir le villageois qui a déjà son poulet. Ce n'est pas ton problème de production de poulet. Il ne faut pas rentrer dans des problèmes que tu ne peux pas gérer. Tu vas dans le village là. Tu veux prendre beaucoup, même 7 enfants, 7 ans, 5 ans, va te laisser poulet. Tu prends ça dans un taxi. Tu n'as pas d'argent. Hein. Je t'amène l'argent ce soir. Mais même si moi, on va aller livrer ça à mes clients. Tu vas prendre ton argent. Tu vas aller livrer aux clients. Tu fais un hôtel, il paye cash. Elle a payé au prix de Cotonou pour les 3 500, 4 000. Tu as pris le poulet au village à 750, même si tu payes ton déplacement. Il y a une marge. Quand tu as fini de lui donner son argent, tu as gagné autant, sinon plus que lui. Sans capital. Pour gagner de l'argent, il faut avoir un esprit de service. Rien ne peut remplacer ça. Beaucoup de gens font des affaires, ne s'en sortent pas parce qu'ils inversent les choses. J'ai dit dans une interview, comme ça, et puis les gens prennent ça très au sérieux, mais c'est vrai que ça a résumé ma vie. Je dis, je ne cours pas après l'argent. Mais je sais qu'en rendant service aux gens, l'argent est obligé de courir derrière moi. Je ne cours pas après l'argent. mais je sais qu'en faisant service aux gens, l'argent est obligé de courir derrière moi. Et Jésus dit à peu près la même chose. Il dit, ne vous inquiétez pas, ce que vous allez manger, ce que vous allez porter, de ces choses-là, c'est les païens, les gens qui ne connaissent rien à Dieu qui courent derrière ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire obéissez aux lois de la vie. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Salomon, l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme qui a été le plus sage. Et regardez bien, quand Dieu a demandé qu'est-ce qu'il veut, il n'a pas dit à Jean, il a dit, donne-moi ta sagesse. Dieu dit, ce petit là, il est trop sage déjà. Comme Dieu a demandé la sagesse, il se fait que c'est obligé d'être suivi par l'argent. C'est obligé d'être suivi par le pouvoir. Celui qui sait, sait tout, y compris là où il y a l'argent. Pourquoi croyez-vous que vous êtes pauvre? Pourquoi croyez-vous que vous êtes au chômage? Parce que vous ne savez pas. Pendant que tu dis qu'il n'y a pas d'argent au Bénin, les gens sortent des IP tous les jours, on est déjà à Y. Les immeubles poussent tous les jours. Ça veut dire que dans ce Cotonou-là, il y a quelque part de l'argent quand même. Que certains ont vu. On est dans la même ville, toi tu n'as pas vu. L'autre a vu. Ce n'est pas qu'il est voleur, que tu es saint. C'est que tu n'as pas vu, tu as des yeux, tu ne vois pas ce que lui voit. Il faut prier pour voir ce que lui voit. Il faut prier pour savoir ce qu'il sait. L'emploi. Moi, je refuse du travail tous les jours. Mais dans le même pays où je refuse du travail, il y a des gens qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je sais que vous ne savez pas. Et c'est pour ça que je me bats, pour que vous sachiez ce que je sais. Si je me bats tant que ça sur la formation, c'est parce que ça vaut mille fois mieux que de donner aux gens de l'argent. Quand un jeune m'appelle aujourd'hui pour demander de l'argent, je dis catégoriquement non. Je ne te donnerai pas un franc. Mais je te donnerai ce qui vaut beaucoup plus que l'argent. Je te donnerai le savoir qui permet d'en gagner. Regardez même Jésus, le Fils de Dieu. Quand il disait, je donnerai aux captifs la délivrance de son sort, quand il arrivait sur les pauvres, faites attention, je donnerai aux pauvres la parole. Il n'a pas promis aux pauvres l'argent. L'argent n'a jamais sorti personne de la pauvreté. Mon père était à l'hôtel pendant 20 ans. Ils ont donné de l'argent à beaucoup de gens. Aucun d'entre eux n'est devenu riche. Si quelqu'un n'a pas fabriqué de la pauvreté, donne-lui un milliard dans un an, il est encore plus pauvre. Regardez les hommes politiques qui volent pendant 60 ans. Le jour où ils quittent le pouvoir, ils sont encore pauvres. Comment ça se fait? Si tu ne sais pas gagner de l'argent, tu t'en voles pendant 100 ans, tu ne seras jamais riche. En celui qui sait gagner de l'argent, prenez-lui tout. Dans un mois, il est encore riche. Donc, même si on vous donne de l'argent, on ne peut pas régler vos problèmes. Mais quand on vous apprend à penser, à agir, à vous comporter comme un gagnant, même si on vient de quitter votre maison, dans un mois, vous serez pauvre. Quand vous prenez tout ce que j'ai aujourd'hui, donnez-moi un mois, je suis encore riche. Parce qu'il suffit que j'aille quelque part, je leur parle pour empocher ce que tu vas gagner en 10 ans. Et j'ai reçu ça gratuitement. Je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. Je n'ai rien fait de plus que personne. Dieu m'a donné ça gratuitement. C'est pour ça que je mets tant de zèle que ça à le partager gratuitement. Parce que c'est la seule manière de mériter ce que j'ai reçu gratuitement. Votre état d'esprit fait qui vous êtes. Les gens disent souvent que les riches pensent de telle manière. Non. En fait, ce n'est pas parce que les gens sont riches qu'ils pensent de telle manière. C'est parce qu'ils pensent de cette manière-là qu'ils sont devenus riches. Quand vous voyez des pauvres ensemble, vous les reconnaissez à leur manière de penser. Il y a des gens, vous les voyez dans la pauvreté, mais vous sentez que celui-là va aller loin dans la vie. Vous ne savez pas pourquoi. C'est que vous voyez sa manière de penser. Si tu vois un pauvre, quand tu regardes sa manière de penser, de raisonner, tu peux savoir s'il va s'enrichir ou pas. Et si tu vois un riche, comme j'en vois aujourd'hui, qui va devenir pauvre demain, je peux te le prophétiser aussi à sa manière de penser et de te comporter. L'un des traits caractéristiques, par exemple, des pauvres, c'est qu'ils ne sont jamais responsables de rien. Tout est toujours de la faute de tout le monde sauf d'eux. Le gouvernement, Dieu, l'assemblée, leurs parents, la sorcellerie, les aînés, tout le monde est toujours coupable, ils ne sont coupables de rien. Conclusion, ils ne peuvent rien, parce qu'il faut se sentir responsable pour régler les problèmes. C'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Vous cherchez à tout prix qui est accusé de vos problèmes, au lieu de prendre en charge votre destinée de vous lever. Même si les parents ont des torts, eux, ils ont fini leur vie. Leur avenir est derrière eux. C'est ton avenir qui est devant. Occupe-toi de ça, laisse les gens qui sont coupables. La vie est un jeu de cartes. Ce n'est pas le nombre de cartes ou la qualité des cartes que vous savez qui vous fait gagner. C'est la manière dont vous les jouez. Tu peux avoir les quatre assez paires de jeu. Affinez votre manière de jouer. Et vous allez améliorer vos gains dans la vie. Et si je continue, il y a donc un certain nombre de valeurs. J'ai déjà parlé de commencer petit. L'humilité, j'en ai parlé hier. Faire le malin là, ça brise toujours. Il n'y a rien à faire pour être orgueilleux et s'en sortir. L'humilité précède toujours la gloire. On parle de Mandela. Les gens parlent de Mandela sans analyser la vie de Mandela. La vie de Mandela est la démonstration du pouvoir de l'humilité. C'est le seul Africain qui a le pouvoir qui a refusé parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de le gérer. Si Mandela avait dirigé l'Afrique du Sud, il aurait fait plein d'erreurs, personne n'allait l'applaudir aujourd'hui. Il a été tellement intelligent que comme il sait qu'il ne peut pas, il dit, moi je suis fort pour gagner la part d'aide, je ne suis pas fort pour diriger, prenez votre affaire. Donc, il faut savoir se retirer. Quand tu sens que tu ne peux pas faire quelque chose, tu laisses la chose et tu vas faire ce que tu peux faire. Quand je regardais le film Chaka Zulu, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Chaka disait que quand le léopard veut affronter l'aigle, si le combat se déroule au sol, c'est forcément le léopard qui va gagner. Et si le combat se déroule dans les airs, c'est forcément l'aigle qui va gagner. Quand tu es un aigle ou un léopard, tu dois savoir quel combat tu fais et quel combat tu ne fais pas. Si tu vois un boxeur et on te dit qu'il a fait 100 combats, 100 KO, je vais te dire le secret. Ce n'est pas qu'il est plus fort que les autres. Va vérifier. Si tu vois un avocat, il a fait 100 procès, il a gagné 100 procès, je vais te dire son secret. Il ne fait pas n'importe quel combat. Quand tu amènes le combat, il analyse. S'il peut gagner, il dit je prends. Et c'est sûr qu'il gagne. S'il n'est pas sûr, il dit je ne prends pas. Conclusion, ne gaspille pas tes statistiques. Le secret des gens qui ont des parcours élogieux, c'est des gens qui choisissent soigneusement leur combat en tenant honnêtement compte de leur force et de leur faiblesse. Il ne fait pas semblant de pouvoir ce qu'il ne peut pas. Quand il ne peut pas dire honnêtement, ça là, je ne peux pas. Mais s'il te dit je peux, c'est qu'il peut et rien ne l'empêchera de le faire. Nous les jeunes aujourd'hui, nous prétendons beaucoup faire des choses qu'on ne peut pas. Quand quelqu'un veut te recruter, tu mens. Tu oublies que tu vas devoir prouver tout ce que tu as dit. Pourquoi tu mens alors que tu vas devoir travailler et si tu peux, il va voir. Un jeune est venu me voir la dernière fois, je te parlais peut-être de la salle, il avait un entretien. Et ça fait longtemps que je suis au chômage, j'ai maintenant un entretien pour être mécanicien. Quel conseil me donnerez-vous? Je lui ai donné comme conseil, je dis surtout, moi j'ai été recruteur. Quand tu mens là, il faut savoir que celui auquel tu parles n'est pas un idiot. Quand quelqu'un ment, on sait. Quand tu fais semblant de ne pas voir, c'est autre chose. Quand quelqu'un ment, on sait. Quand moi je sais, et un recruteur intelligent sait. Un recruteur est plus admiratif de quelqu'un qui dit, ça je ne sais pas. Mais, je suis nouveau dans le secteur, j'ai des aînés, j'ai des doyens. Dans mon travail, le problème se posera, je sais que je vais contacter pour m'apprendre à le faire, pour m'aider à le faire. Dans tous les cas, ton travail sera toujours fait. Quand tu dis ça à un recruteur, il te prend plus au sérieux que le gars qui s'est démontré qu'il est incollable, qui sait tout, qu'il est parfait. Il sait que ça, c'est un gars vrai. Vous mentez beaucoup dans vos CV. Vous mentez beaucoup dans vos recrutements. Vous mentez beaucoup dans vos entretiens. Vous croyez que vous plaquez quelqu'un. Vous ne faites que démontrer que vous n'êtes pas digne de confiance. Or, de nos jours aujourd'hui, les gens préfèrent quelqu'un d'un peu bête, mais qui est honnête, que quelqu'un de très intelligent qui est malhonnête. Quelqu'un d'intelligent et de malhonnête est dangereux. Moi, je préfère un collaborateur bête et honnête qu'un collaborateur intelligent et malhonnête. Et les patrons ont commencé à le comprendre. L'honnêteté paye toujours. Ce que tu ne sais pas, dis que tu ne sais pas. Ce que tu ne peux pas, dis que tu ne le peux pas, mais que tu es prêt à l'apprendre. Mais ne dis pas que tu peux, alors que celui qui te pose la question, c'est comme il va savoir si tu peux. J'ai déjà dit, celui qui sème dans la joie, Dieu dit qu'il ne peut récolter que dans la souffrance. Et celui qui sème dans le sacrifice, va récolter dans la joie. Quand on est jeune, on est censé souffrir plus qu'un vieux pour préparer sa vieillesse. C'est quand tu es jeune que tu travailles de 8h à minuit sans arrêt parce que tu es en train de te bâtir. C'est à ce moment que tu fais les sacrifices. Tu sacrifies tes week-ends, tu sacrifies tes congés. Tu es prêt à tout pour décoller dans la vie. Et plus tu décolles, plus tu peux commencer à faire un peu le malin. Ah non, moi aujourd'hui, on peut m'appeler à des endroits, je n'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de dormir. Et rien ne va se passer. Mais je ne pourrais pas dire ça il y a 10 ans. Mais le problème, c'est que si au moment de votre carrière, vous n'avez rien, vous êtes à la maison, vous voulez semer dans la joie, vous risquez de pleurer amèrement dans votre vieillesse. Vous allez voir, nous avons actuellement au Bénin une génération de gens qui sont en train d'aller à la retraite, mais qui vont pleurer amèrement. Si tu joues de ta jeunesse, tu risques de pleurer ta vieillesse. Quand tu es jeune, que tu as de la force, ce n'est pas le moment de jouer le game on. L'autre chose, si tu es notre jeunesse, c'est l'envie de paraître au lieu d'être. Vous êtes tellement... Je ne sais pas qu'est-ce que vous trouvez à paraître. Les gens sont prêts à tout pour qu'on les voit. À faire des tatouages, à avoir des crêtes de coque sur la tête au lieu d'avoir des cheveux normaux, à avoir des habits décolletés, à marcher comme des singes plutôt que comme des hommes, à écarter les pieds comme un zombie. Vous êtes prêts à n'importe quoi pour qu'on vous remarque. Il ne faut pas chercher à ce qu'on vous remarque. Il faut être quelque chose qui va briller. Vous passez toute votre jeunesse à essayer de vous faire remarquer au lieu de bâtir quelque chose qui va solidement briller. Regardez bien à l'école. Les amis qui sont là, le président, et puis c'est lui le choquant, et puis tout le monde applaudit. C'est eux qui deviennent le mentir après. Et à ce moment-là, ceux qui l'applaudissaient ne savaient plus pour le voir au bord des feux. Il faut qu'ils nous comme s'ils ne le connaissaient pas. Profite de ta jeunesse, joue le gars. C'est toi qu'on applaudit, c'est toi qui as toutes les filles, ou bien c'est toi la fille, tous les garçons sont passés par toi. Au moment venu, tout le monde va avoir mari. Toi, tu n'as pas mari, tu as déjà tous les hommes du monde. Et ce moment-là, tu vas pleurer. Quand nous sommes jeunes, nous devons savoir que la jeunesse n'est pas éternelle. Tu joues aujourd'hui. Je vois par exemple de nos sœurs à la télé, dans des clips quasiment nus. Mais est-ce qu'elles savent que dans 10 ans, elles vont se marier? Elles vont devenir des grandes dames. Un gars important va vouloir les épouser. Elles seront devenues quelqu'un d'autre. Un jour, il sera assis dans son salon, il va voir le clip. On va dire, ça te ressemble, hein? Elle va baisser la tête. La télé ne s'efface pas, hein? Les clips ne s'effacent pas. Les photos pornographiques ne s'effacent pas. La pagaille que vous faites à l'université, c'est toute une génération qui vous voit. Demain, vos enfants vont aller à l'école. Ils vont donner votre nom. Leur maman va dire, ah, c'est à l'électeur à l'université, quoi faire? On voit, lui, il ne vaut rien du tout. Il n'y a rien à faire pour effacer ça. Tu fais tatouage pendant que tu es jeune. Quand tu vas devenir DG quelque part, tu vas vouloir effacer le tatouage, tu ne pourras pas. Vous agissez aujourd'hui comme s'il n'y a pas demain. Il ne faut pas se coucher là, on ne veut pas se réveiller. Il ne faut pas se coucher là, on ne veut pas se réveiller. Est-ce que vous réalisez à quel point la jeunesse est en train de se détruire aujourd'hui? Vous faites des choses que vous ne pouvez pas regarder en face dans 10 ans. Pensez à demain. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes aujourd'hui. En fait, vous avez une attitude de personne qui veut se suicider. J'ai dit, bon, comme je n'ai rien à perdre, Gabri, bon, on n'a pas peur de couteau. Mais si on ne t'a pas intéressé, c'est que tu n'es pas encore mort. Il faut attendre de mourir. L'avenir est radieux. Moi, je prophétise, je confirme. L'avenir des jeunes Bénois est radieux. Ils ont juste besoin d'ouvrir les yeux. Ils ont juste besoin d'apprendre ce qu'il faut. Ils ont juste besoin de sortir de la démagogie et de faire ce qu'il faut. Et nous sommes intelligents. Le jeune Benoît n'est pas paresseux. Il est travailleur, il est ambitieux, il est dynamique, il est honnête comparé à d'autres pays. Mais il est dans une série de démagogies qui le perdent. Ces lois-là sont importantes. La loi de la reconnaissance. Vous devez apprendre à reconnaître dans la vie ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. Évidemment, on ne peut pas faire des choix dans la vie quand on n'a pas d'objectif. Pour savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, il faut savoir où on va. Choisir, c'est quoi? C'est se dire, par rapport à telle destination que je me suis fixé, est-ce qu'il est pertinent de m'arrêter ici ou pas? Je te donne un exemple. Si tu sors de ta maison le matin, tu n'as rien à faire. Dès que quelqu'un te longe, tu enlèves ta chemise, tu te bats. Parce que tu n'as rien à faire. Mais si on t'avait appelé pour venir signer un contrat, tu vas gagner 1 million par mois. Même si quelqu'un te gifle, tu dis, c'est pas grave, tu as la chance ce matin. Là où je vais, ne me permettre pas de m'arrêter. Ou bien, donc vous vous comportez comme vous comportez parce que vous n'avez rien devant. Mais vous avez tort de croire que vous n'avez rien devant. Parce que Dieu a de grands plans pour vous devant. Mais quand vous vous comportez comme ça, là, vous ne verrez jamais ce qu'il y a devant. Arrêtez de paraître. Arrêtez d'agir comme s'il n'y a pas d'avenir. Les gens vous traitent comme vous vous laissez traiter. Tu prends aujourd'hui un jeune, tu dis n'importe quoi, en même temps on critique, c'est faux, c'est impossible. Vous êtes en train de bavarder, de piailler sur des niaiseries, alors que votre vie démontre que vous ne savez rien. Je ne vous insulte pas. Quand on n'a pas de fruits, on est humble pour apprendre. On arrête de bavarder. Vous êtes trop pressé de bavarder pour ne rien dire comme les hommes politiques. Votre vie ne vous fait pas pitié. Moi, il y a des fois, je pleure quand je vois la jeunesse de mon pays. Vous ne voyez pas à quoi ressemble vos vies. Il y a des jeunes qui n'ont pas 500 francs en poche. Il a été à l'école, il a une maîtrise, il parle français, il n'a pas 500 francs. Et ce n'est pas une fois en passant, c'est comme ça depuis des années. Mais il a la grosse gueule, il ne peut pas se taire pour apprendre l'essentiel. Il se détruit, il détruit sa femme, il détruit ses enfants. Et il détruit mon pays. Et personne ne peut vous dire la vérité, parce que tout le monde pense aux élections. Moi, je suis candidat à rien. Au ciel. Dieu me paye très bien. Ouvrons les yeux. Votre vie peut changer. Elle va changer. Mais pour ça, vous devez respecter les lois de la vie. Vous voyez quelqu'un de plus grand que vous, faites-vous petit respecter le côté du décret. Lisez. Soyez curieux. Apprenez. Soyez prêts à faire des sacrifices. Donnez, donnez, donnez. Plus vous donnez, plus on donnera. Tu es dans ton quartier. Tu n'as rien à faire. Tu as fait un peu ou bien je sais trop quoi. Dis bon, moi dans mon quartier, désormais pour faire du bien au quartier, je réunis tous les soirs les enfants du quartier, je leur fais un cours de mathématiques gratuit. Fais ça. Tu ne vas pas faire un mois avant de gagner de l'argent. Je ne dis pas de le faire en attendant l'argent. Hein. Mais si tu te mets à faire ça dans un quartier, tu vas avoir l'argent. Tes papas vont venir te dire, mon petit prend. Et moi, on dit, petit prend. Quelqu'un va t'amener du riz. Ils vont t'inviter à manger. Tu vas devenir la star du quartier. Si tu vas aux élections municipales, tu vas gagner. Pourquoi? Tu as rendu service. Celui qui rend service est puissant. Je suis en train de partager avec vous, moi, le secret de ma puissance. Regardez les arbres dans la nature. Il y a plein d'arbres dont personne ne connaît le nom. Parce qu'ils ne servent à rien. Si je parle de mangue, c'est parce que je manque de mangue. Si je parle d'oranger, c'est parce que je manque d'orange. Quand un arbre n'a pas de fruits, personne ne le regarde. Les plantes médicinales, là, personne ne connaît leur nom, sauf les féticheurs qui les utilisent. Chacun connaît ce qui lui est utile. Si tu ne sers à rien, personne ne te regarde. Tu peux faire tatouage, tu peux faire crête de cheval, tu peux te dépigmenter, regarde, ressembler à une tomate. Personne ne te regarde, on se moque de toi. Pour qu'on te regarde, vaut quelque chose et brille pour de vrai. Ne vous fâchez pas, je vous aime trop pour vous mentir. Bâtissez du solide. Bâtissez votre caractère. Vous voulez vous révolter, révoltez-vous contre vous-même à cause de votre échec. Vous révoltez contre des gens qui n'ont rien à tirer de vous. Révoltez-vous contre vous-même. Prenez des résolutions. Désormais, je vais me réveiller tôt. Désormais, je vais travailler. Désormais, je vais faire des efforts. Désormais, réveillez-vous contre vous-même. Et apprenez à descendre et à remonter. La vie est parfois faite d'échecs. Moi, il y a 3 ans, il y a 4 ans, j'ai traversé le pire. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a moins de 3 ans, moi, j'ai fait faillite. Je suis parti de la présidence pas riche. J'avais 150 millions de dettes en partant de la présidence. Ah oui, les gens ne savent pas. Je suis parti avec un divorce. J'ai vécu dans mon bureau à Global pendant 6 mois. J'avais une seule voiture que j'utilisais pour amener mes enfants à l'école avec le chauffeur. Et à cette période, je me suis acheté une belle moto que j'ai donnée après à mon ami Talfo. Belle moto. Les gens croient que j'avais acheté ma moto pour frimer. Moi, je frimais la moto. Non. Mais je sais pourquoi j'avais pris une moto il n'y a pas 3 ans. J'ai démarré Global Service Immobilier en partant de zéro. J'ai demandé un prêt à la BOA qui m'a refusé le prêt. C'était un prêt de 5 millions. Ils me l'ont refusé il y a 3 ans. Je vais vous parler pour vous arrêter de faire le malin. Ah, il n'a jamais souffert, c'est facile. Arrêtez de niaiser, réveillez-vous. N'arrêtez pas ce que vous ne savez pas. J'ai demandé un prêt de 7 millions qu'on m'a refusé. Je voulais lancer une affaire. Mais Dieu me met trop. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas de la théorie. Je venais d'apprendre dans la parole de Dieu que dans tous les cas, Dieu ne veut pas qu'on s'endette. La dette est un serpent venimeux. Dieu dit, vous ne devez pas vous endetter. J'ai dit, ok Dieu, je te mets à l'épreuve. Je te rends grâce parce qu'on m'a refusé le prêt. Apparemment, c'est ta volonté. Je te remercie. Louez Dieu en toutes tes circonstances. Quand vous louez Dieu, quand vous avez le cœur joyeux, vous dites Dieu, si tu as fait ce que c'est bon, votre cœur se dispose et vous entendez des révélations. J'étais là quand le truc me dit, mais il te reste un dernier hectare que tu n'as pas vendu. J'avais acheté effectivement 2 ans avant ou 3 ans avant un hectare à Cassato à 3 millions avec titre foncier. Le truc me dit, mais vends-le. Et comment je vais vendre? La dernière chose qui me reste, je vais le vendre. Le truc dit, vends-le. Bon. J'ai appelé le délégué d'Agonsouja, c'est à Cassato là-bas. Je dis, les hectares dans la zone, ça coûte combien aujourd'hui? J'avais acheté à 3 millions, 3 ans après, ça coûtait 7-8 millions. Le truc me dit, non, mais, et si tu morcelais pour vendre? Je ne savais même pas comment morceler. Hein. J'ai demandé, combien ça coûte les parcelles? Ils m'ont dit, les parcelles, ça coûte à peu près 1 million. Et je peux trouver combien de parcelles dans un hectare? Selon la taille, 14, 15, 16 parcelles. J'étais très fort en mailing électronique. J'ai toujours été fort sur la communication. Je me mets sur mon ordinateur, je n'avais rien fait. Parcelle à vendre à la construction de la terre superficie, tel prix. Le lendemain, dame de la PCA, elle s'appelle Mme Marco, demandait, lui est venue me voir. Elle a acheté toutes les parcelles. J'ai gagné 13,5 millions parce que j'étais pressé de vendre, j'ai gagné 7,5 millions. J'ai gagné 10 millions sur mon hectare là, en 3 ans. Et c'est là que j'ai découvert que l'immobilier est tout. Et j'ai créé Global Immobilier qui est ce qu'il est aujourd'hui. Si je n'avais pas obéi à Dieu, si j'avais été prêt à corrompre la BOA pour avoir un prêt, si je m'étais entêté sur le chemin du prêt, il n'y aurait jamais eu Global Immobilier. Aujourd'hui, les gens bavardent, ils n'ont jamais souffert, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est vous qui ne savez pas de quoi vous parlez pour souffrir. Réveillez-vous, obéissez aux lois de la vie. Toute personne qui réussit, soit elle n'est pas en train de réussir, elle est en train de faire un feu éphémère, et elle va bientôt couler, comme beaucoup d'hommes politiques, soit elle réussit sincèrement, et dans ce cas, c'est qu'elle a déjà échoué beaucoup de fois. Mais vous regardez les gens, vous ne voyez pas les moments où ils sont tombés. Et vous pensez qu'ils ne sont jamais tombés. Et vous rêvez de vivre sans jamais tomber. Ça n'existe pas. Même le Fils de Dieu dans la croix est tombé plusieurs fois. Si vous êtes ne jamais tombé. Si vous êtes en train de nager, par exemple, moi je nage beaucoup. Vous allez voir que quand vous êtes dans l'eau, au milieu de l'eau, c'est difficile de remonter. Mais dès que vous touchez le fond, on remonte beaucoup plus vite. Quand on touche le fond d'une piscine, on remonte beaucoup plus vite. Quand vous avez touché le fond, vous êtes plus proche du succès que celui qui n'a pas encore touché le fond. Vous savez ce qui marche. Vous savez ce qui ne marche pas. Vous devez être humble. Tu es en faillite. Tu as télé, vends télé. Tu as radio, vends radio. Tu as voiture, vends ta voiture. Prends-toi une moto. Ça ne sert à rien d'avoir une voiture de luxe à mettre du carbone dedans alors que tes affaires ne marchent pas. Tu as peur qu'on va dire, ah, ça, tu t'es gâté. Ça, tu t'es gâté, c'est pas grave. Reviens en arrière pour mieux remonter. Sinon, tu vas rester là, tu vas couler petit à petit jusqu'à t'enterrer. Laissez tomber l'orgueil. Le cas des ratons. Le qu'est-ce qu'ils vont penser? Oubliez ça, sinon vous n'irez jamais loin. Ne faites pas semblant. Quand vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'échec, reconnaissez-le. Vous avez la paix du cœur quand vous avez reconnu ça. Je vais répondre rapidement à quelques questions qui sont au tableau pour m'assurer de ne rien oublier. Et après, je vais prendre des questions s'il y en a encore. Peut-on vraiment sortir du chômage en 3 jours? On peut sortir du chômage ce soir, on peut sortir du chômage demain matin. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que même ce soir, vous pouvez faire des choses. Développer la capacité d'être à l'affût des problèmes des gens. Je donne un exemple. Vous allez un jour au consulat de France pour avoir visa. Vous vous rendez compte que vous êtes obligé de faire la queue pendant 3-4 heures de temps. C'est une opportunité d'affaires. Mettez-vous à 2 amis. Vous arrivez au consulat de France le matin à 5 heures. Ou bien à 3-4 amis. Vous faites un rang. Quand quelqu'un, les gens arrivent, ils sont derrière vous. À un moment, quand la queue est longue, l'un d'entre vous approche, vous dit, on t'aide jamais. Tu veux passer à la première position? C'est combien? 20 000. Un gars qui veut aller en France, 20 000, c'est rien pour lui. Il dit, bon, prends. Toi, tu sors de rang, mets-toi là. Tu as vendu sa place, tu vas derrière. Tu peux gagner 100 000 dans le journal consulat de France. Vous n'avez rien à foutre à la main. Pourquoi vous n'avez pas consulat de France à 5 heures pour prendre l'argent? Ou bien, vous n'avez pas prendre l'argent? On n'a rien à faire, on est au chômage, il faut du capital, FNPEJ, FNM. Mais chaque problème auquel vous faites face dans la société est une opportunité de gagner de l'argent. Quand il y a un problème, regardez quelles sont les solutions possibles. Quand vous voyez les solutions, voyez si vous pouvez les fournir. Ou si vous connaissez quelqu'un qui peut les fournir. Quand vous pouvez les fournir, trouvez quelqu'un qui peut les fournir, vous avez de l'argent à gagner. C'est aussi simple que ça. Et dans un pays où il n'y a que des problèmes, il n'y a que de l'argent. Hey, moi, demander à mon épouse, chaque jour j'ai des idées. Je me rappelle quand je partais d'Afrique, mon pays, j'avais tellement d'idées pour gagner de l'argent que ma mère m'a appelé. Je lui ai dit, moi, gars, tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de faire tout ce que tu peux faire. Parce qu'elle avait compris que, avec la main dans ma tête, tout là, j'avais envie de tout faire à la fois parce que je ne voyais pas qu'est-ce qui m'empêchait. Et c'est un conseil qui m'a été utile. Parce que contrairement à vous, qui ne savez pas quoi faire, moi, je sais tellement quoi faire que je me demande comment les gens font pour ne pas savoir quoi faire. Et c'est pour ça que Dieu a fini par me dire, bon, c'est pas grave, c'est pas trop de l'État. Donne-leur tes idées, ils n'ont qu'à faire. Donc, vous allez voir les potes qui viennent me voir, je balance des idées. Ça, c'est autre chose. N'ayez pas peur de donner. Ah, mon idée, il a volé mon idée. Et je lui dis maintenant, donnez. Plus vous donnez, plus vous êtes puissant. Tu lui donnes une idée, il va devenir riche. Il est redevable. Même s'il ne te donne rien, il ne peut rien te faire. Le jour où quelqu'un auquel tu as fait du bien veut te faire du mal, Dieu le brise. Moi, ça m'a énormément protégé en politique. Personne auquel tu fais du bien ne peut te faire du mal. Dieu le brise. C'est comme ça que se passe avec Saül et David. David a été persécuté par Saül. David avait l'opportunité de Saül. Il a dit, je ne touche pas. Saül est mort comment? C'est pour ça la Bible dit que quand tu fais du bien à ton ennemi, tu as accumulé des charbons ardents sur ta tête. Fais du bien aux gens. Fais du bien. Et faire du bien est gratuit. Pensez aussi souvent à faire du troc. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent que le troc n'existe plus. Tu veux quelque chose, quelqu'un le vend. Peut-être que tu n'as pas l'argent. Tu as quelque chose à lui offrir. Je donne un exemple. Tu es professeur de mathématiques, professeur de physique. Tu veux un ordinateur, tu n'as pas l'argent pour l'acheter. Va voir le vendeur. Est-ce que par hasard il n'a pas un enfant ou bien un neveu qui a besoin de cours de physique? Il a une école. Tu es prêt à lui donner des cours en échange de prendre un ordinateur. Tu vas trouver pour lui au moins 2 ans s'il veut. Tu veux te donner un ordinateur? Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis un champion de ce que j'appelais les échanges de marchandises. L'autre chose, c'est quoi? Appliquer la règle du leadership. L'une des lois les plus puissantes dans la vie, c'est la loi du leadership, la loi de l'intérêt. C'est la loi qui dit que toute personne fait ce qu'il a intérêt à faire. Si quelqu'un a un intérêt quelque part, tu peux le chasser la journée, la nuit reviendra. Mais si quelqu'un n'a rien à gagner ou qu'il a à perdre, tu peux l'attirer n'importe comment, dès que tu tournes, il fuit. C'est une loi de la vie, c'est une loi puissante. Et c'est même la loi de Dieu. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, c'est plein de si. Si tu fais ça, tu auras ça. Dieu passe tout le temps à vous dire, faites en échange de la loi de l'intérêt. Mais si Dieu qui a pouvoir de vie et de mort sur nous, s'oblige pour nous faire obéir, à nous dire qu'est-ce que nous y gagnons, qui vous êtes pour vouloir que les gens vous suivent sans qu'ils n'y gagnent rien? Vous n'allez pas loin dans la vie parce que vous ne vous mettez pas à la place des autres, les hommes comme vous-même, pour anticiper la question de qu'est-ce que je gagne. Vous êtes nombreux, je ne sais pas d'où ça vient, à croire que quand on va voir quelqu'un, on doit le supplier pour avoir les choses. Quand on voit par exemple les CV, j'ai l'honneur, mon papa est mort, ma maman est morte, je n'ai personne, j'ai des problèmes, je souffre, aidez-moi. Je ne sais pas qui vous fait croire qu'on donne les choses aux gens sur la pitié. Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui inspire pitié? Notez ça. Aime ton prochain comme toi-même. Mettez-vous. Changez de rôle. Vous êtes dans un feu. Vous voyez quelqu'un qui vient manger, pardon, je n'ai pas de quoi manger, pardon, pardon. Comment vous le traitez? Vous le méprisez. Vous l'ignorez. Et s'il vous accepte, vous lui jetez la plus petite des pièces que vous avez. Mais en aucun cas, vous n'avez de la considération pour lui. C'est comme ça que vous faites, c'est pas comme ça que vous faites. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que quand tu maintiens un emploi comme ça, même quand le gars te recrute, il ne va jamais te traiter au sérieux. Tu n'es qu'un mendiant dans sa boîte. Après, tu vas faire revendication alors qu'il t'a connu mendiant. Ne mendiez pas un emploi. Moi, je dis toujours à mes commerciaux, n'allez pas me mendier des marchés. Allez vendre. Quelle est la différence entre la mendicité et la vente? Le mendiant inspire pitié pour avoir des choses parce qu'il estime qu'il n'y a aucune contrepartie à ce qu'on lui donne. Le vendeur dit, je sais que tu es puissant. Voilà ce que moi j'ai à te proposer en échange de ce que je veux de toi. Et avant d'aller voir quelqu'un de puissant, vous devez vous mettre à sa place pour vous demander qu'est-ce que j'ai qui peut l'intéresser, que je peux mettre dans la balance. Si moi je ne trouve pas qu'est-ce que je peux proposer à quelqu'un, je ne vais jamais le voir. Ça veut dire que je suis un mendiant. Je ne peux pas demander une faveur à quelqu'un si je ne peux pas lui dire ce que je lui propose en échange. Ou qu'est-ce qu'il va y gagner. Ça veut dire que je suis un mendiant. Même si vous n'êtes pas aussi grand et puissant que quelqu'un, vous avez toujours quelque chose qui peut l'intéresser. Et quand vous allez le voir, votre discussion ne doit pas tourner autour de vos problèmes. Elle doit tourner autour de ce que vous avez qui peut l'intéresser afin que lui vous donne ce qu'il a qui vous intéresse. Je donne un exemple. Vous pouvez aller voir un DG. Vous n'êtes peut-être rien. Mais il se fait que, je ne sais pas quel exemple je vais donner. Vous êtes peut-être du même village qu'un homme politique qui cherchait depuis longtemps. Et vous pouvez aller voir l'homme politique parce que c'est votre tonton. Vous pouvez vendre un patron dans tout pour être recruté. J'ai recruté par exemple des collaborateurs qui, techniquement, n'étaient pas extraordinaires, mais je me suis rendu compte que dans leur parcours, ils avaient fait beaucoup de stages dans les entreprises de presse et de communication. Je suis un grand communicateur, je me dis, ce petit-là, il a des réseaux dans la communication, je vais utiliser. Je ne sais pas pourquoi je l'ai recruté. Je ne l'ai pas recruté pour faire un diplôme. Je l'ai recruté à cause d'un carré d'Adislap. Vous avez toujours quelque chose qui intéresse l'autre, même s'il est plus puissant que vous. Même si un homme politique, il peut être président, il a besoin de votre vote un jour. Ça suffit pour discuter avec lui. Mais si vous n'avez rien à mettre sur la balance, vous êtes un mendiant. Et il vous traitera comme un mendiant. Quand vous allez rencontrer quelqu'un pour faire des affaires, pour demander un soutien, pour demander un partenariat, la seule question à laquelle vous devez répondre, c'est qu'est-ce que tu gagnes à me suivre? Moi, je ne fais jamais un courrier sans dire en première position qu'est-ce que les gens gagnent. Les détails, on peut voir après. Mais quand quelqu'un te rencontre, par exemple, un enterrement. Tu crois un homme important. Quand le monde commence à te présenter, je m'appelle si, j'ai fait si, j'ai tel diplôme, il est déjà parti. Il faut lui dire rapidement quelque chose qui lui tient à cœur. quelque chose dont il a besoin. Et c'est lui maintenant qui doit te poser la question. Vous devez toujours trouver quel ou bien où vous tenez l'intérêt des gens. Quand vous tenez l'intérêt des gens, ils sont obligés de vous suivre pour que vous fassiez ce que vous voulez qu'ils fassent. Et le leadership, c'est cette capacité à se faire suivre par les gens pour atteindre un objectif. Parce qu'ils vous suivent en étant heureux de vous suivre, parce qu'avec vous, ils atteignent leurs objectifs aussi. Et parlant de leadership, vous devez constamment faire en sorte d'encourager ce que vous voulez et de décourager ce que vous ne voulez pas. Une autorité, un homme intelligent, encourage ce qu'il veut et décourage ce qu'il ne veut pas. Parce que tout système multiplie ce qu'il récompense. Si dans ta maison, tous tes enfants sont impolis, c'est parce que tu encourages l'impolitesse. Il n'y a pas deux explications. Vous écarquez les yeux. Comment on encourage l'impolitesse? Je vais vous dire. Tu prends une décision. Allez vous coucher. Tout le monde va se coucher. Puis ta fille chérie dit, papa, non, moi je regarde la télé. Elle boude un petit bon qui regarde la télé 30 minutes. Les autres enfants sont regardés. Tu fais ça deux fois, trois fois. Désormais, quand tu dis allez vous coucher, tous les enfants ne vont pas coucher. Tu as fabriqué des rebelles dans ta maison. Pas lâcheté irresponsabilité. C'est comme ça qu'on a fabriqué des gens qui ont tué des malades dans les hôpitaux pour multiplier leur salaire par deux à travers les grèves. Les gens grèvent, on multiplie leur salaire par deux. Si c'est toi qui ne vas pas gréver, tu ne vas pas gréver. Quand la caisse a été vidée, dit, demain je vais vous virer tous. Tout le monde a repris le travail. Non? L'autorité multiplie ce qu'il récompense et décourage ce qu'il punit. Tu veux que les gens courent, fais en sorte qu'ils gagnent quelque chose à courir. Tu veux qu'ils dorment, fais en sorte qu'ils gagnent quelque chose à dormir. Tu n'as pas besoin de le supplier. Fais en sorte qu'il gagne à le faire. Il le fera. Vos clients viennent chez vous quand ils gagnent à venir chez vous, pas quand ils vous aiment. Moi, tous mes clients ne m'aiment pas, mais je m'en fous. Mais je sais qu'ils ont besoin de moi. Quand vous êtes en affaires, vous devez vous poser une question. Ce n'est pas qu'est-ce que j'offre. C'est qu'est-ce que j'offre que personne ne peut leur offrir. On bâtit une affaire puissante quand on offre quelque chose que personne ne peut offrir. Regardez bien, quand vous êtes fidèle à quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose qu'à tort ou à raison, vous pensez ne pouvoir trouver chez personne ou que vous pensez pouvoir difficilement trouver ailleurs. Quand quelqu'un a une qualité ou un avantage que vous pensez qu'on peut trouver partout, vous n'êtes jamais fidèle à cette personne-là. Quand les gens font la puissance et disent « Je suis d'ailleurs », tout le monde est d'ailleurs, pourquoi je laisse tout le temps pour venir chez toi? C'est un restaurant, tout le monde a un restaurant, pourquoi je laisse tout le temps pour venir chez toi? On ne bâtit pas une affaire sur qu'est-ce qu'on fait. On bâtit une affaire sur qu'est-ce qu'on a à offrir que personne d'autre ne peut offrir. On appelle ça la loi du positionnement. Moi, je suis le restaurant le plus rapide. Si tu viens chez moi, en deux minutes, tu manges. On dit, ah, quand on veut manger vite, c'est là-bas qu'il faut aller. Moi, quand je veux manger vite, je vais au festival d'éclat. En cinq minutes, je mange. Pas la peine d'aller à Pili-Pili quand tu veux manger en cinq minutes. À moins d'avoir appelé de commander d'avance. Quand à 3h du matin, j'ai fini de travail que j'ai fait et que je n'ai pas envie de rentrer à la maison préparée ou attendre que la domestique, aller réveiller la domestique qui dort déjà, je sais que si je vais au marché du pain, même à 4h du matin, je vais manger. Donc, je ne vais pas au marché du pain parce que c'est le meilleur repas. Mais je sais que quand il s'agit de... C'est au marquis du porc que je vais. Je sais que quand je veux des grillades impeccables, c'est au marquis la résidence que je vais. Je sais que si je veux rencontrer des gens influents, je vais à l'atelier, je vais à tel endroit. Chacun d'entre eux m'a fait comprendre stratégiquement que si c'est pour tel-là, tu tournes, c'est chez moi que tu viens. Il y a plein de démarcheurs. Mais si quelqu'un veut venir acheter une parcelle et aller dormir, il tourne, même pas, il va revenir à Global. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Et le sable, il n'y a pas deux. Le jour où quelqu'un d'autre offrira ça, je sais déjà qu'est-ce que je vais appliquer pour qu'il n'y ait pas deux. Et c'est clair. Les affaires, c'est ce qu'on appelle un avantage compétitif. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Ce que vous avez tous. Quand on prend les CV des jeunes béninois, tous les CV se ressemblent. Vous avez les mêmes diplômes, vous avez tous fait stage à la loterie, au port, à la Supermap, Copenham, SBE, Sonep. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres sociétés là. Bénin Télécom, Libercom, c'est fini. Vos CV, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne voyez que vos CV. Vos CV sont des photocopies les unes des autres. Quand j'ai 100 CV qui se ressemblent, pourquoi je t'appelle toi? C'est ça que vous devez vous demander quand vous postulez. Pourquoi est-ce que quand ils voient mon CV, ils m'appellent? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Si quelqu'un qui vous dit je suis candidat, Même si je ne suis pas bon recruté, moi je suis prêt à travailler 3 mois gratuitement. Après, on parlera pour voir si vous voulez me garder. Le recruteur lui dit de regarder ce bel en particulier. C'est quand même bizarre qui est ce gars-là. Ne serait-ce pas que tu veux voir qui est derrière. Vous voulez travailler dans une entreprise. Vous attendez qu'il vous appelle, qu'il vous demande d'emploi. Mais prenez l'entreprise. Surtout si vous prétendez être diplômé. Et montrez-le. Vous devez par exemple prendre le problème d'une entreprise. Dit, écoutez, DG, moi je me suis rendu compte que votre entreprise a telle stratégie. Vous avez actuellement tel concurrent, j'ai remarqué dans tel département, il y a tel concurrent avec telle stratégie. Est-ce que vous avez remarqué que les choses vont par telle fonte et ainsi de suite? Et si on faisait telle chose, je ne vous demande rien. Demandez juste à vos collaborateurs de mettre les stocks à ma disposition. Je veux faire une expérience. Je fais l'expérience, tu multiplies son chiffre d'affaires par 3 en un mois. Et bon, moi j'ai fini mon stage, je m'en vais. Vous êtes laissé partir? Vous êtes laissé partir? Parce que tu as démontré d'abord en quoi tu es intéressant pour lui. Là, c'est lui qui va parler de te garder le premier. Ce n'est pas toi qui va demander. Mais vous ne faites rien pour démontrer votre valeur et vous voulez que lui prenne l'initiative de vous garder. Donc, le leadership, c'est le fait de faire en sorte que les gens aient des intérêts. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour faire en sorte que les gens aient des intérêts. Donc, vous avez par exemple une idée que j'ai donnée à beaucoup de jeunes au Mali, au Burkina, même ici, qui n'ont fait de l'emploi. Qu'est-ce qui vous empêche de recruter 1000 personnes aujourd'hui pour trouver de l'emploi? Oui? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Je vais vous l'illustrer. Je dis, tu as quoi comme diplôme? Donne-moi ton CV. Tu me le donnes. Je dis, tu veux gagner combien? Admettons, tu dis, je veux gagner 200 000. C'est parfait. Tout ce que je veux que tu sois prêt à faire, même si tu n'as pas d'argent, est-ce que tu es prêt à donner au moins ton premier salaire à celui qui va te trouver l'emploi? Il y a des gens qui sont tellement cupides qui m'ont dit, c'est ça, et c'est 10%, je ne veux pas. Je vais rester au chômage longtemps. J'étais à la maison depuis des mois. Dans le mois prochain, tu n'attendais rien. Donc celui qui dit qu'il va trouver de l'emploi, il va prendre son salaire le mois prochain, il faut lui donner. D'ailleurs, dans nos villages, les gens sont sages. Quand tu trouves ton premier salaire, tu vas donner ça, ton père est pris pour toi. Si tu es un chrétien, tu fais une prémisse. Tu veux tout bouffer, tu n'auras rien dans la vie. C'est le problème de la jeunesse. Donc, admettons que tu n'as pas misé ton premier salaire. Tu appelles une personne, tu lui dis, si tu me trouves mon emploi avec un salaire de 200 000 francs, je te donne, je me trouve un contrat durée indéterminée, je te donne mon premier salaire. Mais il ne faut pas être bête. Si tu veux gagner toi seul 200 000 francs, peut-être que tu ne vas pas trouver. Et d'autres personnes vont trouver, parce que moi j'en parle à beaucoup de personnes. Je te conseille de trouver au moins 3 personnes auxquelles tu dis que, qui n'ont qu'à me trouver, tu leur donnes copie de mon CV. Ils n'ont qu'à me trouver un emploi et tu leur promets que s'ils trouvent mon emploi, tu vas leur donner au moins 100 000 francs. Donc toi-même, tu gardes au moins 100 000 francs. D'accord? Donc, là, il y avait une personne, là, il y en a 3. Veillez à ce qu'ils leur disent que à leur tour, il ne faut pas qu'ils soient bêtes. Ils n'ont qu'à trouver au moins 3 personnes auxquelles ils demandent de chercher ton salaire, de chercher un contrat pour toi en échange de ces 4 000 francs. Là, ils seront déjà 9. Tu n'as encore rien remis à personne. Hein? Si chacune de ces 9 personnes trouve à son tour 3 personnes, ils sont déjà combien? 27. Peut-être qu'à ce niveau, c'est 25 000 francs qu'on promet à chaque personne. Si chacune de ces personnes trouve 3 personnes, ils sont combien? Ils sont déjà autour de 81, je crois, si je ne me trompe pas. Hein? 81. Peut-être qu'à ce niveau-là, ils sont peut-être à 10 000 francs. S'ils cherchent tous, on se retrouve peut-être à 240 personnes au moins, avec une promesse de 5 000 francs. Il y a des plantons, tu leur promets simplement la bière. Il est prêt à travailler. Toujours est-il que là, arrêtons-nous-mêmes là simplement. Je peux activer 240 personnes. Dans Cotonou, c'est beaucoup, hein? Il y a combien de sociétés? 240 personnes en train de courir pour me décrocher un contrat à 200 000 francs sur la promesse que je leur donne mon premier salaire que je n'ai pas. Dedans, il va y avoir des directeurs commerciaux, des directeurs des ressources humaines, il va y avoir des plantons. Le planton, c'est quoi? Quand il y a un recrutement là, quand les gens déposent même un dossier en haut, il va y avoir des secrétaires. Faites tout pour... Bref, chacun. Ils n'ont même pas besoin de travailler, ils s'en foutent. Ils savent qu'il y a un CV là, qui fait que si je le trouve, j'ai 100 000, si je le trouve, j'ai 50 000, si je le trouve, j'ai 25 000. Celui qui ne trouve pas, où est ton problème? Tu n'as rien à lui donner. Mais celui d'entre eux qui, quelque part, peut-être un gars de 5 000 francs qui va décrocher un emploi, il prendra son 5 000 francs, celui-là prendra son 10 000 et ainsi de suite, ils vont se partager ton premier salaire. Tu peux mettre dans ton nom, si tu veux, 300 personnes, 500 personnes, être en train de chercher un emploi pour toi, le petit là, sans dépenser un franc. ou bien? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Qu'est-ce que Forêt veut faire? Qu'est-ce que Tianchi fait? C'est pas ça? Vous avez des yeux, rien du tout, tu parles du CC. Si tu avais compris le CC, tu ne serais pas au chômage. Le CC, c'est une stratégie puissante pour escorquer les gens en bâtissant d'abord la confiance. Si les gens avaient compris le CC, ils auraient de l'emploi. Parlez de ce que vous ne savez pas. N'importe qui peut faire travailler 300 personnes à son service pour lui trouver un emploi, sans dépenser un franc. Même les photocopies, c'est eux-mêmes qui vont faire. Parce qu'ils veulent gagner ton argent. Celui qui ne gagne pas, où est ton problème? Tu n'as pas perdu. Côté nous, là, tu peux activer 200 personnes pour chercher ton emploi, tu ne vas pas trouver 200 000. Il va avoir des copines de DG, il va avoir des maîtresses de DG, il va avoir des neveux de patron. À 200 personnes, tu vas trouver ton emploi. Ou bien, on dit qu'il n'y a pas d'emploi, on ne peut pas trouver, c'est de la démagogie, c'est de l'utopie, et puis on raconte des bêtises. Oui, il est possible d'avoir un emploi en quelques jours. Quand on sait ce qu'il faut faire. Comment prospérer dans son travail, on en a déjà parlé. Considérez qu'on est en train de servir. Votre carrière est une semence dans votre vie. Vous semez par votre travail. Arrêtez, le travail d'un homme n'est pas que pour gagner de l'argent. Chacun de nous naît avec une destinée qui est d'impacter le monde. C'est-à-dire de faire quelque chose dans le monde. Votre travail vous aide d'abord à accomplir votre destinée. Vous allez voir, on passe le clair de notre vie au travail. Par jour, vous restez très peu à la maison quand vous travaillez. On part très tôt le matin, on arrive très tard le soir, on dort. Votre vie, c'est au travail. Donc, votre vie, c'est votre travail. Votre destinée, c'est votre travail. Vous naissez pour accomplir quelque chose. Ça passe par le travail. Chercher un travail, ce n'est pas seulement chercher de quoi manger. C'est découvrir sa destinée pour accomplir ce pourquoi on est né. Quand vous découvrez votre destinée, vous jouez dans votre carrière. Moi, vous avez l'impression que je travaille là. Je suis en train de m'amuser. Je m'amuse de lieu en lieu, je bavarde de lieu en lieu. Les gens m'envient. Alors que c'est mon travail, c'est très sérieux, ça m'apporte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai découvert ma vocation. Quand quelqu'un découvre sa vocation, c'est comme un joueur de football. Pourquoi on appelle les gens les stars? Les stars, les étoiles. Joueurs de football, acteurs de cinéma, chanteurs et consorts. C'est des gens qui sont en train de s'amuser tout en gagnant de l'argent. Parce qu'ils sont dans leur vocation. Quand vous découvrez votre vocation, votre travail n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Si vous ne le faites pas, vous ne vous sentez pas bien. Moi, je ne me sens jamais aussi bien que quand je suis sous l'onction en train d'enseigner. Je sens que c'est pour ça que je suis né. Même quand je suis malade là, si je prends le micro, c'est comme si il y a quelque chose qui se passe. Je sens que c'est là que je suis moi-même. Des fois même, je dis des choses quand je me recouche. C'est moi qui ai dit ça. Je ne pense pas à tout ce que je dis. Vous devez découvrir votre vocation. Et le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est des gens qui ne sont pas dans leur vocation. On a plein d'enseignants qui détestent les élèves et l'école qui sont devenus enseignants parce qu'ils n'ont pas le bon temps. Plein de fonctionnaires qui détestent leur boulot, mais comme il faut être fonctionnaire, même s'il faut être planton, n'importe quoi, ils acceptent. Regardez bien, il n'y a pas la moitié des travailleurs à qui il faut bénir aujourd'hui qui sont heureux de ce qu'ils font. C'est grave. Ça donne des ulcères, ça donne des palpitations, ça donne des diabètes, ça donne des cancers, ça donne plus de maladies. Des gens vont à l'hôpital et on ne sait pas de quoi ils souffrent. La Bible dit que la tristesse carie les os. Les femmes vont la mine renvoyer toute la journée. Conclusion, elles donnent des palpitations, elles vont tout parce que tu ne peux pas passer ta vie là où tu n'aimes pas. Et pour la petite histoire, Dieu faisant rien par hasard, vous savez comment j'ai rencontré mon épouse? Je suis parti faire un séminaire à la poste pour des commerciaux. Et j'ai trouvé qu'elle était trop intelligente pour la poste du Bénin. Maintenant, elle a raison, je dis, mais comment quelqu'un peut être à la poste depuis 10 ans et fonctionner comme ça? Et elle se plaint comme tous les autres de la poste. Mais madame, si vous n'êtes pas content de votre emploi, pourquoi vous ne démissionnez pas? Quand on n'est pas content de ce qu'on fait, quand on ne fait pas ce qu'on aime, on démissionne. Moi, j'ai toujours démissionné quand je ne suis pas content. J'ai démissionné de la présidence, j'ai démissionné du cabinet de mon père. Quand quelque chose me fatigue, je suis honnête avec la vie moi-même, je démissionne. Ayez le courage de laisser une branche pour en attraper une bonne. Il m'a dit, si tu pars à la présidence, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne fais pas la politique te fera. Eh bien, je n'ai pas fait la politique, je me porte mieux que ceux qui y sont. Quand vous n'êtes pas heureux, vous démissionnez. Ne faites pas semblant de rester là, en train de prendre l'argent des gens, alors que vous savez que vous n'êtes pas là. Parce que vous vous détruisez, vous vous pourrissez, vous vous auto-détruisez. Et vous faites du mal à ceux sur lesquels vous travaillez. Il y a plein de gens qui massacrent la destinée des enfants en étant des enseignants payants qui n'auraient jamais dû prendre la craie. Vous voyez des enseignants méchants avec les enfants qui se révoltent sur les enfants d'avoir choisi autre chose que leur carrière. Qui vous a forcé? Parce que vous avez faim. Ne faites pas ce que vous n'êtes pas appelé à faire. Il faut avoir le courage de faire sa vocation. Et c'est là aussi où l'école nous manque. Pourquoi l'école nous manque? Le système est jeunesse, moi-même, que Dieu me pardonne quand on ne connaissait rien à la vérité. On attend que les gens arrivent en terminale et on dit qu'on va leur faire une orientation professionnelle. Comme si c'est en terminale, quand le gars a 18 ans, qu'on doit choisir qu'est-ce que sa vie va être. Mais à un moment, Dieu m'a dit, mais écoutez, en fait, j'ai plutôt posé une autre question à Dieu. Dieu dit dans sa parole, et moi je le prends très au mot, il dit que nous avons vocation à être la tête et non la queue. C'est-à-dire qu'un croyant doit être toujours le numéro un dans son domaine. Aujourd'hui, Dieu est dans son domaine, mais j'avais compris à l'époque juste numéro un. Et j'ai dit à Dieu, mais comment nous allons, si nous t'obéissons tous, d'après ta parole, on est tous des numéros un. Comment on va faire pour être tous des numéros un? Qui va être numéro deux si nous sommes tous des numéros un? Je crois que Dieu a dû rire puisqu'il m'a répondu, il dit, petit, c'est pas ça. Je suis en train de dire que si tu obéis, il va être dans son domaine, la tête et non la queue. Je dis, comment ça? Nous avons tous, nous sommes plusieurs dans le même domaine, il dit non. J'ai donné à chaque homme, et l'Apocalypse le dit, dit que les anges couraient chacun dans leur couloir, personne ne regardant le couloir de l'autre. Il dit, j'ai donné à chacun une destinée, unique, exclusive. Ça peut ressembler à celle de quelqu'un d'autre, mais c'est jamais pareil. Je suis formateur, il y a plein de formateurs au Bénin, mais ma destinée ne ressemble à rien à la destinée de formateur. Et l'une de mes plus grandes forces, c'est que très tôt, j'ai refusé de faire comme les formateurs. Quand je suis rentré au Bénin, mon propre père qui a été quasiment celui qui a amené ma jeune au Bénin, il me voyait travailler, il me dit, mais toi tu ne prends pas de papier, tu ne prends pas de livre, tu ne prends pas de PowerPoint, qui va t'écouter, un petit de 26 ans, qui va t'écouter. Mon propre père, il m'aime, me décourageait. Mais quelque chose me disait de le faire. J'avais 24 ans, j'ai convoqué les présidents Zissou, l'ancien ambassadeur américain au CIC, j'ai dit que je voulais parler de leadership. Quand j'ai repris pour me faire rire. Mais le pire, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont rempli la salle. Et ils m'ont écouté sur le leadership. J'ai eu le culot de faire appuyer à la télé, ils étaient à la plein dans la salle, ils m'ont applaudi, ils m'ont félicité. J'avais 24 ans. Comment j'ai eu ce culot? Je comprends que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, qui vous fait faire des choses humainement anormales. Et j'ai fait toutes ces choses-là sans un papier. Parce que j'ai toujours senti que moi, je n'ai pas vocation à parler avec papier. Il y a quelque chose qui, quand je suis connecté là, la chose marche tout seul. Chaque fois que je prends un papier, je suis nul. Heureusement, je n'aime pas le papier. Mais si je voulais être un enseignant comme tous les autres, je serais à l'université en train de prendre 10 000 francs par heure pour faire des magistraux pour tous les jeudis, tous les mercredis. Vous devez avoir le courage dans la vie à ce moment de prendre votre chemin, quitte à prendre des chemins différents des autres. Pour réussir, il faut accepter de paraître fou. Jésus, à un moment, a dit à sa mère, laisse-moi m'occuper des affaires de mon père. Laisse-moi entrer dans ma destinée. Je ne peux pas faire que tout ce que tu veux. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils n'ont jamais le courage de dire non à leur père et à leur mère. Il faut être poli. Il faut être respectueux. Il faut être courtois. Il faut être gentil. Mais à un moment de votre vie, vous devez dire à moi, à vos parents, maman, papa, laisse-moi faire ça là d'abord. Prie pour moi, si je me trompe, je reviendrai. Mais laisse-moi faire ça. Et quand tu le fais, ils prient pour toi. Tu écoutes leurs conseils, mais tu le fais. Après, c'est eux qui t'apprécient, disent, mon fils, je suis fier de toi. Mais quelqu'un qui n'a jamais le courage de dire non à ses parents, n'ira nulle part. Il est mon père. On ne peut pas être bébé de maman, passer le temps à la maison, manger tous les jours la pâte et ne pas aller travailler parce qu'elle n'est pas en train de vous nourrir. Vous avez 30 ans, vous prenez l'argent pour chez vos parents, vous croyez que c'est une vie. Sortez de la maison de vos parents. Allez vous débrouiller. Il faut, à un moment dans la vie, prendre ton chemin. Vous avez une vocation. Et donc, Dieu me dit, chacun de vous a un chemin unique qu'il doit prendre. Et quand il le prend, dans ce chemin, je le bénis, personne ne peut le battre. Je dis, mais comment c'est faisable? Et Dieu m'a expliqué quelque chose d'important. Il m'a dit, regarde dans la vie. Quel que soit le produit que tu prends, tout produit qui existe, tu constateras que sa finalité a toujours précédé sa conception. On n'a pas fabriqué par hasard cette bouteille pour se demander qu'est-ce qu'on va en faire, pour découvrir qu'on va mettre de l'eau dedans. On a eu envie de mettre de l'eau dans quelque chose. On pouvait le tenir, ça doit être transparent pour voir que c'est propre, ça doit être léger, ça doit être ci, ça doit être ça. C'est en fonction de ce qu'on veut faire. On a regardé la fin pour concevoir la bouteille. Vous prenez une fourchette. Il a fallu qu'on se dise, je veux manger, je veux pouvoir piquer de la viande. On a fait la fourchette. Je veux boire de la bouillie. On a fait la cuillère. Je veux couper. On a fait le couteau. C'est après avoir décidé ce que quelque chose sera qu'on le fabrique. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Si les serpillères ressemblent au torchon, tu peux mettre les serpillères sur la table pour manger. Mais beaucoup de gens confondent maintenant dans les hôtels les serpillères, les torchons et les serviettes. Mais ça ne se ressemble pas. Quand tu vas dans les grands restaurants, il y a couteau et couteau. Il y a couteau pour le chocolat, il y a couteau pour le fromage, pour couteau pour la viande, couteau pour le poisson, toi-même tu ne sais plus qu'est-ce qu'un couteau de couteau. Mais les connaisseurs savent qu'est-ce qu'un couteau de couteau. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Ça veut dire quoi? Si tu sais cela, tu dois savoir que toute chose n'est créée qu'après qu'on ait décidé ce qu'on va faire avec. Et c'est en fonction de ce qu'on va faire avec qu'on le crée. Toi qui es là, Dieu ne t'a pas créé pour que tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire. Dieu a décidé ce que tu vas faire, c'est pour ça qu'il t'a créé comme il t'a créé, là où il t'a créé, dans la famille qu'il t'a créé, avec les défauts qu'il t'a créé, les qualités qu'il t'a créé, les compétences qu'il t'a créé. Tu es qui tu es parce que Dieu avait prévu ce que tu ferais. Si un truc aussi banal qu'une bouteille n'est pas créé pour qu'après on ait décidé de mettre de l'eau dedans, pourquoi vous voulez que quelque chose aussi complexe que l'homme ait été créé par hasard, par Dieu dans son intelligence? Pourquoi est-ce qu'on peut faire ce que je fais si Dieu ne m'a pas taillé exactement comme il faut pour ça? Combien de personnes au Bénin peuvent parler pendant 5 jours d'affilée sans aucun papier? Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Mais il m'a prévu pour faire ça, il va bâtir comme ça. Tu m'imites, tu vas échouer. Parce que ça, là, c'est ma destinée. N'essaie pas de me ressembler. Cherche à découvrir dans quel style toi tu vas être champion comme je le suis dans mon domaine. Les gens demandent qu'est-ce qui marche. Pourquoi tu veux voir ce qui marche? Regarde qu'est-ce que Dieu a prévu que tu fasses marcher. Des gens font plus au water, ils sont milliardaires, ils vont faire plus au water, ils ne gagnent même pas 1000 francs. Quelqu'un avait la destinée de faire plus au water, il l'a fait. Si toi tu n'as pas la destinée de faire plus au water, tu le fais, tu vas être deuxième, troisième derrière lui. Mais lui sera la quête. Découvre pourquoi toi tu es créé. Quand tu l'auras découvert, sur ton couloir, tu vas être un champion imbattable. Parce que tu es taillé sur mesure pour ça. Si tu prends une fourchette, c'est fait pour piquer la viande, pour manger certaines choses. Tu peux boire la bouillie avec. Mais quand même, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas souffrir beaucoup, hein. Mais la bouillie va rentrer dans ta bouche quand même. Je vois des gens qui prennent la cuillère pour essayer de déchiqueter la viande de bœuf. Ils se font mal à la main, et puis tordent la cuillère, ils redressent plusieurs fois. Si tu prends le couteau, ça va vite. Quand tu essaies de prendre quelque chose pour faire ça, pourquoi il n'est pas fabriqué, la chose se garde, toi-même, tu te gardes, tu perds du temps. Si tu deviens docteur alors que tu es pour être avocat, tu vas mourir de soucis, tu vas tuer beaucoup de malades et tu vas t'envoyer en enfer. C'est ça. La parabole des talents. Celui qui a reçu un talent n'en a rien fait. Dieu l'envoie en enfer. Le talent, c'est à la fois l'argent et la compétence. Dieu te donne un talent caché. Tu ne le développes pas. Tu n'en fais rien. Tu as laissé ton talent dormir. Un jour, Dieu te demandera, je te demande des comptes pour ce que je t'ai donné. Tu avais la capacité, par exemple. Supposons que tu es quelqu'un. Quand tu es quelque part, tu fais rire les gens. Dès que tu es là, seulement les gens sont de bonne humeur. Les gens sont détendus. Tous leurs soucis disparaissent. Parce que tu les fais rire. On dit quelle est ta destinée. Tu dis que tu vas être professeur de physique. Ce n'est pas un professeur de physique que tu es. Dieu t'a créé, par exemple, je te donne un exemple, pour être un champion mondial, un gars qui va aller d'hôpital en hôpital et va créer une thérapie par le rire. Il arrive que pas, il y a des cancéreux, il a un traité, il fait rire les gens sont guéris. Ça devient un phénomène mondial. Voilà peut-être la destinée que Dieu t'a donnée. Tu dis, moi, je vais faire rire les gens, tu n'as pas dit imbécile, tu vas aller faire rire les gens. Personne ne mange ça. Il faut aller faire quelque chose à l'école. Toi aussi, tu les suis. Tu laisses de côté ta destinée. Tu laisses de côté ta destinée que Dieu t'a donnée. Et tu préfères écouter les hommes que d'écouter ce que Dieu t'a mis à cœur. Tu fais ce que tout le monde fait. Tu vas jouer comme tout le monde alors que Dieu avait prévu une glorieuse destinée pour toi. Il t'avait bâti pour ça. Tu n'as même pas d'effort à faire pour que ça, là, ça marche. Tu l'as laissé parce que ça n'intéressait personne. Vous laissez vos destinées en jachère et vous allez souffrir sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi ça se passe comme ça? Il m'a expliqué. Il m'a dit, votre problème c'est quoi? La Bible nous dit, malheur à celui qui se confie en un homme. Et heureux dont l'Éternel est le conseil. Celui dont l'Éternel est le conseil. Quand tu veux faire tes choix, tu écoutes tout le monde sauf Dieu. Tu écoutes tout le monde sauf Dieu. Tu commences à demander à tes amis, à tes parents, à tes professeurs, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses. Tu ne demandes jamais à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Tu n'écoutes jamais au fond de ton cœur la conviction que Dieu te donne. Cela étant, tout le monde te décourage. Oh, il n'y a rien là, ça ne peut pas marcher, personne n'a jamais réussi ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Tout le monde te décourage. Et toutes les voix, sauf celle de Dieu, te disent qu'il n'y a rien là où Dieu t'a envoyé. Et tu mets ça en confrontation avec ce que tu sens dans ton cœur que Dieu te dit, et tu préfères faire ce que le monde a dit. Conclusion, tu échoues. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tout le monde nous décourage? Pourquoi il permet que tout le monde te décourage quand tu veux rentrer dans ta destinée? Parce que c'est la grande question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et il m'a expliqué. Il m'a dit, écoutez, Si je vous dis à vous tous, par exemple, ici, que j'ai caché 1 million sous ce haut-parleur, par exemple, vous êtes peut-être 200, 300 dans la salle, j'en sais rien. Quand vous allez aller là, on partage 1 million par 300, ça fait à peine 3 francs par personne. Bien, peut-être 3 000 francs par personne. Où il n'y a rien, où il n'y a plus de fortune. 1 million n'est million que si c'est une personne qui le prend. Si vous êtes 300 à l'époque, le million, c'est 3 000 francs. C'est comme ils donnent aux gens dans les meetings là. C'est pas plus que ça. D'accord? Si il est sûr que derrière ce haut-parleur, il y a un trésor, tout le monde y va. D'abord, il n'y a plus de trésor, même si vous venez ensemble. Et généralement, comme nous ne sommes pas très alertes, et comme nous ne sommes pas le premier à être nés, il y a beaucoup de gens qui seraient déjà passés là le prendre avant que celui auquel il était destiné arrive. Donc Dieu a fait en sorte que quand il a destiné quelque chose à quelqu'un, il donne à la personne une certaine fenêtre de temps pour en profiter. Tant que la personne n'a pas expiré son délai, il met un voile sur les yeux de tout le monde, de telle sorte que tout le monde passe là, ne voit rien. Pour protéger ce qu'il a mis là pour toi. Il met un puits d'or ou un puits de pétrole là. Tout le monde voit que ce n'est que la brousse à l'intéresse, personne, c'est un bâton. Tout le monde. Mais qu'est-ce que se dit achète ce terrain? Si ce n'est pas le truc, achète. Tu achètes, le jour où tu achètes, tu découvres du pétrole. Ah, on m'a quand même trouvé ce terrain là, 700 000. Tu as fait en sorte que tous ceux qui ont vu ça avant toi ne réalisent pas que ça peut avoir de la valeur. Parce qu'il attendait que toi, pour lequel il a fait, tu viens le vendre. Et c'est pour ça que les gens que tu vas écouter quand tu demandes conseil pour faire ta destinée sont des gens que Dieu a voilés pour qu'ils ne voient pas ta destinée. S'ils voient que ta destinée est rentable, ils vont chercher à rentrer dans ta destinée avant toi. Ou bien, ta destinée ne va pas t'attendre. Alors, il faut qu'elle t'attende pour que tu sois à la tête. Pour être la tête, il faut être le premier. Dieu qui t'a promis que si tu suis sa parole, tu vas être le premier. S'il laisse n'importe qui rentrer sur ton chemin, comment il va te garantir que tu es le premier? Pour que tu sois le premier, il empêche qui que ce soit de venir dans ton chemin tant que tu as la possibilité de venir. Et quand toi, tu n'écoutes pas Dieu, que tu vas écouter ceux qu'il a voilés pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, ils te disent ce qu'ils voient, c'est-à-dire rien. Tu les suis, tu laisses ta destinée et tu les suis dans leur perdition. Quand Dieu comprend que tu as définitivement tourné le dos à ta bénédiction, il appelle quelqu'un d'autre qui lui donne. Vous ne pouvez pas entrer dans votre destinée en écoutant les hommes. Regardez bien. Regardez les gars de Apple et tout ça qui sont décédés. L'histoire de tous les géants est toujours une histoire de s'être opposé à l'opinion commune, à la logique commune à un moment donné de leur vie. Et l'histoire leur a donné raison. Vous voulez vivre sans jamais être en opposition avec la norme. Quand vous sentez quelque chose au plus profond de vous, assumez votre destinée de temps en temps en prenant les risques. Même si au début c'est dur. Et là aussi, il y a la loi du petit commençant. Quand tu commences à faire petit, si à cause de ça tu fuis, tu vas le faire à quelqu'un d'autre. Le champ qui t'est destiné, tu viens dedans, tu laboures, tu travailles, tu en fais un grand champ. Mais si tu vas travailler de champ, tu cherches des vergers qui sont déjà mûrs à récolter, tu deviens voleur. Et ça ne marche pas. Et beaucoup d'entre nous vivons, vieillissons et mourons malheureux parce qu'on est passé à côté de notre destinée. Ce n'est jamais trop tard. Si vous n'êtes pas mort, ici il n'y a que des jeux globalement. Si vous savez bien ce que vous faites, tout dans votre corps, vous dites que vous n'avez rien à faire là, même s'il y a de l'argent là, laissez partir. Allez faire ce que vous sentez que vous êtes fait pour faire. Il y a toujours quelque chose que, même s'il n'y a pas d'argent, quand vous commencez à 8h, minuit, ça vous dit, et à minuit, parce que vous êtes heureux là. Ne laissez pas ça pour aller faire quelque chose. Quand vous êtes là à 8h, vous regardez 9h, c'est déjà trop long pour vous, parce qu'il y a de l'argent. Et si vous me suivez, ce que je donne à l'école, c'est à vos chers. Rentrez dans votre destinée. Et votre destinée sera toujours une destinée de service. C'est que Dieu vous dit, je t'ai équipé pour faire du bien au monde dans ce domaine-là. Quand tu rentres dans ce domaine-là, tu battras tout le monde là. Personne ne pourra jamais te venir à te vivre. Tout ce que tu feras là, tu seras toujours la tête et non la queue. Mais si tu sors de là, je n'ai pas rendez-vous avec toi. Il y a des prières pour faire, ça ne donne rien. Parce que Dieu dit quelque chose. Jésus dit qu'il est le bon berger. Regardez, Jacob, le père d'Israël, était un berger. David, l'homme, le père de Dieu, était un berger. Moïse, qui a donné la loi, était un berger. Jésus s'est défini comme le bon berger. Abraham était un berger. Vous ne demandez pas pourquoi Dieu ne peut que ça, les bergers. Il y a des gens qui ne peuvent pas diriger un pays parce qu'ils n'ont jamais dirigé des moutons. Être berger, s'occuper des brebis dans la bourse, faire leur nourriture, veiller à leur donner de l'eau, être prêt comme David à aller risquer sa vie contre des lions pour les protéger. Ce n'est pas tes moutons. Même si on les vole, rien ne change. quand tu es capable de te couper fidèlement des brebis, on peut te confier la vie des hommes. Mais si tu n'es pas capable de te couper des moutons, si tu n'es pas capable d'être fidèle sur des moutons, on ne peut pas te confier des hommes, tu vas t'en sortir. Mais ce n'est pas ça le plus important que je voulais dire. Regardez comment fonctionne un mouton berger. Il a un bâton. Un long bâton. Sur leurs épaules. Jésus dit que les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Effectivement, quand un berger veut, quand il parle, des fois, par exemple, il dit, passez à droite, le troupeau change de direction. Mais il y a des fois, pour différentes raisons, le troupeau fait la foule d'oreille. Il dit à droite, et puis le troupeau va à gauche. Comment le berger fait dans ce cas? Il prend son bâton, il passe par la gauche, et il bat le chemin au mouton. Quand il bat le chemin au mouton, le mouton change de direction. On appelle ça l'aiguillonnage. Si Dieu est dans votre vie le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il vous parle. Si vous comprenez, c'est bon. Si vous ne comprenez pas, il ferme les portes mauvaises que vous prenez pour essayer de vous aider à prendre la bonne porte. C'est là que vous priez, vous travaillez, vous faites tout dans votre domaine, ça ne marche pas. Dieu est en train de dire, fous le camp de là, je n'ai pas de rendez-vous là, regarde de l'autre côté. Il est en train de t'aiguillonner comme un bon berger. Ses conseils suffisent. Mais au saut, il faut le bâton pour comprendre. C'est quand tout ça là est joué que le berger commence à tabasser le mouton. Vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie parce que vous êtes tellement têtu que Dieu est obligé de vous frapper pour vous comprendre. Il y a des gens, il faut qu'ils soient malades, complètement alités pour commencer à appeler Dieu au secours. Oh, tout père veut voir ses enfants. Si c'est quand toi tu es presque mourant que tu vas dire bonjour à ton papa. S'il voit que la mort veut arriver, qu'il va te laisser arriver au maximum avant de te enlever ça. Parce qu'au moins il va te voir. Si vous ne priez que quand vous avez des problèmes, pourquoi Dieu va laisser empêcher le problème de venir chez vous? Si toi tu es un père, tu sais que tes enfants doivent avoir faim avant d'arriver. Tu vas aller envoyer l'argent de poche là où ils sont. Imagine que tu donnes l'argent de poche à tes enfants au début de chaque semaine. 7000 francs pour la semaine, 1000 francs par jour. Tu vois qu'un enfant, quand lui prend l'argent le lundi, vient à la maison seulement dimanche soir. La semaine, il est dans les bars, avec les prostituées, dans les ghettos. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à donner 1000 francs par jour. Là, il viendra tous les matins. Tu te rends compte que ça marche, tu lui donnes 500 le matin, tu vas voir ton enfant à midi. Quand un enfant n'est pas capable d'être fidèle, tu ne lui donnes pas beaucoup à la foi. Tu lui donnes le strict minimum. Regardez vos vies. Ça ressemble à ça, non? Dieu vous dit toujours d'affaire juste que jamais de surplus. Parce que vous n'êtes pas fidèle. Vous faites de notre père, vous n'y pensez même pas. On dit notre père, donne-nous aujourd'hui notre père de ce jour. Dans le désert, il leur a donné la manne chaque matin, ils ne pouvaient même pas le conserver pour le matin. C'est quand ils ont été à Jéricho, là où coule le lait et le miel, après avoir remporté les combats de la foi, après avoir obéi à la loi, qu'ils ont commencé à être bénis. Dans le désert, vous êtes sous la loi. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes encore rebelle. Il vous discipline en vous obligeant à venir chercher chaque matin la ration. Il te donne le strict minimum pour que tu ne meurs pas. Il va te donner beaucoup quand tu seras digne de confiance. Si le jour où tu as 50 000, tu deviens elle présidente, tu en sais toutes les filles de ton quartier la nuit, Dieu va dire que si ce petit avait 50 000 est dangereux, si je lui donne 1 million, il n'y aura plus de filles vierges dans Cotonou. Ce n'est pas la peine de donner de l'argent. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu n'est pas bête. Vous avez ce que Dieu estime que vous êtes capable de gérer. Parce que Dieu dit qu'il ne vous donne rien qui sera suivi de chagrin. Si tu achètes vélo à ton fils et puis fais le voyou dans le quartier, c'est voici que tu vas lui acheter si tu es un père responsable. Dieu vous donne ce que vous êtes capable de gérer. Si vous grandissez spirituellement. C'est pour ça que, écoutez, moi ça fait 3 ans que tous les mercredis je suis ici. De 19h à 21h pour enseigner. Tous les jeudis je suis ici. 19h à 21h pour enseigner. Maintenant les dimanches en plus je fais culte ici à 19h. Demain matin je serai à Yesse Madonaï pour enseigner. Demain soir, je serai à Sakété, non, avant cours. Samedi, je serai à Sakété. Dimanche, je suis sur une émission. Quasiment tous les jours, depuis des années. Et aujourd'hui, ça s'accélère. Je vais de village en village, d'école en école pour enseigner. Vous croyez que je joue? Il n'y a que ça qui va réveiller ce pays. La parole de Dieu. Pragmatique. Ce n'est pas aimer Jésus, je vous aime, Jésus vous aime. Ce n'est pas ça. Ça, là, on a dit ça trop, ça ne donne rien. Il faut ouvrir les yeux aux gens, leur apprendre les lois de la vie et qu'ils y obéissent. Et ils seront bénis. Dieu dit que plus vous allez prendre le temps de connaître Dieu et de lui obéir, plus vite vous allez prospérer. Pourquoi les Américains sont les plus puissants au monde? C'est le pays de In God We Trust. L'Américain fait tout avec Dieu. C'est qu'on fait le leadership, le management, le marketing, tout ce qui est puissant au monde. Vous prenez les prix Nobel, il n'y a que des Américains. On dirait qu'il n'y a que des Américains au monde. Dans tous les domaines, ils sont premiers sans deuxième. Alors que les Américains ont été créés il y a 300 ans. Les États-Unis sont l'un des derniers pays créés au monde. Ils ont battu le monde entier, premier sans deuxième. en 3 siècles. L'Europe a des millénaires, l'Afrique a des millénaires. Les États-Unis ont été créés à 3 siècles. Ils ont battu le monde entier en 3 siècles. L'époque de Galilée à peine. Ils ont tout bâti sur la parole de Dieu. Premier sans deuxième dans tous les domaines. Et aujourd'hui, ils sont en train de décliner. Parce qu'ils ont commencé à s'éloigner encore de Dieu. Mariage homosexuel, le sexe, tout est bêtise. Vous allez voir, ils vont déchoir. Et l'Afrique va monter. Parce que c'est maintenant que l'Afrique est en train de découvrir Dieu de s'éloigner d'idolâtrie. Quand vous prenez l'Europe, l'Europe a été l'un des premiers continents à se développer. Au siècle des Lumières, ils ont fait la chasse aux sorcières. Ils ont détruit tout ce que nous avons comme bêtise dans notre pays là. Avec les Descartes et conseils, ils vont commencer à ouvrir les yeux aux gens. L'Europe s'est développée. Il n'y a pas de développement dans l'idolâtrie. Le Ghana qui se développe. On oublie que depuis 3 mandats, ils n'ont que des présidents chrétiens. La Corée du Sud, qui est devenue un dragon. 305% de chrétiens aujourd'hui. Regardez bien l'histoire du monde, lisez-la. Le développement suit la foi. Il a dit, vous ne pouvez rien faire pour vous en sortir sans Dieu. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Peut-on sortir du chômage sans argent? Évidemment que oui. Pourquoi le blocage empêche d'évoluer quand on commence à prospérer dans son travail? Oui, si vous volez un travail, si vous prenez un travail que vous ne méritez pas, si vous faites du forcing pour avoir quelque chose auquel vous n'êtes pas préparé, vous ne le gardez pas. Si c'est un mandat qu'on t'a donné un emploi que tu ne sais rien faire, tôt ou tard, c'est un mandat que tu ne sais pas faire, on va te chasser. Si tu n'as pas une bonne attitude, au lieu de te rendre indispensable, au lieu de servir, au lieu d'être disponible, tu es tout le temps rebelle. On t'a donné ta chance, tu l'as fait. On ne peut pas prospérer dans son emploi sans suivre les règles de la vie. Moi, j'ai de la chance. Comme je dis, c'est une question de destinée. Déjà, ma grand-mère s'appelait, j'ai donné le même nom à ma fille, elle s'appelait Miwa Saint. Ça veut dire quoi? Miwa Saint, tant pas d'oubain. Ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, venez respecter les règles de la vie si vous voulez être heureux. Donc, même les païens l'ont compris. Le bonheur dans la vie, qui ont respect des lois de la vie. Or, notre génération a été convaincue par Satan et on continue de faire n'importe quoi. Les femmes n'ont jamais été aussi émancipées qu'aujourd'hui. Elles n'ont jamais souffert autant qu'aujourd'hui. Pourquoi vous ne l'auriez pas remarqué? Ça fabrique maintenant des gigolos dans Cotonou. Parce que ça monte, ça a de l'argent, mais c'est malheureux, c'est obligé de se suicider. Parce que Dieu a dit, on ne peut rien faire contre ça. La femme, tes désirs seront portés vers l'homme. Mais elle dominera sur elle. Il n'y a rien qu'une femme puisse faire pour être heureuse sans un homme sur elle. Rien. Elle va finir, elle va se suicider, elle va fabriquer des gigolos, elle va être ministre, présidente, elle va acheter des maris, elle ne sera jamais heureuse. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et en échange, la femme qui se soumet à son mari, elle est bénie par son mari. Un enfant est béni par son père parce qu'il se soumet à son père. Vous n'avez jamais vu un villageois laisser sa femme aller travailler dans le champ de quelqu'un d'autre? Tu n'as jamais vu un président laisser sa femme pour travailler avec quelqu'un d'autre? Quand quelqu'un devient riche, la première chose qu'il fait, c'est demander à sa femme d'arrêter de travailler. Il n'y a que nous, les jeunes idiots, qui nous disons modernes, qui laissons notre femme aller courir de bureau en bureau pour se faire draguer. Même si ta femme est honnête, elle est là du matin au soir, tout le monde vient la draguer. Le jour où vous discutez à la maison, c'est une femme. Tu viens de faire une bêtise, elle est là. Une énième fois, on l'attente. Ce jour-là, c'est la foi de trop. Qui met la viande dehors pour le chien, pour dire que le chien mange ici, il est responsable? C'est parce que Dieu est bête. Différence entre job et travail. Il n'y a aucune différence. Job, c'est le mot américain qui veut dire travail. Mais un bon francophone voulait des travaux garantis, de fainéant, de rien faire, avoir des salaires. Et donc vous avez tout le temps à trouver qu'il y a des emplois qui ne sont pas de vrais emplois. Tout emploi est un emploi. C'est à vous de faire du plus petit emploi un grand emploi. Même si on vous recrute pour vider les faux sceptiques, vous devez pouvez devenir milliardaire. Il y a tellement de problèmes dans les faux sceptiques au Bénin. Si moi je n'ai rien à faire, on me confie les faux sceptiques. Je vais devenir milliardaire dedans. Il n'y a pas de saut métier. Il y a une manière de tirer profit de toute situation. Évidemment, quand vous connaissez Dieu, vous devez vous assurer que c'est votre destinée. Mais quand on dit de sortir de la maison, parce que ça c'est aussi une autre erreur que les jeunes font, vous voulez passer d'un extrême à l'autre. Il est à la maison depuis 10 ans, il vient du chômage. Tu dis quel projet là, il veut créer une industrie agroalimentaire qui mobilise 10 milliards de budget. Ce n'est pas possible, même si tu as 10 milliards, tu vas les perdre, tu ne sais pas les gérer. Quand tu es à la maison, tu ne fais rien, tu dors là. Commence à faire quelque chose qui te rapporte au moins 20 000 francs à la fin du mois. C'est déjà bon de commencer comme ça. Après, tu vas gagner un peu, tu vas monter. Parce qu'au rythme où tu gagnes, tu vas penser à gérer. Celui qui n'a jamais géré 100 000, si tu donnes 1 million, il va avoir des problèmes. Il faut que vous gagnez de l'argent progressivement pour apprendre à le gérer progressivement. Regardez par exemple avec Josué. Quand Josué a voulu conquérir la terre promise, c'est Dieu qui a ouvert la brèche. Ils sont rentrés à Jéricho. Mais Dieu leur dit quoi? Allez-y progressivement. Ne prenez pas tout le pays à la fois. Sinon, les animaux sauvages et les herbes vont le dominer. Si tu prends un grand domaine, tu ne peux pas le labourer à la fois. Dieu dit, prenez les choses petit à petit pour verrouiller vos possessions. C'est pareil dans votre destinée. Si tu deviens milliardaire alors que tu n'as jamais eu 100 000, on va mettre 10 000, il va te faire grandir progressivement, te donnant chaque fois le niveau d'argent que tu peux gérer. Donc, il faut être patient dans la vie pour grandir progressivement. Si vous volez les choses trop vite, vous les perdez aussi trop vite. Peut-on vraiment avoir un travail digne de ce nom avec la situation politique et économique du Bénin? Évidemment, il y a des milliardaires à côté de nous qui ont 10 voitures, qui ont 10 immeubles. Dans la situation économique du Bénin, non? Alors, pourquoi c'est pour vous que la situation économique du Bénin est un problème? Mieux regardez l'histoire. La plupart des gens qui se sont enrichis dans les crises. On gagne plus facilement de l'argent en période de crise qu'en période de prospérité. Mais en période de crise, il n'y a que les gens brillants qui gagnent de l'argent. Une crise, ce n'est pas un problème. C'est un moment où les choses qui marchaient avant ne marchent plus. Donc, la plupart des gens ne réalisent pas vite qu'est-ce qui marche. Ils perdent parfois une génération à le découvrir. Ceux qui sont intelligents voient rapidement où le vent tourne et ils gagnent de l'argent pendant que les autres sont encore dans des problèmes. C'est comme par exemple, je donne un exemple. Prenez les mécanographes, ceux qui réparaient les machines à dactylographier. Pendant longtemps, ils utilisaient les machines à dactylographier. À un moment, l'informatique a commencé à arriver. Beaucoup de mécanographes ont joué les rebelles. Ils disaient non, l'informatique, ça ne va jamais changer. On aura toujours besoin de machines à écrire. Et puis, ils faisaient le malin là. Ils sont restés à réparer les machines à écrire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de machines à écrire. Ils ont fermé. J'en connais qui étaient milliardaires. Ils ont tout vendu. Mais d'autres ont été visionnaires. Dès que l'informatique a commencé, ils ont recruté un informaticien. Ils ont commencé à dire à leurs clients, en fait, notre métier, ce n'est pas de réparer vos machines à écrire, c'est de réparer votre outil de traitement de texte. Comme il y a un nouvel outil qui est l'informatique, sachez que je répare ça aussi. Je peux même vous en vendre. Ils ont récupéré en même temps le nouveau gros marché qui naissait en recrutant un informaticien. Ils ont continué à gagner de l'argent, ils en ont gagné beaucoup plus, pendant que les gens qui faisaient le même métier que sont morts. Vous devez savoir à quoi vous jouez, savoir vous adapter, savoir suivre le marché. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des opportunités. C'est votre manière de voir les choses qui fait une opportunité ou un problème. On raconte souvent en marketing l'histoire d'un commercial qu'on envoie dans un pays où les gens étaient un peu paysans. Ils ne portaient pas de chaussures. On envoie un premier commercial qui est vendeur de chaussures. On lui demande de prospecter. Il revient dire que ce n'est pas la peine d'aller dans ce pays-là. Personne ne porte des chaussures, ils n'ont rien à vendre. On dit d'accord, on le ramène. Quelques mois après, on renvoie un autre commercial. Lui dit, franchement, on a des problèmes, il faut qu'on multiplie nos usines, je ne sais pas comment on va faire. Il y a tellement de gens qui ont besoin de porter des chaussures ici qu'on va devenir milliardaire. Et c'est ce qui s'est passé. C'était la société Bata. À l'époque. Personne ne porte des chaussures. Ça ne veut pas seulement dire qu'on n'en a pas à vendre. Ça veut dire que si on arrive à leur donner le goût, il y a des milliards à faire ici. Mais si vous regardez toujours ce qui marche, au lieu de regarder ce que vous pouvez faire marcher, vous n'allez jamais tuer les bons coups. Dites-vous, par exemple, nous sommes en période de crise. En crise, qu'est-ce que les gens ont comme problème? Comment les gens réfléchissent en crise? Par exemple, en période de crise, les gens veulent faire des économies. Si tu as une idée pour aider les gens à faire des économies, tu gagnes de l'argent. Si par exemple, tu as une manière pour aider les gens à consommer la même électricité, mais à payer la moitié, tu vas devenir riche. Ou bien, quand par exemple, tout le monde pleure parce qu'il a coupé le courant, moi, à chaque longue coupée de courant, je suis content. Parce que je dis, mais quand on coupe le courant tout le temps, il faut vendre des groupes. Donc, quand on coupe le courant, moi, je n'ai pas le problème. J'ai un groupe à la maison, j'ai un groupe ici, j'ai un groupe au bureau. Et chaque fois qu'on coupe le courant longtemps pendant une journée, là, les ventes de groupes se multiplient. Donc, moi, je m'en fous maintenant des groupes de courant. Peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne suis pas producteur de groupes. Je n'ai rien à tirer des groupes. Mais comme tout le monde pleure parce qu'il n'y a pas de courant, au lieu de pleurer aussi, comment je profite du fait qu'il n'y a pas de courant? Je vends des groupes. Vous commencez à me suivre. Votre vie est le produit de votre manière de penser. Vous changez ça, toute votre vie change. La problématique du thème, ça c'est une question théorique. Celui qui travaille dans une entreprise dépose des demandes de partout. Fait une mauvaise chose. Oui. Oui, selon comment il le fait. Dieu est très clair et c'est vrai. On ne peut pas chasser deux lièvres à la fois. On ne peut pas servir deux maîtres. Forcément, on en méprise un au profit de l'autre. Si tu sais que tu es dans une entreprise, que tu ne vas pas rester longtemps, tu dis clairement, patron, je suis ici parce que je n'ai pas mieux. Sauf cas exceptionnel, sache que je suis en train de chercher mieux, tu peux m'aider à chercher mieux. Le jour où je trouve mieux, je pars. Soit il te dit, d'accord, il n'y a pas de problème, Et quand tu seras prêt à partir, il ne t'en voudra pas, s'il est honnête. Soit il te dit, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je veux quelqu'un sur qui je peux compter pour longtemps. Mais tu ne viens pas dire à quelqu'un, compte sur moi. Il fait un projet sur toi. Il te forme. Il met tout à ta disposition. Alors que toi, tu sais très bien que tu n'es pas en train de vouloir travailler avec lui longtemps. C'est-à-dire que tu lui demandes de te mettre des moyens pour tout faire, pour te faire réussir, en sachant très bien que ta tête n'est pas là. C'est de la malhonnêteté. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Dieu nous dit que la loi suprême, c'est la loi de l'amour. Quand tu te demandes si quelque chose est bon, demande-toi si toi on te le faisait, ce serait bon. Si oui, fais-le. Toi, tu voudrais recruter quelqu'un qui est chez toi en sachant qu'il n'est pas là. Quand tu l'envoies sur le terrain pour vendre, il va voir des gens pour te poser des CV. Si toi, on te faisait ça, tu serais content. Sinon, ne le fais pas aux autres. Mais si tu sais que tu as un emploi qui n'est pas bon, mais pour ne pas rester à la maison, dis clairement aux gens, je cherche mieux, pour telle raison. Mais comme je ne fais rien, je suis prêt à vous aider en attendant. Et quand c'est comme ça, n'exige même pas de salaire. Dis, faites comme vous voulez pour mon déplacement. Là, tu es libre. Tu fais ce que tu peux pour lui. Si ça s'améliore, tu peux rester. Si ce n'est pas bon, tu t'en vas. Il ne t'en voudra pas. Mais ne dis pas à quelqu'un que tu veux travailler pour lui en sachant très bien que ton cœur n'est pas avec lui. Parce que pour faire de grandes choses, il faut être là de corps et d'esprit. Pour avoir une grande carrière, il ne faut pas être au boulot de 8h à 18h. Même quand tu es à la maison, tu es en train de penser à ton boulot. Toute ta vie se joue à ton boulot. Tu vas à un enterrement, tu penses à ton boulot. Tu vas en famille, tu penses à ton boulot. Si ton entreprise n'est pas un homme de terrain, quand tu sors du bureau, tu es toujours dans l'entreprise. Tu vois tes frères, tu vois tes soeurs, tu vois tes cousins. Partout, tu es en train de chercher un homme de terrain. Parce que ton entreprise, tu l'aimes et tu y es. C'est comme ça que l'entreprise a été bénéficiaire pour toi. Mais si tu es là pour faire service minimum, je ne fais que ce qu'on m'a payé pour faire. Tu perds ton temps, tu perds le temps de l'entreprise. Et tu ne seras pas béni. Ensuite, pourquoi y a-t-il des chômeurs au Bénin? On en a parlé. Peut-on obtenir le travail sans diplôme? La plupart des gens sont très très riches et réussissent très bien sans diplôme. La prière permet-elle de quitter le chômage? Oui et non. La prière, vous savez, la prière, c'est l'équivalent de la pluie. La prière est l'équivalent d'une pluie qui arrose le champ de quelqu'un qui a labouré. Vous voyez, quand un paysan veut une récolte, il trouve un champ, il laboure, il sème, il fait ce qu'il a à faire. Et maintenant, il prie pour que la pluie tombe. Si la pluie ne tombe pas, c'est que Dieu n'a pas béni sa récolte. D'accord? Mais il y a des gens qui n'ont pas labouré. Et quand tous les paysans sont en train de prier pour qu'il y ait la pluie, aussi prient pour qu'il y ait la pluie. Quand il pleut, ça ne change rien pour eux. Au pire, ça peut me les inonder comme dans Cotonou. Et c'est encore un problème pour eux. C'est pareil pour la prière. La prière, c'est pour attirer. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Vous avez vu avec Isaac, il y avait la crise. Isaac voulait fuir. Accès Canada, le terrain visa, d'autres bêtises comme ça. Dieu dit, il n'a pas besoin que tu fuis de bénir. Il y a des problèmes partout. Je connais plein. Ils vont laver les WC chez les blancs là-bas et ils envoient, ils mettent des photos sur Facebook pour blaguer ceux qui sont restés ici. Parce qu'ils ont hâte de revenir. Il n'y a pas de vie là-bas. Surtout pas pour des gens qui n'ont aucun niveau. Ils vont là-bas et demander en fait d'hommes dans les métros. Ils arrivent à faire une photo avec des photos, par exemple, quelqu'un met sur Internet. Vous croyez qu'ils sont en train de vivre heureux là-bas? Pour venir en vacances, il faut 100 ans d'économie. Il arrive ici avec plein de atouts à vous dire qu'il est en France, vous aussi, vous avez envie d'aller en France, vous avez envie d'aller au Canada. Isaac voulait quitter son pays pour aller en Égypte. C'était l'équivalent des États-Unis à l'époque. Dieu dit non, reste là où tu es. Sème, je bénirai. Il a semé dans un pays de famine. Dieu lui a donné des votes extraordinaires. La prière vise à invoquer la fécondité de Dieu sur ce que tu fais. Donc la prière ne sert que pour couronner ce que tu as fait. Si tu as bien fait, Dieu dit, quand tu as respecté mes lois, attends patiemment, je te bénirai. Ne t'inquiète pas, la bénédiction est en cours. Si tu as respecté mes lois, mais si tu n'as pas respecté les lois de Dieu, tu pries. Tu attends quoi? Vous savez, l'une des caractéristiques de Dieu, c'est que Dieu ne se contredit jamais. Sinon, il n'est plus Dieu. Un homme qui se contredit, c'est un gars qui n'est pas sérieux. Si Dieu peut se contredire, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu dit par exemple que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Toi, tu ne veux pas travailler, mais tu veux salaire. Si tu pries, Dieu te donne le travail, Dieu vient se contredire. Il a donné salaire à ceux qui ne veulent pas travailler. Moi, je lui ai dit, Dieu, tu n'es plus sérieux. Jésus, le Fils de Dieu, quand la croix arrivait, il a, toutes les fois que Jésus a prié, il a été exaucé. Sauf une fois. Et même là, en priant déjà, il savait qu'il ne serait pas exaucé. Regardez comment Jésus prie. Il dit, Père, merci parce que. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que pour prier, il faut demander à Dieu avec des actions de grâce. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Comment vous priez en général? Vous dites, donne-moi, par exemple, 11 kilos. Vous attendez qu'elle vous donne, et qu'elle vous donne, vous dites merci. C'est comme ça qu'on demande. On dit, Seigneur, donne-nous. On attend qu'il donne, on dit merci. Dieu ne dit pas ça. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez avec des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Si c'était par exemple Hermione, mon épouse qui est là, quand je prends son stylo, je ne dis pas, passe-moi ton stylo. Je dis merci chérie. Quand je suis sûr que la personne ne peut pas me refuser, je ne demande pas, je n'attends pas sa réponse. Je prends en disant merci. Je demande en disant merci. Je demande avec des actions de grâce. On est d'accord? On ne peut pas faire ça sans être sûr que la personne va dire oui. Comment faire pour être sûr que Dieu va dire oui en connaissant sa parole? Dieu ne se contredit jamais. Ce qu'il a promis le fait toujours. Si tu connais les lois de Dieu, tu sais dans quel cas il fait quoi. Tu peux vérifier avant de prier. Est-ce que tu es conforme à ce qu'il a dit? Quand tu es sûr que tu es conforme, au moment de prier, tu as l'assurance. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand tu sais que conformément aux lois de Dieu, quand je vais à un tribunal, je peux savoir si je vais gagner ou pas. Je connais la loi. En fonction de tel et tel article, vu telle preuve, je suis sûr que le juge, il n'a pas le choix. Il est obligé de me donner raison. Je vais là-bas avec l'eau. Quand tu connais la parole de Dieu, avant de prier, mets-toi en conformité avec la parole de Dieu. Ça te donne l'assurance qu'il faut pour avoir la foi. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu me donnes tel. Tu es sûr que ça va arriver. Tu ne demandes pas à Dieu pour attendre qu'il te donne pour dire merci. On attend pour dire merci quand on n'est pas sûr. Oh, Dieu dit, si tu crois, tu verras. Vous voulez voir avant de croire. Oh, Dieu dit, si tu crois, tu verras. Pas si tu vois, tu croiras. Vous priez, si tu vois, tu croiras. Oh, Dieu dit, si tu crois, tu verras. Vous prenez la... Tu ne peux pas faire le contraire de ce que Dieu dit pour vouloir que lui fasse des choses. Si tu fais le contraire de ce que Dieu a dit pour bénir, tu as le contraire de la bénédiction, pourquoi tu as surpris? Et les gens font comme si Dieu n'avait pas de cerveau et puis il est irrationnel. Bon, c'est Dieu, fait comme ça lui plaît, c'est un vieux papa gâteau là. Et Dieu a un cerveau. C'est lui qui a fabriqué vos cerveaux, donc il a un cerveau. Est-ce que vous me suivez? Priez, Dieu dit, venez plaidons. Priez, c'est dire à Dieu, j'ai un contrat avec toi. Tu as fait une alliance. Tu dis que si quelqu'un fait ça, tu lui donnes. J'ai fait ça. Je suis ton enfant. Je suis sous le sang de Jésus. J'ai péché, d'accord, mais tu es mort à quoi pour me pardonner. Je me suis repenti. Puis ici, je suis repenti, tu me pardonnes. Bon. Donc, tu parcours les lois de Dieu, il y en a un. Tu vois si tu es conforme. Si tu n'es pas conforme, tu t'arrêtes. Et tu te mets en conformité. Je dis, par exemple, si tu pries, et tu te rappelles que tu es en train avec quelqu'un, arrête ta prière. Va te réconcilier avec lui. Pourquoi? Dieu ne descend jamais pour bénir quelqu'un. Il utilise toujours quelqu'un autour de vous. Tu pries, tu as faim. Tu pries. Tu dis, je ne sais pas comment manger ce soir. Seigneur, tu as dit que personne ne va mourir de faim. Je t'interpelle. Je dis d'accord. Il appelle ton voisin de gauche. Tu as préparé trop de riz ce soir. Donne à ton voisin. Je vais donner à la dame de gauche. Le gars de droite, là, c'est un petit impoli, là. Il est tout le temps en train de m'insulter. Je ne lui donnerai pas. Je dis bon, un de moi. Dieu fait le tour de temps de tous tes voisins. Tout le monde dit, je peux donner à tout le monde, mais pas à lui. Je dis bon. Comme j'avais dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Première loi, aime Dieu plus que tout. Deuxième loi, aime ton prochain. Tu n'as pas aimé ton prochain. Moi, j'ai fait mon boulot. Tous les distributeurs ont refusé. À demain. C'est comme ça que vous n'êtes pas béni. C'est comme ça que vous n'êtes pas béni. Pourquoi Dieu dit qu'il faut se mettre en paix avec les gens? C'est pas, il n'a rien à tirer de votre paix. Si tu n'es pas en paix avec les gens, quand Dieu va les interpeller pour te bénir, tu demandes un emploi, Dieu doit mettre au cœur d'un patron de te recruter, non? Tu demandes un client, Dieu doit mettre au cœur d'un client de venir vers toi, non? Si tu as escroqué tous tes clients, tu as pour l'habitude de vendre des produits malfamés, tu as l'habitude de mentir aux gens, quand Dieu va le mettre à cœur de venir chez toi pour te bénir parce qu'il te bénit, qui va venir? Tu ne peux pas te bénir si tu ne respectes pas les lois qu'il a établies. Donc, la meilleure prière est dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. La meilleure prière à Dieu, c'est d'obéir à ses lois. Quand tu obéis à ses lois maintenant, tu peux avoir le culot de te tenir devant lui, de réclamer des choses. Quand tu les réclames, tu les donnes. Donc, la prière peut vous aider à trouver un travail si vous respectez par ailleurs les lois de Dieu. Et quand vous ne les respectez pas, vous devez prier, dis Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui me bloque? On prie toujours pour demander. Mais vous devriez aussi prier de temps en temps pour demander à Dieu l'éclairage. Donne-moi ta sagesse. Pourquoi tout ne marche pas? Pourquoi alors que je prie, je fais tout, rien ne marche? Dieu aime les prières comme ça. Il répond à ça encore plus vite. Mais quand il vous dit, allez obéir. Si vous allez à l'église, on vous parle, ça vous énerve, vous fuyez l'église, vous avez fui le bonheur. La parole de Dieu est un miroir. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ça vous montre sincèrement au-delà de toutes vos hypocrisies. Là où vous êtes bon, là où vous êtes mauvais. Ou vous avez l'humilité de vous mettre en conformité et là vous continuez la prospérité avec Dieu. Ou vous fuyez ça, vous dites que c'est le pasteur ou bien c'est le prêtre ou bien c'est le pasteur qui est mauvais. Et là vous avez tourné le doigt à l'obéissance. Je ne sais pas si vous me suivez. Choisis ton dette chômeur. J'aime bien celle qui dit à l'Assemblée nationale que consciemment ou inconsciemment. Oui, inconsciemment on peut choisir d'être chômeur. Personne ne veut être chômeur. Mais on peut inconsciemment, par ses choix, choisir d'être meurt. Notre vie est le produit de nos choix. Et beaucoup de gens, par leur choix, ont choisi d'être meurt tout en ne le sachant pas. Ce n'est pas grave que Dieu nous le pardonne, mais il n'y a plus de problème. Dieu dit quelque chose. À celui auquel on donne beaucoup, on retient beaucoup. Avant de venir ici, vous ne le saviez pas. Ce n'est pas grave, Dieu vous a pardonné. Moi, je prie, vous a pardonné. Mais maintenant, vous savez, non? Elle est là pour voir. Le chômage est-il normal ou anormal? Il est normal d'après les statistiques, mais il n'est pas normal pour ceux qui obéissent à Dieu. Le thème concourt les esprits. Est-ce que le thème concerne les esprits de tout le monde? Ça concerne normalement tout le monde. Bon, comme je me suis rendu compte que le public est essentiellement public intellectuel, Hermione n'est pas venue parce qu'elle est en train de préparer d'autres choses pour le terrain. Sinon, parfois, elle m'interprète, par exemple, au culte de dimanche et tout ça. J'ai Hermione qui m'interprète en fond, en Ga, en Goun, en Yoruba, ça dépend de l'endroit où on va. Donc, ce que nous disons concerne tout le monde. On a été fait des séminaires à Ga, beaucoup d'endroits en fond. Donc, ce que nous disons concerne tout le monde. Toi, dites en passant, je ne montre pas toutes les activités à la télé, mais je fais presque 4 ou 5 conférences par semaine. Et gratuitement. Si quelqu'un me dit, je suis à Kuntuna, viens former les jeunes de mon village, je le suis gratuitement à mes frais. Je n'ai pas le temps d'aller mobiliser les gens du village. Je vous informe au passage, certains le savent déjà, si vous vous réunissez en jeune, dans votre quartier, dans votre village, dans votre école, invitez-moi, où que vous soyez, je me déplace à mes frères, je viens vous dire. Dites-moi le thème que vous voulez seulement. Je viens gratuitement. Si vous avez la chance, on peut me venir avec tout l'orchestre, 50 personnes. On viendra mettre la joie dans le village. J'ai dit, pourquoi je fais ça? J'ai dit, à quoi ils jouent? Je vais vous dire à quoi je joue. Demandez à mes collaborateurs. Je joue à être heureux. Dieu dit, et regardez bien, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Même si je te donne 1 million, là, tu te sens petit devant moi. Tu es content de l'argent, mais quelque part, tu es en même temps content et que je suis plus grand que toi. Et tu commences à demander qu'est-ce que tu peux faire pour être petit. Celui qui te donne 1 million, là, tu es son esclave. Donc, tu te sens toujours petit quand on te donne. Mais quand tu donnes, même si tu vas au village, tu vois des petits de 100 francs, là, c'est toi le fofo. Tu peux faire le mal, tu es content. Quand tu as donné à quelqu'un. Oui, quand on donne, là, on se sent bien. Ou bien. C'est pour ça que les hommes sont contents de faire des choses pour leurs femmes. Parce que l'orgueil de l'homme est flaqué par le fait qu'il fasse quelque chose pour les autres. Or, Satan fait en sorte que les hommes croient que c'est en recevant qu'ils vont être heureux. Ils coûtent toute leur vie pour recevoir, ils sont toujours malheureux. Mais Dieu vous dit, écoutez, l'un des secrets, c'est que quand Dieu a écrit quelque chose là, vous pouvez réfléchir après pour comprendre. Mais obéissez-lui d'abord sans discuter. Donnez-la beaucoup plus de joie que de recevoir. Moi, je suis heureux dans ce que je fais. Parce que je sais que plus je donne, plus je suis heureux. Maintenant, d'où vient ce que je donne? Moi-même, je ne sais pas. Mais Dieu a dit que celui qui donne, on lui donnera. Je ne sais pas comment il fait. Mais je constate que je donne plus que tout le monde. Je reçois plus que tout le monde. Je ne veux pas savoir comment ça se passe. Il a dit que si je donne, je reçois. Je vous donne, je reçois. Parce que si je vous dis que je suis là pour rien, je mens. Je suis là d'abord parce que je me sens bien quand je suis en train de donner. Vous imaginez ce que c'est que d'avoir 200, 300 personnes et de changer leur vie. Il y a des gens qui font des miracles, qui font lever par exemple un boiteux, ils ouvrent les yeux à quelqu'un. C'est des miracles d'un organe. Mais moi, Dieu m'a donné la grâce de faire le miracle d'une vie. Vous savez, toutes les bénédictions qui accompagnent la capacité à parler à quelqu'un pendant 2 heures de temps et que sa vie change. Dieu a fait de moi un professionnel du miracle des vies. On a été, par exemple, à la dernière fois, des petites filles du lycée qui sont habituées à la débauche, comme elle disait elle-même, une vraie Gabonaise. Elle dit, il nous a touchés. Je ne sais pas, mais la débauche, je ne veux plus parler. Des jeunes que personne n'arrive à canaliser. Quand Dieu te donne la capacité de leur parler 2 heures de temps, et ils sont une autre personne, ils ne veulent plus faire de bêtises, ils ont envie de réussir. Dieu t'a fait ressusciter un mort vivant. Quand Dieu te donne la capacité, en parlant, de transformer une vie, comment moi je peux vous rendre heureux, je vais être pauvre? Quand vous avez dit que Dieu n'est pas sérieux? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je le dis parce que je veux que vous fassiez la même chose. Faites la même chose pour les autres. Quelle que soit ta pauvreté, il y a toujours quelqu'un que tu peux aider. Tu te réveilles le matin, tu n'as rien en poche. Va voir les vieux du quartier, fais leur linge pour eux. Même le nid qui te dit là, tu vas voir ce que ça va donner. Ne dors pas à la maison. Tu vois une vieille, elle a des bagages, elle revient du marché difficilement. Maman, donne, je vais te prendre ça. Tu n'as rien à faire, non. Fais ça pour Dieu. Tu n'as rien en poche. Les enfants de ton quartier ne savent pas lire et écrire. Il n'y a pas de lumière. Mets-les sous le lampadaire. Va, professeur, pour eux. Vous savez, tu n'as rien à faire dans ton cas. Fais ça pour Dieu. Ce que je dis là n'a l'air de rien. C'est le vrai secret de la puissance. Regardez les Américains, regardez les Arabes. Ils ont tout le temps des fondations, des fondations, des fondations. Ce n'est pas parce qu'ils ont des, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils ont des fondations. C'est parce qu'ils donnent beaucoup qu'ils sont riches. Donnez, on vous donnera. Oh, les jeunes, vous ne donnez rien à personne. On vous appelle à Kedjidemea. Non, il y en a. Et vous êtes les plus pauvres. Ah, ramassez Kedji partout, c'est vous qui êtes pauvres. Arrêtez de courir après l'argent. Servez les gens. Semez. Et l'argent courra après vous. Des questions? On va prendre quelques questions. Oui. Dans tous les cas, je suis là. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose. Je suis là tous les mercredis, tous les jeudis, gratuitement. Je suis là les dimanches à 19h pour ceux qui veulent le culte. Mais surtout, si vous avez des clés USB, si vous avez des CD, vous venez à n'importe quel moment ici, vous amenez la clé, on va vous copier tous les séminaires. Il y en a des centaines ici. Vous choisissez les thèmes, on va vous les copier en MP3 gratuitement sur vos clés. Vous allez rentrer ça, vous allez écouter dans vos téléphones, dans vos cartes mémoire. Vous pouvez partager avec votre jeune, c'est gratuit. Ne le vendez pas. Je le donne gratuitement. Je ne veux pas entendre dire que quelqu'un est venu prendre une formation ici pour le vendre. Mais venez chercher gratuitement, donnez gratuitement. Et sachez que quand vous partagez quelque chose de bien, Dieu vous donne encore plus. Vous venez ici, vous avez été béni. Vous voyez des frères comme vous qui sont dans le chômage. Si vous êtes sérieux, vous ne viendrez pas la prochaine fois sans eux. C'est de la méchanceté que d'être enfant, mais un problème, de découvrir la lumière et d'y courir en laissant les autres. C'est à cette petite chose-là que Dieu voit si vous êtes digne. Tu étais tranquille, Dieu t'a donné la solution. Il va voir comment toi tu la partages. Plus tu la partages, plus t'en donnera encore plus. Moins tu la partages, plus tu diras que le petit là ne vaut pas la peine. Des questions? Oui?
Je vous dis merci donc pour le séminaire. La question, est-ce que c'est une question? Je voudrais d'abord, c'est un témoignage que je voudrais donner pour illustrer un peu, puisque nous avons écouté tout à l'heure. Hier, j'ai expérimenté quelque chose de ce que vous avez dit tout à l'heure. Un frère de l'église a eu un problème pour faire un test de sida. Je me suis rendu disponible pour le conduire, voir un médecin. Et quand nous sommes allés là-bas, le médecin me dit, en fait, je te cherchais. Et en me cherchant, il m'a dit, reviens à la maison l'après-midi. Et il m'a remis de l'argent pour que j'aille lui prendre un groupe électrogène. J'ai seulement acheté le groupe, je n'ai rien fait. J'ai seulement payé, mais j'ai eu 5 000. Je n'ai rien fait. Je me suis juste rendu disponible pour servir un frère. Et dans ce service, je ne savais pas que Dieu pouvait me bénir. Donc c'est une illustration vraie de ce que disait donc l'orateur tout à l'heure. En second lieu, lorsque nous jeunes, nous sommes déjà dépassés par des situations, on court vers les pasteurs, on dit « Pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. » Et si on est dépassé par, ou bien si on n'arrive pas à trouver une solution, c'est peut-être qu'on écoute les informations qui se passent à la télé, on peut te faire telle chose. Je nous dis, j'avais déjà dit le jeudi dernier, c'est de fausses choses. Ce n'est pas vrai. Parce que lorsqu'on va te dire peut-être de mettre quelque chose dans l'eau pour te laver, lorsque tu vas saluer quelqu'un, il va peut-être te donner du travail ou bien il va peut-être te donner de l'argent, c'est faux. En fait, Dieu a dit à telle résolution répondra le succès. Tu as résolu d'aller voir quelque chose, de faire quelque chose, ne te décourage pas. Sois confiant que Dieu te résoudra ce problème-là. Sois rassuré que Dieu pourra t'aider à affronter donc les choses auxquelles tu seras confronté dans la décision que tu as prise. La seule chose pour laquelle moi je te conseille, c'est que tu puisses prier. Aujourd'hui, les hommes de la spiritualité, les hommes qui, de la tradition, les charlatans, viennent à la télé, disent des choses et ont pollué, ont pollué l'atmosphère spirituelle. Et pour ça, prie pour que Dieu puisse te protéger. Prie pour que Dieu puisse avoir véritablement sa main sur toi. Et il a dit, sa parole ne ment pas, mais il tombera à ta droite. 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Et si tu crois à cela, tu verras le succès sur ton chemin. Merci.
Amen. Merci pour le témoignage.
Merci. Je vous remercie pour la présentation. Moi, c'est Benjamin. Je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous allez me prendre en sais pas, en concurrence, si je vous disais que j'ai un projet dans le domaine de l'immobilier. Ça, c'est ma question. Maintenant, pourquoi je le dis? Il s'est posé un problème avec moi-même, juste avec moi-même. J'ai connu une période de difficulté qui a fait que je n'ai pas pu honorer dans une certaine mesure mon loyer pendant un certain nombre de temps. Et mon propriétaire m'a fait un peu d'histoire. Alors, dans cette situation, moi, j'ai compris que je pouvais aider des gens en créant un truc de l'immobilier. Oui, en créant un truc de l'immobilier et en intéressant des propriétaires sérieux et aidant des jeunes comme moi. Bon, en tout cas, toute personne qui aurait des difficultés a peut-être trouvé la location. Voilà un peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas perdre le temps. Ma question, c'est est-ce que vous allez me prendre en concurrent si je vous disais que moi, j'ai un projet dans le domaine de l'immobilier? Merci.
Ok, alors je réponds rapidement. J'ai au club de réussir les meilleurs membres de Mandé qui est derrière. Il est dans l'immobilier. Non seulement je ne le considère pas comme concurrent, je l'aide, je le conseille, je l'appuie, je fais la publicité pour lui. Je suis parti à Parakou, j'ai installé mon agence en face d'une agence immobilière. Peut-être qu'il propose un partenariat. Écoutez, dans ma destinée, personne ne peut me battre. Mais à côté de ma destinée, il y a beaucoup de destinées. Quand vous prenez par exemple la location, vous n'avez pas beaucoup global parler de location. Ce n'est pas ma vocation. Je suis venu dans l'immobilier pour faire ce que j'estime que les autres ne font pas bien. Dire qu'on peut acheter un terrain sans souci. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent oser dire ça en Bénin aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui font la location. Donc vous ne devrez pas me battre sur des locations. Mais pendant que moi j'ai des gens qui viennent me voir vers la location, j'appelle plutôt des jeunes qui sont autour de moi et je leur envoie des clients. Donc chacun a sa vocation. Si vous lancez un projet, cherchez à avoir votre spécialité dedans. Dans votre spécialité, je ne peux pas vous battre moi-même. Vous serez le meilleur. Mais moi, je n'ai jamais eu peur d'un quelconque concurrent parce que ce que Dieu m'a confié, je ne vois pas encore sur la tête de Dieu en bas de moi. Donc quand c'est comme ça, il faut conseiller les autres, être généreux, aider même les autres. Moi, il y a des fois, des gens viennent à Global, on n'a pas, je dis, appeler un concurrent, passer lui le marché. Si ça peut servir à quelqu'un, au moins il m'est redevable. Donc, il n'y a pas de problème là. En tout cas, pour moi, hein, je ne sais pas pour les autres.
Merci. Moi, c'est Laïslas Lando. Ma première préoccupation est celle-ci. J'ai la chance de militer dans une association dénommée le Carrefour des Collèges qui vise à créer une chaîne de solidarité agissante entre les élèves de divers horizons. Je disais tantôt que j'ai pour objectif principal de créer une chaîne de solidarité agissante entre les élèves de divers horizons. J'ai pu comprendre durant les deux jours que le problème auquel est confrontée la jeunesse est à la base. Mais est-ce qu'il ne faut pas? Je pense bien que si la plupart d'entre nous ici avaient écouté, avaient eu la chance de suivre une conférence du Jean Yat là, 2, 3, 4, 5 ans, quand on était encore au second cycle au collège, on ne serait pas ici. Ne pensez-vous pas qu'il faut organiser des conférences, aller vers les élèves, puisque je n'ai pas sûr que les élèves s'intéressent à se déplacer, ils ne croiront pas à la chose, mais est-ce qu'il ne faut pas aller vers eux pour leur ouvrir les yeux, comme vous le dites? Et dans cet objectif, nous avons de tels projets, si vous pouvez quand nous accompagner, c'est très bien. Deuxièmement, on parle de Jésus pour réussir. Moi, je suis chrétien et crois en Dieu, Dieu merci. Mais et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, comment est-ce qu'ils peuvent réussir? Cela veut dire que si je ne crois pas et je ne vais pas réussir, point d'interrogation. Merci.
Alors, première question, ce n'est pas une question. Je dis qu'il y a le 15 novembre, j'étais au CEG ou au lycée MSCZ à la DAF. C'est un collège. Je vais dans les écoles primaires, je vais dans les universités. Et j'ai dit que partout où m'invite, je vais. Si vous avez des collégiens, vous m'invitez dans un collège, je serai dans le collège. Ça, je le fais tous les jours. Donc, il n'y a rien de nouveau là. C'est mon quotidien que d'aller à la rencontre des gens. Même si vous me donnez des enfants de maternelle, je sais quoi leur dire pour que leur vie soit plus jamais la même. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Maintenant, sur la question de... Oui, vous êtes chrétien. Écoutez, il y a réussite et réussite. La réussite, ce n'est pas avoir de l'argent. Il y a plein de gens qui ont de l'argent sans connaître le Seigneur. Ce n'est pas avoir le pouvoir. Il y a plein de gens qui ont le pouvoir sans connaître le Seigneur. Ce n'est pas avoir la sagesse. Il y a des gens qui ont parfois une partie de la sagesse sans connaître le Seigneur. La réussite, la prospérité au sens biblique, c'est d'avoir tout ça, d'avoir la santé, d'avoir une paix du cœur, une joie, une sérénité, pas pour le présent et pour l'éternité. Et ça, jusque-là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui ne connaît pas Jésus qui l'a. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, ma première épouse est une musulmane. Donc, mes deux premières filles ont même fait des mariages musulmans. Mais moi, ils ont eu l'occasion de me baptiser musulman. On m'appelait Anis. Des fois, les gens disent Anis, je dis, parce que je ne savais même pas. Pour dire que je suis passé par là. Et Amiane, mon épouse, a été musulmane. Elle a pratiqué. Et nous sommes tous des pôles de la foi. J'ai toujours admiré chez les musulmans une chose. Ils ont plus de foi que les chrétiens. Ils croient plus en Dieu que les chrétiens. Un musulman, le plus petit qui soit, je connais des musulmans qui ont démissionné d'un emploi parce que leur patron faisait la prostitution et dit, moi je suis planton, je ne peux pas nettoyer le bureau de mon patron alors qu'il fait la prostitution, Dieu va me punir. Je n'ai jamais entendu de chrétien dire des bêtises comme ça. Pas des bêtises, c'est bon, mais dire des choses comme ça. Les chrétiens sont rares à avoir ce niveau de foi. Mais je connais des musulmans qui le font. Le musulman s'essaie un peu de ne pas boire. Le musulman s'essaie un peu d'éviter les... Quand le musulman a une foi, elle est authentique, elle est pratique. Mais les musulmans ont une grande faiblesse. Quand vous lisez dans la Bible, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Les musulmans sont encore dans la logique de l'Ancien Testament. Ils essaient de se justifier par leur mérite. Or, l'homme n'est pas un nature pécheur et ne peut jamais être parfait devant Dieu. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu dit, je viens m'incarner moi-même pour payer le prix qu'il faut, la rançon, afin que désormais, vous ne soyez plus justifié seulement par vos œuvres, mais que vous soyez justifié par la foi. C'est l'équivalent d'une loi d'amnistie. Si on doit, par exemple, juger en Côte d'Ivoire ou au Rwanda les gens à cause de leurs crimes, on risque d'enfermer tout le monde. Donc, à un moment, on dit vérité et réconciliation. Si tu reconnais que tu as tué des gens et que tu le dis publiquement, on te pardonne et tu rends tout l'amnistie de la fin de la guerre. Je te dis, si vous confessez vos péchés, parce que je suis déjà mort, vous êtes acquitté. Donc, la différence entre un chrétien et les autres, c'est que les chrétiens sont ceux qui ont choisi de s'inscrire sur la liste de la loi d'amnistie. Ils ont le passeport diplomatique du ciel qui fait qu'aux frontières du ciel, ils ne seront pas jugés pour leurs œuvres, ils seront jugés pour leur foi. Est-ce que tu as cru en la réconciliation? Est-ce que tu as fait vérité et réconciliation? Pour le reste, Dieu dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Si quelqu'un estime qu'il peut vivre de telle sorte qu'au jugement il passe le test de Dieu, il n'a pas besoin de Jésus. Mais si quelqu'un estime que ça là c'est dangereux, il peut toujours aller à Jésus. Parce qu'après tout, l'Ancien Testament a prophétisé tout ce que Jésus a fait. Jésus n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et croyez-moi, regardez bien au monde. Les plus grands pasteurs sont des musulmans. Oyedepo, le plus riche, il en fut. Karambéry, francophone, il en est. Sanogo en Côte d'Ivoire, il en est. Dans la plupart des pays, même au club, on a des frères musulmans. Quand un musulman vient au Seigneur, il va à plat couture tous les chrétiens. Donc, il faut prier pour les frères musulmans parce que c'est une religion qui est un peu dure. Je connais par exemple Agla, mon épouse a une tata à Aladia. Elle t'appelle, dit prie pour moi, je sais que ton Jésus est puissant. Mais ne lui dit même pas de venir à l'église. Elle a même peur de cette idée. Parce que c'est intolérable. Donc, il ne faut pas juger les frères. Il faut prier pour nos frères qui ne sont pas chrétiens afin que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils découvrent qu'on aime Dieu tous. Mais il y a le passeport diplomatique qui est possible pour ceux qui le veulent bien.
Merci. Que grâce soit rendue au Père pour sa lumière qui a jailli ici ce soir et pour le Saint-Esprit qui brille en vous et qui brillera en vous éternellement.
Amen.
Je voudrais poser juste une question. Comment découvrir sa destinée? Comment entrer dans sa destinée? Merci.
Merci. Chacun de nous a une voix au plus profond de lui qui le convainc des choses essentielles de sa vie. Dieu est en chacun de nous. Je l'ai déjà dit ici, Dieu c'est comme le vent. Quand vous respirez, on dit le souffle de vie. Le vent qui rentre et qui sort de vos poumons. Ce n'est pas ça Dieu, mais c'est l'un des points de contact entre Dieu et vous. Chacun de nous entend en permanence des voix. Il y a votre propre voix, il y a la voix du Saint-Esprit qui vous pousse au bien, et il y a la voix du diable qui vous pousse au mal. Évidemment, tu ne peux pas reconnaître le Hittagète
du faux wax quand tu ne connais pas le vrai wax. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir quand tu es en train de voir si elle vient de Dieu ou de Satan. Parce que Satan est tellement fort qu'il a essayé de tenter Jésus lui-même. Ça veut dire qu'il est quand même fort. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, il change une figure de gens, tu vas croire que c'est Dieu qui parle, que c'est Satan qui parle. Dieu a promis à Abraham un enfant. Satan vient dire justement, toi, Agathe, tu vas avoir un enfant pour aider Dieu. Ça lui a créé tous les problèmes du monde, avec tout le chagrin qui s'en suit. Donc, Dieu parle à chacun de nous. C'est une douce voix très subtile. Mais la plupart des gens n'entendent pas pourquoi. Dieu nous dit que pour entendre Dieu, il faut louer Dieu. Pourquoi? Les soucis là, regardez bien, qu'est-ce qu'un souci? C'est un démon qui dans votre cœur vous effraie. C'est un épouvantail. Tu vas mourir de faim, tu ne vas pas avoir de quoi payer demain. Comment tu vas faire pour le loyer? Comment les enfants vont aller à l'école? Comment tu vas faire? Regardez bien. Il y a Satan en vous qui vous fait voir tout ce qui va mal se passer pour que vous paniquiez. Le souci, le stress, c'est quoi? C'est des démons installés dans votre cœur qui crient, qui chantent, qui dansent pour que vous ayez peur. Tant qu'ils sont là en train de crier pour vous effrayer, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu qui est un doux et subtil murmure. Quand vous commencez à louer Dieu, c'est de dire, tout est grâce. On m'a giflé. Si Dieu n'a pas permis qu'on me gifle. Dieu sait pourquoi il a permis qu'on me gifle. Peut-être qu'il veut briser mon orgueil. Peut-être qu'il veut m'élever. Ce n'est pas grave. Quand tu arrives à comprendre que Dieu est tellement fort que tout est grâce, les démons n'ont plus de place pour t'effrayer. Parce que tu te laisses t'effrayer. Quand tu te laisses t'effrayer, il n'y a donc plus de démons qui crient dans ton cœur. Tu es dans un état de louange. La louange, ce n'est pas le chant. C'est l'état d'esprit qui est de dire, je rends grâce à Dieu pour tout. Quand tu es dans un état de louange, les démons ne crient plus dans ton cœur. Quand ils ne crient plus dans ton cœur, tu peux entendre la voix subtile de Dieu. Tu peux sentir des choses. On dit souvent le sixième sens. Les noms donnent mille mais par exemple, tu veux voyager. Tu as tout voyagé sans problème. Tu te réveilles ce matin, tu n'as pas envie de partir. Ton fils t'empêche de partir. Ta femme trouve des prétextes pour te ramener. Tu demandes la voiture, ça ne marche pas. Quelqu'un t'appelle dit qu'il a besoin de toi dans la journée. Toi-même, tu sens que. Allez, tu remis. Hein. Sors dans ta maison, ne prends pas la route. Beaucoup de gens sont morts comme ça. Quand Jacob est décédé, sa femme a dit le matin, il disait lui-même, il n'a pas envie de partir. C'est pas mais ça ne lui plaît pas, mais on va y aller. Il n'est parti, il n'est jamais revenu. Dieu ne fait rien sans en prévenir ses prophètes. C'est-à-dire que dans votre cœur, Dieu vous dit toujours la vérité. Mais quand vous ne connaissez pas Dieu, vous prenez la vérité pour votre propre opinion ou pour juste une idée qui est passée. Et vous ne la captez pas. Toute personne qui va mourir, Dieu le lui dit. Demain, là, c'est fini. C'est pour ça, les vieux, ils savent qu'ils vont mourir. Parce qu'ils ont atteint le niveau, ils savent faire attention aux voix de Dieu. Arrêtez d'avoir peur. Laissez les soucis. Laissez l'angoisse. Chassez cette demande-là de votre cœur. Louez Dieu. Soyez dans un état de joie et d'espérance. Cela vous permet de vous concentrer sur les voies du Saint-Esprit dans votre cœur. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, la parole de Dieu nous dit que la paix de Dieu est l'arbitre du Saint-Esprit dans notre cœur. Quand tu es en train de faire ce que Dieu veut là, toi-même tu ne sais pas pourquoi, mais tu as une assurance, un culot qui te surprend. Quand je vous ai dit, il y a des choses que j'ai fait dans ma vie, quand je regarde derrière, je dis, mais comment j'ai eu le culot de faire ça? Non, moi je les faisais, je n'avais pas peur. Rien ne m'inquiétait, je ne sais pas d'où me venait. Imaginez David. Il y avait un gamin comme ça qui défie Goliath. Vous croyez que sur le coup, il n'avait pas peur. Parce que quand Dieu veut te faire des choses extraordinaires, il te donne comme une folie, il t'hypnotise mentalement. Toi-même, tu finis de faire à chaque fois, tu te dis, mais je suis quand même fou. Hein. Comment j'ai osé faire ça? Quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, ta tête peut ne pas être d'accord. Mais il y a quelque chose en toi qui te donne une assurance que vas-y et tu n'as pas peur. Quand tu sens ça là, rien ne t'arrête. Et prie pour demander à Dieu. Seigneur, révèle-moi ma destinée. Je veux te servir, tu m'as fait d'être pour quelque chose. Montre-moi la chose. Mais Dieu ne va pas révéler à quelqu'un sa destinée s'il ne s'est pas rendu compte que la personne est prête à l'écouter. Si tu as envie d'être banquier, Dieu veut que tu sois avocat. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux que je sois? En sachant très bien que s'il te dit, tu ne vas pas obéir, Dieu n'est pas un idiot, il ne parle pas, qu'est-ce qu'on veut rien en faire. Dieu répond aux questions quand il sait, par exemple moi, avant mon premier mariage, je le confesse, Dieu a tout fait pour m'en empêcher. Si j'étais chrétien, je ne serais jamais marié. Parce que quand, avec ce que je sais de Dieu aujourd'hui, Dieu a tout fait pour empêcher mon premier mariage. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme problème dans ce mariage? Mais on a fait preuve de stratégie, d'intelligence, de créativité humaine. On a passé en force. On se marie devant Dieu, devant les hommes. Attention, quand j'ai dit ça une fois, Dieu m'a dit, attention petit, c'est pas ça. Quand on dit mariage devant Dieu, devant les hommes, on fait publication devant aux hommes. Quand on dit, si quelqu'un a quelque chose contre le mariage, qu'il le dise maintenant, qu'il ne le dise jamais. Mais à quel moment vous demandez à Dieu? Quelqu'un d'autre mariage, montre maintenant, tu ne vois jamais. Dans ton cas, je t'ai montré, il n'a pas entendu. Donc, vous n'écoutez pas Dieu. On dit que le mariage engage Dieu. Il ne suffit pas d'aller devant un prêtre pour s'engager Dieu. Il faut que Dieu ait dit, je n'ai rien contre. Je peux me taire maintenant, jamais. Là, tu avances. Est-ce que vous attendez que Dieu vous dise ça? Moi, je n'ai pas attendu. Mais il l'avait montré. Quand on connaît Dieu, il l'avait montré. Ce n'est pas forcément que quelqu'un soit mauvais ou bon. C'est que simplement, ce n'est pas ta destinée. Et ceux qui me connaissent, entre mon premier mariage aujourd'hui, on voit bien que maintenant, je suis dans ma destinée. Moi, je n'étais pas dans ma destinée. Dieu a trop prévu de choses maintenant pour me laisser ailleurs. Donc, même si la personne était parfaite, la personne voulait gâter le plan de Dieu. Dieu récupère ce qui lui appartient. Donc, faites attention à votre cœur. Posez la question à Dieu de vous révéler les choses. Faites attention. Mais en attendant, faites les choses en obéissant à Dieu. Parce qu'il y a la parole de Dieu ponctuelle, mais il y a la parole de Dieu en général. Faites du bien, faites du bien. Fais attention au petit commencement. Si tu obéis à Dieu en général et tu es en train de gâter Dieu, il va te révéler ce que tu vas faire. Attention, ne faites pas l'erreur suivante. Vous allez dans une maison, vous cherchez peut-être un emploi domestique, vous voyez la maîtresse de la maison en train de préparer la cuisine. Vous asseyez au salon, les pieds sur la table, vous attendez qu'elle finisse de préparer, vous dites, bon, j'étais venu pour être serviteur dans ta maison, qu'est-ce que tu as comme emploi pour moi? Elle dit, moi j'étais à la cuisine, tu es venu, tu étais assis au salon pendant 2 heures de temps. Tu dis, non, j'attendais que tu me dises qu'est-ce que je dois faire dans la maison d'abord. On ne va pas te recruter. Si tu es vraiment travailleur, quand tu rentres dans la maison, à la maîtresse en train de travailler, sans savoir à quoi on t'affecte, tu vas à la cuisine, tu te mets à l'aider. Quand vous allez finir de faire la cuisine, elle va te donner à manger, vous allez vous poser, mais pendant qu'on est petite, pourquoi te venir? Tu viens dans la maison de Dieu, même si tu n'as pas encore dit à quoi il t'appelle, fais du bien seulement. Sois en train de faire du bien. Tu vois les gens sont en train de faire quelque chose, fais avec eux. Ce n'est jamais mauvais de faire du bien. Mais en voyant comment tu fais du bien qu'on ne t'a pas commandé, tu vas te dire, petit, viens, j'ai une mission spéciale pour toi. David faisait du bien au mouton de son père, alors que le père ne le connaissait même pas. On a demandé d'appeler ses enfants, il a oublié David. Donc David ne faisait pas pour son père. Et Dieu a vu ça. On a dit roi, il dit c'est le petit là qui me fait. Faites bien en tout temps. Ne regardez pas les hommes. C'est Dieu qui répond.
Oui. Je voudrais remercier pour les apports fécondants que vous avez eus par rapport à certaines inquiétudes. Moi, je voudrais demander par rapport à l'autonomie qu'on doit prendre concernant notre développement personnel qui deviendra un développement collectif. Je voudrais demander comment s'y prendre véritablement. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, et concernant l'Afrique, il y a ce qu'on appelle l'aide au développement. Alors, cette aide au développement, je sais que ça empoisonne, c'est comme des sparadraps sur des jambes en bois qu'on peut enlever. On n'a pas des mécanismes pour gérer cette aide. Comment on peut s'y prendre et comment organiser l'autofinancement? Alors, je voudrais aussi, Ablaye Wa disait que la disponibilité de la jeunesse et vaut plus que les milliards de l'étranger. Alors, je voudrais savoir, en ce moment où les jeunes sont déprimés, ils n'ont pas de repères moraux, je voudrais savoir comment nous pourrons restructurer notre façon d'envisager les choses, comment retrouver l'optimisme, et parce que voilà, le pessimisme ronge tous les cœurs en ce moment. Et ma dernière intervention, moi, j'ai fait des études de philosophie à Strasbourg, et voilà, je suis venu. Normalement, c'est l'enseignement, mais j'ai voulu opérer une rupture par rapport à ce que j'ai reçu comme enseignement. Mais je me demande comment cette rupture-là va s'effectuer et sur quelle base je peux opérer le recommencement. Voilà, que ce ne soit pas un mythe de Sisyphe permanent. Voilà, merci.
Heureusement que je suis philosophe comme toi, sinon j'aurais été intimidé. Alors, disons que on le détruit durablement que ce que l'on remplace valablement. On ne détruit durablement que ce que l'on remplace valablement. Pour détruire la destinée de philosophe pauvre, il faut le remplacer par une destinée de croyant qui obéit à Dieu et qui découvre à l'expérience que les lois de Dieu marchent mieux que les lois de la philosophie. Point final. Et pour un jeune avocat, il n'y a rien d'autre à faire pour grandir que de lire la loi. Vous n'avez rien à faire pour grandir spirituellement que de vous intéresser à la parole de Dieu. Comme en général, nous sommes tous trop paresseux pour lire. Vous avez la chance que quelqu'un passe des heures par semaine à vous l'expliquer. Donc, soyez assidus. C'est vous simplement écouter. Vous avez là, regardez, plein de livres. Il y a près de 20 millions de livres là. Pour que vous lisez. Et la plupart d'entre vous ne le liront pas. Ce n'est pas grave. Venez au moins écouter. Amenez des CD, copier gratuitement. Écoutez dans votre voiture. Écoutez dans vos téléphones. C'est ce que vous apprenez. Parce que vous faites des séminaires toutes les semaines sur différents sujets. Le couple, les fiançailles, la négociation, la gestion des réunions, la gestion du temps, la foi, la prière. On n'est pas une église ici, on ne fait pas de la prédication. on est un club de gens qui vont être puissants, qui vont démontrer, qui démontrent déjà leur puissance parce qu'ils connaissent les lois de la vie. Donc nous sommes dans une école de puissance. Et donc tous les mercredis et tous les jeudis à 19h, il y a ici un enseignement sur la puissance. Donc la première chose à faire, c'est de prendre le temps d'apprendre les règles du royaume de la puissance. Je pense que c'est la seule chose à faire. Maintenant, quoi faire pour l'Afrique? Vous savez, c'est vrai que l'Afrique a plein de problèmes. Mais quand vous commencez à regarder les problèmes de manière holistique comme ça, vous êtes effrayé, vous ne faites rien. Je veux regarder les choses un par un. Vous êtes des centaines ici, dont la vie a changé. Elle va changer encore plus, ça ne fait que commencer. Vous êtes simplement dans une autre phase de votre vie. Si nous restons ensemble, moi je n'ai pas l'intention d'avoir des fidèles ou des disciples. Je ne suis même pas quelqu'un qui peut tenir sur place jusqu'à compter ses fidèles. Pas possible, moi, je suis un nomade. Mais mon rêve au club, j'étais pour réussir, c'est de faire du club un camp d'entraînement de commandos. Des commandos de la réussite. Des gens que je bâtis pour réussir et pour faire réussir les autres. Si je peux bâtir 500 personnes, robustes, commandos de la réussite, je les lâche dans le Bénin. J'ai déjà transformé le monde avec 12 personnes. Les grandes révolutions se font avec 2 ou 3 personnes. On est déjà trop nombreux ici pour changer le Bénin. Donc, contrairement à ceux qui se disent comment c'est faisable, moi j'ai plutôt l'impression que c'est en train d'être fait. Écrivez que je dis ça aujourd'hui. On en reparlera dans quelques années. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'avoir des fidèles auxquels je parle régulièrement. Je sais faire beaucoup d'autres choses. Mais Dieu m'a demandé de fabriquer une armée. Vous prenez n'importe quelle localité de ce pays. On n'a pas besoin, vous oubliez les maires, les autorités politiques. Un seul croyant peut transformer un coin. Regardez le petit que je suis. À peine, j'ai même pas 35 ans. Je vais avoir 35 ans en février. Quand je me mets, si je me mets dans un village là, je peux à tout seul, moi tout seul, le transformer en un paradis. Rien, hein? Rien qu'avec ma bouche. Moi seul. On est d'accord. Si je m'assois par exemple à Savalou aujourd'hui, sans aucune autorité officielle, je peux transformer Savalou. Rien qu'en prenant les femmes, je les motive, je les fortifie, je prends les couples, je les aide, je prends les enfants, je les remotive. Je peux révolutionner moi simplement, moi seul. Je veux fabriquer une armée de gars qui rentrent dans le pays, dans leur famille, dans leur école, dans leur entreprise, et qui les transforment. Oubliez les hommes politiques, oubliez le pouvoir. Je dis souvent aux gens, moi j'ai été conseiller d'un président. Et après, j'ai eu la chance d'être promu. Quand tu es conseiller d'un homme président, c'est que tu deviens ministre de Dieu. Est-ce que vous réalisez la promotion que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va me proposer comme fonction sur la terre qui dépasse ministre de Dieu? Le ministre de Dieu, je reste ici là. Je peux ordonner un président en esprit de faire quelque chose, va le faire. Laissez les postes, laissez la politique, laissez les démagogies là. Transformez votre vie. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si j'étais un mendiant, est-ce que je peux parler devant vous, allez m'écouter? Si vous me voyez, j'étais un mendiant, vous êtes là en train de m'écouter. Je peux vous parler parce que ma vie vous prouve que je sais de quoi je parle. Je veux fabriquer des gens dont la vie prouve qu'ils savent de quoi ils parlent et des gens qui ont appris à donner. Si vous êtes heureux, que vous savez donner, vos familles seront bénies. Il y a combien de personnes au Bénin? Venez un petit point transformé. Il faut arrêter de vouloir transformer le pays. Transformons les hommes. On va comprendre deux ou trois questions.
Merci. Moi, je suis Vincent Boudjani. Je suis chrétien. Et j'ai bien aimé ce thème. Et j'ai suivi religieusement la communication. Et quand je prends le monde des affaires, je n'arrive pas à dissocier les affaires du mensonge. Donc, c'est ça, j'aimerais que vous allez m'expliquer tout petit peu. Et de la corruption. C'est-à-dire, quand je prends le monde des affaires, les thèmes, le comportement, je n'arrive pas à dissocier ça du mensonge. Merci.
Alors, les gens croient que on ne peut pas être honnête et faire les affaires. Moi, je fais tous les jours l'expérience de ce que je peux être parfaitement honnête et faire les affaires. Le pire, en termes de mensonge, c'est quand on est avocat. Les gens estiment qu'on est obligé de mentir. Or, moi, je peux défendre des gens et les faire acter sans jamais mentir. Et je le fais tout le temps. On n'est pas obligé de mentir pour faire des affaires. On n'est pas obligé de mentir pour réussir. Quand on parle des avocats, on me donne l'exemple des avocats pour dire qu'un avocat peut ne pas mentir. Mais Jésus est le plus grand avocat qui ait jamais existé. Il a défendu une humanité de criminels, les affaires acquittées par Dieu, sans jamais mentir. Ou bien, pourquoi vous croyez que votre travail est plus difficile que Jésus qu'il faut mentir? On n'a pas besoin de nier la vérité pour obtenir ce qu'on veut. On a besoin de travailler à ce que les gens fassent ce qu'on veut pour acquérir, quelle que soit la vérité. Dieu dit par exemple que quand il acquiert vos voix, il dispose même le cœur de vos ennemis en votre faveur. Quelqu'un qui sait la vérité ne va pas forcément te lâcher. Il peut savoir la vérité et il va plutôt apprécier le fait que tu dis la vérité, il va encore te faire plus confiance que les autres. Première chose. Deuxième chose. Si la vérité doit vous faire perdre quelque chose, alors perdez-le. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Parce que chaque fois que vous mentez pour avoir quelque chose, maintenant vous faites un partenaire avec Satan pour avoir la chose. Quand vous faites un partenaire avec Satan pour avoir quelque chose, c'est Satan qui gère la chose pour vous. Regardez beaucoup de gens. Ils passent leur vie à voler, à faire des jeux, à faire la corruption. Vous les voyez à la retraite, ils n'ont même pas de carré. Alors qu'ils étaient en boîte de nuit tous les week-ends, dépensant des millions pour leurs amis. Regardez bien. Ceux qui acquièrent mal leur bien n'en font rien. Quand tu es partenaire de Satan pour bâtir quelque chose, la chose ne peut qu'être suivie de chagrin. Si tu vas voir un féticheur pour avoir un enfant, tu ne seras jamais heureux avec cet enfant ne sera jamais heureux. Si tu vas voir un féticheur pour avoir femme, c'est ta mort que tu es parti acheter. Satan n'est là que pour égorger, détruire, tuer. C'est le méchant. Satan ne peut pas aider quelqu'un. Si Satan t'aide, c'est qu'il est en train de se préparer à te tuer. Donc, tout ce que tu fais sans Dieu, tu l'as fait avec Satan. Il n'y a que deux forces dans le monde. Dieu et Satan. Si tu n'attends pas Dieu pour faire quelque chose, tu le fais, c'est que tu l'as fait avec Satan. Si tu le fais avec Satan, ça ne peut que mal se terminer. Donc, quand en respectant la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir quelque chose, c'est que Dieu ne veut pas que tu l'aies. Regardez mon cas. Je n'ai pas pu avoir un prêt. J'aurais pu faire une série de stratégies de corruption pour l'avoir. C'est d'ici, je ne l'ai pas, c'est que Dieu ne veut pas que je l'aie. Point final. Qu'est-ce qui s'en est sorti pour moi? Immédiatement la bénédiction. Parce que mon avis avec Jésus, quand tu résides à Satan, dès que Satan s'en va, les anges de Dieu viennent pour te servir. Quand tu résistes au test de ta foi, au test de ton obéissance, que tu chasses Satan, les anges viennent toujours te bénir. Vous n'êtes pas obligé de mentir. Dernière chose que je dirais à cet effet, s'il est vrai que Dieu dit que tu ne mentiras pas, Dieu n'a jamais dit que tu diras toute la vérité. Dieu dit que tu ne mentiras pas, mais il n'a jamais dit que tu diras toute la vérité. Rien dans la Bible ne vous oblige à dire tout ce que vous savez. On a posé des questions à Jésus, il a refusé de répondre. Devant les pauvres qui ont posé des questions, il est resté silencieux. On dit, es-tu le fils de Dieu? Oui, c'est vous qui le dites. Faut-il lapider la prostituée? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Devons-nous payer les impôts ou payer la dîme? Donnez-moi une pièce. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La tête de César. Donnez à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu? Il a répondu, mais il n'a pas répondu par oui et par non. Dans la vie, il n'y a pas que oui et non. Vous tombez dans le piège de croire que l'honnêteté, c'est de dire tout ce que vous savez. Non. Dieu dit à Dieu les choses cachées, aux hommes les choses révélées. La Bible dit, soyez lent à parler, prompt à écouter et lent à la colère. La sagesse, c'est parfois de se taire. Si tu ne peux pas parler sans mentir, tais-toi. Dis, je préfère ne pas répondre à cette question. Pourquoi la posez-vous? Et si c'était le cas? Admettons que, fais tout ce que tu veux, mais ne dis pas le mensonge. Tu peux insinuer parfois des choses sans jamais les avoir dites. Je vais donner un exemple. Tu as perdu une entreprise. Tu veux prendre rendez-vous avec le DG. Si tu es sage, tu sais que toutes les secrétaires ont pour métier de repérer qui est un intime, qui est un ami de leur patron et qui est une simple personne. Et le traitement qu'ils vous réservent est fonction de qui ils pensent que vous êtes. Si tu appelles notre professeur, tu es un demandeur d'emploi qui veut parler au DG, tu ne vas jamais le voir. Mais si on a l'impression que tu as de ses amis intimes, on va te le passer immédiatement, il faut te faire entrer dans son bureau. On est d'accord? Il ne faut pas venir dans une entreprise, on dit, vous êtes un ami DG, tu dis oui, tu es en train de mentir. Mais tu vas arriver au même résultat. Comment? Si j'appelle une secrétaire, je dis bonjour, je suis Edgar, passez-moi, par exemple, le DG s'appelle pas. Il passe, par exemple, il passe-moi Steve, s'il te plaît. Parce que Après, il m'a appelé, il m'a dit, monsieur Steve, un de vos amis est en ligne. Ami, comment il s'appelle, gars? Je ne le connais pas. Il a dit qu'il est votre ami, c'est comme ça que c'était son. Le gars n'a jamais dit qu'il était son ami. Parce que le gars l'a appelé par son prénom, il l'a tutoyé avec autorité. Elle s'est dit dans sa tête, si ce n'est pas de ses proches, il va l'appeler comme ça. Donc si c'est qu'elle devait l'introduire, elle va l'introduire en étant sûre que c'est tes amis. Parce qu'il a une intelligence d'avoir un style qui a fait croire qu'il était proche. C'est de la manipulation, ce n'est pas du mensonge. C'est de la stratégie. Quand j'appelle, je demande un rendez-vous. Si je dis, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec le DG, j'ai 9 chances que 10 me disent non. Il faut bien qu'il laisse un contact. Il dit, bonjour, je suis Edgar. Je dois parler au DG dans 5 minutes. C'est très très urgent, je vois tout à l'heure. Est-ce que je peux lui parler tout de suite? Qui dois-je annoncer? Dites Edgar, c'est promis, c'est quoi il s'agit. On va me le passer immédiatement. Ça dit, allez, c'est lui, pas que je prenne des risques, il vaut mieux passer. Je n'ai pas affirmé quelque chose, mais mon style, mon ton, lui fait croire des choses sur lesquelles va se comporter. C'est la sagesse. Où est-ce qu'on trouve cette sagesse-là? Dans la Bible. Nulle part d'autre. Vous périssez faute de connaissance. C'est écrit, vous ne lisez pas. Vous avez été à l'école, vous ne lisez pas. Tout est écrit. Celui qui écrit, c'est Dieu. Quand vous lisez, c'est comme si vous êtes connecté à la sagesse infinie. Donc, quand vous parlez, vous dites, mais comment il fait pour savoir tout ça? C'est la même chose que la parole de Dieu. Et quand vous êtes en Jésus, votre intelligence est renouvelée. Et là, c'est gratuit, disait aussi. Dernière intervention, ou bien quelque chose encore?
Bonsoir, peuple de Dieu.
Dernier, après lui, on prie, c'est fini. Ok.
Mm-hmm. Je vais être bref et je vais essayer de contribuer à ce que le frère a dit tout à l'heure. Je rends d'abord grâce pour sa vie, que Dieu continue à l'utiliser et le bénisse encore abondamment.
Amen.
Moi, c'est en fait Patrice. Je suis originaire du Cameroun. Et par la grâce de Dieu, je pense que j'ai réussi dans la vie. Parce que en 2009, j'ai reçu Jésus. Et les choses se sont vraiment transformées dans ma vie. En fait, comme il a dit tout à l'heure, dans ma contribution, je m'aurais dit, comme il a dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple meurt par manque de connaissances. » En fait, nous les jeunes, on a tellement d'ambition et on manque en fait, en part la connaissance, on manque des modèles. On espère que la politique, les politiciens vont changer les choses. En fait, je pense que ce que Edgar a entamé là, que Dieu vraiment l'utilise énormément parce qu'il est en train de bâtir nos cœurs. Il est en train de nous préparer pour la qui viendra plus tard, la gloire qui viendra plus tard. Donc, de par mon parcours, le thème d'aujourd'hui, c'était par rapport au chômage. En fait, mon parcours est un peu différent. Quand je dis réussi, c'est que je suis seul dans ma famille qui suis né de nouveau. J'ai perdu mes parents à l'âge de 9 ans, mais je me rappelle encore des décisions que j'ai prises à l'âge de 9 ans et qui jusqu'à aujourd'hui, toi qui es là aujourd'hui, la décision que tu as prise, rester jusqu'à 23 heures, c'est le meilleur sacrifice. La vérité que tu as eue aujourd'hui, venant d'Edgar, est affranchie. Il est en train de bâtir énormément et ça va t'aider toute ta vie et des générations encore à venir encore. Moi, mon parcours, à 9 ans, les décisions que j'ai prises qui m'ont amené jusqu'à faire le tour du monde, j'ai eu à parcourir 5 pays. Et ça, c'était vraiment la grâce. Parce que je pense que dans le Psaume 139, il dit qu'il te connaissait quand tu étais encore une masse informe. Donc chacun de nous ici, Dieu nous a conçus pour un plan précis, comme a dit le frère tout à l'heure. Chacun a un plan précis, il y a un potentiel en toi qui fait de toi quelqu'un d'unique dans le monde. Mais maintenant, il faut à un moment donné te laisser conduire par lui. J'ai eu des moments où j'ai fini, en fait je pensais qu'avec une bonne éducation, j'aurais le meilleur emploi. Mais à ma grande surprise, quand j'ai fini dans l'une des meilleures universités de mon pays, après beaucoup d'efforts, je lisais tard la nuit, je travaillais très dur pour entrer dans cette université parce que c'était la seule université anglo-saxonne du Cameroun et on entrait là-bas par concours. Par la grâce de Dieu, j'ai eu ce concours, mais après l'université, je n'ai pas eu de travail. Tous ceux qui sortaient de cette université d'office avaient déjà le travail. Mais je n'ai pas lâché, je me rappelais encore des conseils de ma maman qui me disait toujours, un homme ne reste pas à la maison. Ça veut dire un homme, il sort tous les jours, il cherche quoi faire. J'ai commencé à vendre des t-shirts au marché central de mon pays, au Cameroun. Maintenant, je suis béninois, par la grâce de Dieu, puisque j'ai pris une béninoise et elle fait mon bonheur. Donc, après Jésus, bien sûr. Donc, moi, j'ai pendant deux ans, j'ai vendu, des t-shirts après avoir gradué à l'université, au marché. Et je me rendais compte que je rentrais avec en moyenne 300 le premier mois. Je suis parti de 300. Au sixième mois, je me retrouvais à près de 3000 francs par jour. Et quand je suis entré à mon propre compte, parce que j'économisais, quand je suis allé à mon propre compte, je me suis retrouvé à 5000 francs par jour. Fois 30, ça fait 150 000 que je gagnais par jour. Et je suis quitté du marché central pour la meilleure, une des meilleures banques de la place, en contrat. Donc, c'est pour dire à quel point Dieu m'a pris de zéro à héros. Je suis quitté du marché central un vendredi pour la banque, sous contrat. Ils m'ont donné deux mois. J'ai exploité certaines stratégies que je ne connaissais pas. Déjà, l'humilité, ça a été toujours ma force. Comme Paul dit tout à l'heure, se faire petit parmi les petits et se faire encore plus petit parmi les grands. Jésus avait tous les pouvoirs, mais il ne le manifestait pas. Il savait se faire petit. Il a lavé les pieds, comme a dit le frère. Je ne vais pas tirer de long en large, mais ça m'a tellement aidé. Des deux mois de stage, on n'a pas pu se passer de moi pendant trois ans. Au point où, après les trois ans, dans les frustrations que j'avais, j'ai dû déposer une demande dans une école à Londres. Et laissez-moi vous dire, mes parents ne vivent pas, je vous ai rappelé ça au départ. J'ai déposé à tout hasard, comme ça, dans les conseils, dans mes frustrations, j'ai déposé une demande où j'ai eu une acceptation. Letter of admission. Voilà, une lettre d'admission dans une université. J'ai réuni ma famille, ils n'en croyaient pas. Mais la lettre était là, il fallait réunir de l'argent. Chacun a mis la main dans la poche, je me suis retrouvé à Londres. Le jour où je disais à mes supérieurs qui m'ont frustré pendant trois ans, parce que je travaillais, en fait c'était une sorte d'injustice. Après six mois, on est censé te donner un CDI. Mais je n'ai pas eu de CDI, mais je ne me plaignais pas, je faisais toujours mon travail. Donc, quand j'ai dit à mes supérieurs, je m'en vais, ils n'en croyaient pas. D'aucuns m'ont donné leur carte de visite. Je suis allé de l'autre côté. De l'autre côté, vraiment, comme a dit le frère, ce n'est pas le paradis du tout. Ce n'est pas du tout donné. L'homosexualité, tout, vous avez tellement de contraintes. Eux, ils ont leurs difficultés. Le continent le plus béni, je vous parle en termes d'expérience, j'ai fait deux continents au moins. Si je ne vous mens pas, c'est l'Afrique. Le 29 novembre 2009, après quatre ans de souffrance en Europe, pas de souffrance, c'est l'école de la vie. J'ai persévéré dans mes études, je n'ai pas pu les terminer, mais le Seigneur a dit, monsieur, le contrat, la mission est terminée. Mais j'étais là toujours forcé, où j'ai forcé pendant deux ans. Et quand je me suis baptisé, immersion totale, un mois plus tard, le voile s'est déchiré. C'est là où il me montre ma femme, béninoise. Elle a grandi au Cameroun, mais elle est rentrée au Bénin il y a huit ans. Donc, quand je vois cette femme, je suis obligé, question de cœur, de rentrer en Afrique. Et laissez-moi vous dire, franchement, les portes se sont tellement ouvertes. J'ai fait le Ghana deux ans, maintenant je suis au Bénin. J'ai recommencé un stage, ça fait un mois, j'applique ce qu'il dit. Je rends grâce au Seigneur pour cela, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Et ne pas mettre les œufs dans le même panier. Éviter l'orgueil. Ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme qui fait de vous quelqu'un de cravaté. J'ai vendu des t-shirts, c'est ce que je veux vous rappeler, pendant deux ans. Au Ghana, là, j'ai ramené une caméra, je filmais, je vendais aux gens. Je filmais, je vendais à 5 CD. 5 CD, c'est peut-être 2000. Les vidéos et mon laptop, c'était mon industrie que j'ai fait. Ma femme, elle est chantre, par la grâce de Dieu. Donc, nous, on vendait des CD, on a vendu un peu de tout. Ce n'est que quand on est revenu ici au Bénin qu'on a trouvé un petit boulot où je vais appliquer ce que le frère a dit. Franchement, rentrez, écrivez son nom sur un bout de papier et priez énormément pour lui. Le leadership est là. On a besoin des modèles de nos jours. Il faut beaucoup prier pour lui. Dieu va l'utiliser énormément.
Amen.
Amen. Soyez bénis, frère.
Amen. Merci. Merci. C'est vrai que j'ai besoin de prière. Hein. Il faut prier beaucoup pour moi. Les gens qui résistent, la personne ne peut les courir. Parce que quand vous avez une grande destinée de sauver des gens, Satan s'occupe de vous parce que c'est plus simple de s'occuper de vous pour avoir la paix avec le temps pour vous sauver. Satan s'occupera de moi. Mais il sait déjà que j'ai la victoire chez lui. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, on continue.
Attention, vous avez eu à dire que la réussite est la conséquence de la pensée positive.
Mais, continue, mais je n'ai jamais dit ça, je précise déjà.
Ok, ma question est celle-ci. Comment penser?
Comme j'ai le séminaire.
Maintenant, sa question, tout concorde avec ce qu'il a dit. Sa question est quand même intéressante. Pourquoi? Il est victime de ce que justement les gens confondent pensée positive. La pensée positive vient du développement personnel, dont je suis effectivement un expert. Quand j'étais dans le monde, comme je vous dis, moi je suis né pour aider les gens à réussir. Quand je ne connaissais pas le monde, j'essayais d'aider les gens. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur et que je comprenne qu'en fait, la pensée positive, c'est le itagète de la vérité. La pensée, la puissance de Dieu, c'est les lois de Dieu en piraterie avec la signature de Dieu en moins. C'est comme si vous prenez une belle voiture, vous la connectez à la carrosserie, à tout, mais tu ne peux pas démarrer et bouger la voiture. Parce que ceux qui sont bouger la voiture, c'est le moteur. Et dans la pensée positive, il n'y a pas de moteur. Vous allez voir, presque tous les Américains sont des chrétiens. Donc, les Américains ont été le peuple qui, en tout cas, dans les temps modernes, ont été les plus proches de Dieu dans le passé. C'est de là que viennent leurs pensées. Dans leur modernité, quand ils ont commencé, pour certains d'entre eux, à avoir honte de Dieu, comme on le voit actuellement, ils ont voulu exporter les secrets de leur puissance vers les autres. Mais il y a une grande barrière à ce qu'un intellectuel parle de Dieu. Quand je l'écris sur Facebook, il y a des gens qui disent « Pourquoi il parle de Dieu ?» Comme si je devais avoir honte de Dieu. Et la plupart des gens ont honte de Dieu, c'est pour la vie privée. Dieu n'est pas pour la vie privée. Dieu, c'est pour la vie publique. Et donc, parce que les gens ont peur de parler de Dieu en public. Parce que ce n'est pas la mode de parler de Dieu en public. Mais notez qu'au Bénin, ça reviendra très très bientôt à la mode. Parce que ce n'est pas la mode de parler de Dieu en public. Les Américains, ils ont voulu vendre les secrets de leur réussite. Ont essayé d'exporter les lois de la réussite qu'ils ont découvert, mais en enlevant le nom de Dieu. Quand vous prenez la loi de l'attraction, par exemple, que les jeunes connaissent bien, lisez-la bien, c'est un beaucoup de verbiage et de bavardage pour dire ce que la Bible dit en deux phrases. Ce que tu crois, tu l'obtiendras, ce que tu crains, t'arrivera. La Bible dit en deux phrases, ils sont obligés d'écrire un gros livre pour dire oui, quelque chose, le cosmos, l'univers, ce que tu as dit, la bulle. Vous sentez que c'est déformé, c'est compliqué, ils parlent beaucoup, ils n'arrivent pas à expliquer clairement parce que tout ça est vrai. Mais lié à Dieu. La pensée positive, c'est quoi? C'est de dire à l'individu, il te suffit de croire en toi-même que tu vas réussir. C'est faux. Il te suffit de croire que Dieu en toi, tu vas réussir. Dès que tu enlèves le détail de Dieu, ça devient des histoires. Ça ressemble. C'est du paillot. Celui qui ne s'y connaît pas va dire c'est la même chose. Mais quand tu fais attention, le paillot ne marche pas. Le vrai marche. Mais les principes sont à peu près les mêmes. Donc la pensée positive, ce n'est pas la foi. C'est la foi moins le moteur qu'est Dieu. Et ça ne donne rien. Donc, je comprends, comme c'est l'exemple que j'ai donné. Quand vous manipulez bien les gens, ils croient tellement les choses qu'ils les affirment alors qu'on ne les avait jamais dit. La pensée positive est tellement fine dans sa manipulation que beaucoup de gens ne voient pas la différence entre la pensée positive et la foi. J'ai parlé de foi pendant deux jours, ils croient que c'est la même chose que la pensée positive. Et il a affirmé que j'ai parlé de pensée positive, ce que je n'ai pas fait. Cela vous montre que l'esprit de l'homme confond toujours réalité et vérité. Ce que nous croyons entendre n'est pas tout ce que nous avons entendu. Parce que ce que nous pensions est là en arrière et influence notre perception des choses. On doit donc faire très attention à ne pas être manipulé parce que souvent, les gens nous manipulent par notre manque d'attention. Alors, donc, je vous remercie d'avoir été là. Je suis content d'une chose, c'est que Dieu m'a donné cette grâce. Je n'ai encore jamais passé une heure de temps avec quelqu'un dont la vie n'a pas changé. Je ne m'en vante pas, mais j'en rends grâce à Dieu. C'est un pouvoir extraordinaire. C'est la chose dans ma vie dans laquelle je suis la plus fière. Tout le reste là, c'est éphémère. Mais Dieu m'a donné cette grâce de ne pas parler pendant une heure de temps et quelqu'un va sortir notre ensemble. Je sais donc pas à la fois, je rends grâce à Dieu parce que vous ne pouvez plus jamais être la même personne. Vous pouvez tout faire pour effacer tout ce que j'ai dit. Votre vie est obligée de changer et elle a déjà changé au nom de Jésus. Mais vous savez, naître spirituellement, c'est une chose. Grandir spirituellement et porter des fruits, c'est une autre. On te donne un plant de manguier, c'est bien joli. Si tu ne l'entretiens pas, il va mourir. Si tu crois que quelque chose d'important s'est passé dans ta vie, sois assidu. Moi, je vais consacrer comme toujours mon temps, sur tous les fronts, à essayer d'expliquer. Tu as une question, tu commences, par exemple, on a parlé d'entreprise, tu commences, tu es bloqué, reviens, c'est gratuit. Pose des questions, je vais t'expliquer. Je suis là tous les mercredis à 19h, je suis là tous les jeudis à 19h. Et pour ceux qui veulent prier, parce que mercredi, jeudi, c'est technique, c'est la sagesse de Dieu, mais appliquée techniquement. Mais pour ceux qui veulent en plus avoir une communion spirituelle avec Dieu, tous les dimanches à 19h, nous faisons un culte ici d'adoration et de louange pour se recharger le moral et pour démarrer la semaine. On est là. Sachez que Satan fera tout pour que vous n'ayez pas le temps. Il voit que vous êtes en train de sortir de la prison. Chaque fois que vous devez venir ici, écrivez-le. Des choses vont se passer, vous n'allez pas avoir le temps. Et au début, ça va être tout ça. Si vous tenez le coup quatre fois, après, il va vous taper. Vous avez une bibliothèque là qui est gratuite. Vous avez tous les enseignements gratuitement là, vous pouvez les copier de grâce. Je vous en supplie pour vous et pour votre vie, pour vos enfants. Trouvez le temps de venir au moins une fois par semaine ici vous ressourcer. Sachez que Dieu ne bâtit personne pour rien. Si Dieu vous a mis ici pour vous transformer, c'est d'abord parce que vous allez être béni, mais c'est parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont nées et que Dieu a prévu que c'est vous qui allez changer leur vie. Dieu ne donne pas à quelqu'un un grand maître pour qu'il soit un petit maître. Hein. Si Dieu vous met à côté d'un géant, c'est qu'il a prévu que vous soyez un géant. Si tu es un officier, quand tu rentres à Saint-Cyr, c'est que tu es un des plus grands officiers de ton pays. On n'envoie pas un soldat dans une école d'officier. Si quelqu'un a la grâce d'arriver ici, c'est qu'il a une destinée de géant. Dieu ne peut pas faire venir quelqu'un goûter ça par semaine pendant 2 mois, 3 mois pour qu'il soit un homme ordinaire. Si Dieu met quelqu'un ici, il doit savoir qu'il est un géant qui participe à une opération de géant. Donc pour vous-même et pour toutes les personnes que Dieu a prévu que vous bénissiez par votre vie, de grâce, soyez assis. Quelles que soient les épreuves, faites tout pour être là. Même si vous êtes venu à 21h, venez pour montrer à Satan qu'il ne peut pas vous empêcher d'arriver. Faites-le pendant un mois, au moins. Si vous avez des talismans, des trucs bizarres, pardon. Mettez ça à défaut de la poubelle, attachez ça dans un sachet, sortez ça de votre maison, allez mettre ça quelque part loin de vous. Et faites l'expérience de mon Dieu pendant un mois. Ce que vous voulez demander à Dieu, de demander lui. Et testez Dieu, Dieu aime ça. Seigneur, ce n'est pas compliqué. Telle chose que j'attends depuis là, je n'ai pas eu. Donne-moi, je saurai que tu es Dieu. Si au bout de moi, mon Dieu ne s'est pas montré à vous là, revenez me voir. Et si c'est montré à vous, soyez gentil, venez me le dire pour que je le remercie. Parce qu'il répond toujours. Je n'ai jamais vu personne qui obéit à Dieu en vain. Ça n'existe pas. Et priez beaucoup pour moi. J'en ai besoin aussi. Excellent Père de gloire, je viens te dire merci. Merci Seigneur, sans limite. Merci Seigneur, plein d'émotions. Nos mots ne seront jamais assez suffisants pour te dire merci. Tu as fait des miracles ici, Seigneur. Tu n'as pas réveillé un mort en apparence, mais tu as réveillé plein de destinées qui étaient mortes. Père Tout-Saint, je sais que tu n'as pas ouvert des yeux à des aveugles physiques, mais tu as ouvert les yeux spirituels. Tu n'as pas ouvert des oreilles physiques, tu as ouvert des oreilles spirituelles. Tu as fait ici une série de miracles. Tu as changé des destinées. Tu as bâti de grands hommes. Et donc, tu as bâti de grandes familles. Tu as bâti de grandes lignées. Tu as bâti de grandes destinées. Tu as bâti un grand pays. Je te remercie pour tout cela, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que ce que tu commences, tu le termines toi-même. Tu as commencé le miracle de réveiller leur vie. Il te plaît de les accompagner, de les fortifier, de briser toute force satanique, toute principauté, toute autorité, tout esprit de ténèbres, tout esprit familial, tout esprit ancestral qui les réclame, qui a été toujours maître de leur vie. Je le réprime maintenant au nom de Christ Jésus. Seigneur, tu as dit qu'on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort et le déposer sans le lier. C'est pour ça que je lis maintenant avec ton autorité tout esprit satanique, tout esprit des eaux, tout esprit de serpent, tout esprit quel qu'il soit auquel ils ont été consacrés. Car dans notre pays, à travers les cérémonies familiales, nous sommes souvent consacrés à des esprits sataniques qui manipulent notre vie. Je brise l'autorité de tous ces esprits sur leur vie maintenant au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, j'asperge ton sang. Tu as dit que rien ne peut rester à ton sang. Tout genou fléchira à ton sang. Tout ce qui est sur les cieux, sur la terre et sous la terre, consacrera que tu es Seigneur. C'est pour ça que j'asperge maintenant de ton sang sur chacune de ces destinées. Je brise, je neutralise toute œuvre satanique dans leur vie. Tout ce que tu n'as pas semé maintenant, détruit au nom de Christ Jésus. Ils sont libérés, ils sont affranchis. Oui, Père Tout-Saint, ils rentrent en nouvelle destinée. Tu les équipes, tu les nourris, tu les fortifies. Tu détruis les maladies dans leur vie. Tu leur donnes la joie. Tu leur donnes à mesure qu'ils grandissent, qu'ils prospèrent spirituellement. Tu leur donnes la prospérité matérielle. Ceux qui ont besoin d'être en couple, donne-leur la femme de leur vie, donne-leur l'homme de leur vie. Ceux qui attendent des enfants, donne-leur en temps convenu. Donne à chacun d'entre eux la destinée que tu lui as prévue. Donne à chacun de rentrer dans sa glorieuse destinée. Donne-leur la joie, Seigneur. Donne-leur la paix qui ne peut venir que de toi. Donne-leur la preuve que tu mets toujours la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Ils sont venus ici pour de l'emploi. Que leur emploi soit maintenant garanti au nom de Christ Jésus. Ils commencent à gagner de l'argent, qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'ils pensaient qu'ils en sont capables. Donne-leur de ne jamais oublier que semer, c'est la seule manière de récolter. Que servir les autres, est la seule manière d'être béni. Sois avec les Seigneurs. Continue ce que tu as commencé dans leur vie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Soyez bénis et soyez joyeux. Ne vous inquiétez de rien. Quelles que soient les épreuves, soyez rassurés. Dieu n'est pas mort, vous ne pouvez pas mourir. Soyez bénis.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Fouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?